Simon Falconera, les temporielles petites valses du temps, cérémonie de remise du prix Nobel de physique de l'année 2032. Il est présenté comme le nouvel Einstein. Celui que nous honorons aujourd'hui de ce prix vient de révolutionner notre vision du monde. Il a ouvert une fenêtre de compréhension vers un champ de la physique encore pratiquement vierge, le temps, une notion aussi banale qu'inconnue. Une sensation que tous les humains peuvent expérimenter à chaque seconde de leur vie et qui pourtant a résisté jusqu'à présent à toutes les recherches. Il vient de lever un premier pan de sa secrète réalité. Je vais donc passer la parole au génial découvreur pour qu'il nous délivre son lumineux message. Les derniers chuchotements se taisent pour accueillir le savant dans un silence recueilli. Un petit homme, un peu courbé, les cheveux en bataille, habillé d'un costume trop court et d'un nœud papillon anachronique, monte sur l'estrade. Il s'éclaircit la gorge et tapote le micro. C'est un bien grand honneur qu'il m'ait fait de recevoir ce prix Nobel de physique. Quitte à vous décevoir, trois après cet hommage dithyrambique, je dois vous avouer qu'en réalité, comme beaucoup de découvertes, c'est le hasard qui m'a permis d'être témoin d'un événement en apparence insignifiant. Tout juste reconnaîtrais-je une certaine perspicacité pour l'avoir identifié comme une anomalie temporelle. Depuis, j'ai progressé dans la reproduction du phénomène, et plutôt qu'un long discours je vais vous le démontrer. Chers amis, je vous emmène, vous et l'univers tout entier, dans un voyage dans le passé. Compte tenu de l'énormité de l'énergie en cause pour susciter une telle distorsion, le voyage sera de très courte durée, à peine une poignée de secondes. Mais laissons là les vaines paroles et passons à l'expérience. Le délégué du Nobel s'approche discrètement du savant. Êtes-vous sûr que votre expérience ne comporte aucun danger? Vous parlez vous-même d'une quantité d'énergie considérable, ne vous en faites pas, nous baignons depuis toujours dans cette énergie sans le moindre dommage. Rien, ou très peu de choses vont se passer, juste un petit glissement temporel arrière et nous nous retrouverons tous, dans cette grandiose salle, émerveillé par la simplicité paradoxale du phénomène. Prudent, le délégué recule de trois pas, tandis que le savant pose un petit boîtier sur le pupitre dont il déploie une curieuse antenne en forme de citrouille. Chers amis, je vous dis à tout de suite. Il appuya sur l'unique bouton du boîtier. Il eut juste le temps de froncer quatre les sourcils et débaucher une interrogation. C'est vrai que jusqu'à présent je n'ai manipulé que des atomes. Peut-être aurais-je dû. Prudent, le délégué recule de trois pas, tandis que le savant pose un petit boîtier sur le pupitre dont il déploie une curieuse antenne en forme de citrouille. Chers amis, je vous dis à tout de suite. Il appuya sur l'unique bouton du boîtier. Il eut juste le temps de froncer les sourcils et débaucher une interrogation. C'est vrai que jusqu'à présent je n'ai manipulé que des atomes. Peut-être aurais-je dû. Prudent, le délégué recule de trois pas, tandis que le savant pose un petit boîtier sur le pupitre dont il déploie une curieuse antenne en forme de citrouille. Chers amis, je vous dis à tout de suite. Il appuya sur l'unique bouton du boîtier. Il eut juste le temps de froncer les sourcils et débaucher une interrogation. C'est vrai que jusqu'à présent je n'ai manipulé que des atomes. Peut-être aurais-je dû. Cinq Lucien, sa montre et sa bouteille. Je vais essayer de vous raconter tout ça dans l'ordre. J'allais dire dans l'ordre chronologique, mais non, dans l'ordre dans lequel je l'ai vécu est plus juste. Si vous êtes sensible au vertige, si vous n'êtes pas décidé à faire un effort de compréhension, n'allez pas plus loin, car la fin de mon histoire en est à peu de choses près le début. Cette fin, donc, commença le 1er avril 2015. Je m'en souviens parfaitement, c'était un mercredi. J'étais un jeune avocat du barreau de Bordeaux et je fus commis d'office pour défendre Lucien, un clochard qui devait un peu trop abuser du vin. Du moins c'est ce que j'ai cru quand je l'ai vu pour la première fois. Être commis d'office est déjà une sinécure, mais avoir comme client un vieux fou qui raconte n'importe quoi ne facilite pas les choses. Il ne voulait rien entendre. Il montrait sa montre en insistant pour que je la regarde et que je lui dise oui. Lucien, ta montre marche bien, Les aiguilles tournent dans le bon sens. À accent aigu y regarder de plus près, il y avait quand cette même un détail choquant, puisque l'année affichée était 2020. Sur le coup cela m'a surpris mais sans plus, il avait dû régler sa montre ainsi. Ce qu'il arrivait malgré tout à faire comprendre était qu'il voulait récupérer sa bouteille de vin, un mal article 2015 précisait-il et il n'en voulait pas d'autre. Muni de ces quelques informations, il me fallait établir une plaidoirie. Je vous en ferai grâce car ce ne fut pas la plus brillante de ma carrière, mais vous comprendrez que dans de telles conditions, j'avais des excuses. Il écopa d'une semaine de prison pour trouble à l'ordre public, mais comme le précisa le juge, c'était plutôt pour lui permettre de dessouler. J'aurais oublié cette malheureuse histoire si Lucien ne m'avait pas relancé. Une semaine plus tard, il frappa à ma porte. J'étais un peu réticent, mais me sentant malgré tout responsable de l'avoir si mal défendu, j'acceptai. Tout se passa comme je l'avais prévu. Il était venu pour me demander de l'aider à récupérer sa bouteille. J'eus beau lui dire que je n'avais pas la moindre idée de comment il fallait s'y prendre, il insistait. Lui-même était bien incapable d'expliquer comment il se l'était procuré, cependant il dut être plus habile que je ne l'avais été pour plaider sa cause car je finis par lui promettre de tenter quelque chose. Je m'engageai à venir le voir sur son bout de quai, dès que j'aurais du nouveau. Profitant d'un passage au palais de justice, je me renseignai sur l'existence de cette fameuse bouteille. Ce ne fut pas facile. Il me fallut une semaine de longues et difficiles recherches pour la retrouver dans les caves du palais. Pensez-vous, une simple bouteille de vin d'un cru 8 malgré tout assez confidentiel. Je la rapportai chez moi, elle était encore pleine aux deux tiers, ce qui aurait suffi à justifier l'insistance de Lucien à vouloir la récupérer. Un curieux détail m'avait sauté aux yeux, si son millésime était bien l'année 2015, sa date de mise en bouteille était 2020. Que Lucien ait déréglé sa montre passe encore, mais que la mise en bouteille corresponde à cette même date. C'était étrange. Je posai la bouteille sur la table et l'examinai avec attention. L'étiquette était intacte, pas de rature, pas de surcharge, aucune trace de déchirure ou de présence d'une autre étiquette qui aurait pu être celle d'origine. Elle avait été imprimée et collée sur la bouteille telle que je la voyais. Je décidai de la rapporter à Lucien dès le lendemain en vue de l'asticoter, pour en savoir plus, avant de la lui rendre. Quand je dînais le soir même, la bouteille était restée sur la table. Je m'en versai un verre qui, je l'avais décidé, serait ma rétribution pour le mal que je m'étais donné. Ce premier verre, il faut lui rendre justice, me chatouilla très agréablement le palais et tout de suite j'en déduisis que le taux d'alcool devait être légèrement supérieur à la moyenne. Je songeais qu'il s'agissait là d'une deuxième raison pour Lucien de vouloir la récupérer. Quand je parle du premier verre c'est parce que vous l'aviez deviné, il ne fut pas le seul. À accent aigu vrai dire j'avais bu environ la moitié de ce qu'il restait de nectar quand je m'endormis comme un bienheureux. La belle bouteille serrée dans mes bras, je me réveillai quelques heures plus tard, moi aussi j'avais une montre, je me retrouvai allongé sur un banc en béton, derrière la grille d'une cellule de garde à vue, dans un commissariat de la ville. J'avais l'esprit passablement neuf embrumé mais une fois mes idées remises à leur place, je n'eus pas de mal à comprendre où je me trouvais. Il me fut plus difficile d'expliquer à mes geôliers ce qu'il s'était passé car je n'en avais pas la moindre idée. Malgré tout je gardais mon calme et évitais ainsi d'aggraver mon cas. Je faillis tout gâcher et gagner quelques heures en plus dans ce trou quand je demandais à récupérer la bouteille. Mais contrairement à Lucien, devant la grimace peu engageante du policier, j'eus la sagesse de ne pas insister. Cela me valut d'être libéré rapidement et quelques heures plus tard je me retrouvai dans la rue, libre. J'orientai mes pas vers ma maison avec l'impression confuse que quelque chose avait changé. Les rues familières semblaient ne pas être exactement celles que je connaissais. Pourtant je me dirigeais sans difficulté. Même les gens étaient différents, leurs habits, leur manière de se déplacer, mais surtout ce qui me mit la puce à l'oreille, ce furent les voitures. C'était tout d'anciens modèles, ce qui, vous en conviendrez, est étonnant. Je voulus en avoir le cœur net, je pénétrai dans le premier bureau de poste. Je pris vraiment conscience de ma situation, la date affichée en gros au-dessus des guichets était le 2 avril 2010. Un peu désorienté, je ressortis rapidement et foncé vers ma maison. Je reçus un nouveau coup sur la tête, sur ma boîte aux lettres figuraient les noms de Monsieur et Madame Cornu. Ce n'était pas mon nom, ça je le savais. Je m'étais perdu, comment allais-je pouvoir me retrouver? Vous pouvez facilement imaginer le cauchemar que je vécus dans les semaines qui suivirent. Les épreuves qu'il me fallut endurer pour me rendre à l'évidence, je n'existais dix pas. J'étais dans un monde passé qui n'était pas le mien, un monde parallèle, peut-être, allez savoir, le dernier acte que j'avais commis en 2015 avant de me retrouver en 2010, avait été de me saouler avec du Malartic 2015. Cette fois, je croyais comprendre la troisième et véritable raison qu'avait Lucien pour récupérer sa bouteille. Peut-être pensait-il que le déplacement temporel qu'elle avait pu provoquer dans un sens, elle pourrait le permettre dans l'autre sens. Il me fallait agir sans attendre pour ne pas tomber dans la dépression. Grâce à mon solide caractère, je me relevais et tentais de résoudre ce qui me paraissait être le plus urgent. Après avoir bien intégré ma nouvelle situation, je fonçais à l'état civil, puis aux archives du tribunal. J'optai pour une identité qui tenait à peu près la route, enfin suffisamment pour que je puisse récupérer des papiers que je prétendis avoir perdus. Ma formation d'homme de droit me permit de lever les différents obstacles administratifs et je vous garantis qu'à l'époque ce n'était pas simple du tout. Puis, je pus m'inscrire en cours du soir et décrocher un diplôme sans difficulté. 3 ans plus tard, j'avais retrouvé une place dans la société, ainsi qu'au barreau de Bordeaux et un chez moi. Il me fallait attendre encore 2 ans pour voir ce qui allait se passer. J'étais impatient de me retrouver au 1er avril 2015. Quand la date fatidique arriva, rien ne se passa d'extraordinaire si ce n'est que je me rendis au tribunal et appris qu'un clochard du nom de Lucien s'apprêtait à passer en correctionnel. Je me proposai pour le défendre. Lucien, ainsi que pas mal de mes pairs, furent surpris. Ils ne comprenaient pas pourquoi un avocat du barreau tenait tant à défendre un poivreau. Je leur répondis que l'on était le 1er avril, ce serait ma contribution aux plaisanteries 11 du jour. Cette fois, connaissant bien le cas de Lucien, j'arrivais à tempérer ses excès en lui promettant de l'aider à retrouver sa fameuse bouteille. Ayant pris de la bouteille, j'obtins l'acquittement et il n'eut pas à faire de prison pour trouble à l'ordre public. Il fut donc libéré et je l'invitai chez moi. Il était satisfait car il comptait venir me voir pour me rappeler ma promesse de l'aider. Je lui répondis que son vin n'en valait pas la peine et je pourrais lui en faire goûter du bien meilleur, même du Malartic que nous pourrions rechercher ensemble. Il insista. Je lui racontai mon aventure. Compte tenu de sa propre histoire, il me crut aisément. Cependant, il semblait que ce vin était plutôt tourné vers le passé. S'il vous permettait de revenir 5 ans en arrière, il n'était pas capable de vous projeter dans le futur. Lucien fut assez déçu de l'apprendre, mais comment vais-je retrouver mon quai d'avant? Questionna-t-il plutôt. Le quai d'après, précisai-je. Je lui expliquai qu'il lui faudrait simplement attendre 5 ans. Ce monde ou un autre, qu'importe après tout, tant qu'il pourrait boire et dormir quelque part, tout lui était égal. Je lui proposai un marché, je pouvais l'héberger car nous étions embarqués dans la même galère. Nous ne serions pas trop de deux pour élucider le mystère de notre déplacement dans le temps. Il accepta. Nous vivions ainsi comme deux bons copains, moi je plaidais et lui buvais. Il supportait bien l'alcool, grâce à mes encouragements et au confort que je lui apportais. Il modéra nettement sa consommation douce. Je découvris bientôt qu'il avait de la conversation, il savait parler d'autre chose que de sa bouteille. Accent aigu mon contact, Il se civilisa un peu et devint un ami tout à fait respectable. Nous n'eûmes pas beaucoup de mal à retrouver le domaine qui produisait ce cru de Malartic. Il s'agissait d'un petit vignoble produisant un excellent vin, quoique méconnu. Nous commençâmes à le fréquenter assidûment et devinrent de très bons clients. Notre méthode d'investigation était assez simple. Dans un premier temps, nous nous étions renseignés sur les caractéristiques de ce vin, sa vigne, son terroir, son mode d'élaboration, mais nous ne trouvâmes rien de spécial. Ce qui nous engagea par la suite à le goûter, nous espérions ainsi retrouver ce goût incomparable de la bouteille que nous avions partagée. Hélas, nos efforts furent vains. Le propriétaire était très sympathique et nous devînmes de bons amis. Il accepta de nous engager pour participer aux futures vendanges. C'est ainsi que l'automne venu nous nous mêlâmes aux équipes des vendangeurs. L'ambiance était conviviale et bien arrosée, mais nous ne perdions pas de vue notre objectif, trouver ce que le millésime 2015 avait de spécial. Le soir venu, tous les deux, nous rôdions dans les vignes, examinant les cèpes et les grappes sans rien remarquer. Un soir, cette inspection se déroula dans une ambiance un peu plus joyeuse que d'ordinaire. Nous venions de terminer le repas au cours duquel nous avions bu un peu plus que de coutume. Nous nous rendîmes, bras dessus, bras dessous, dans la vigne. Nous étions joyeux. Rapidement une envie irrésistible nous prit et nous nous soulageâmes au pied des cèpes. Dans un coin du vignoble 13 non encore vendangé, chacun tentant de marquer un territoire le plus large possible pour gagner une ridicule compétition. Puis, heureux, nous nous endormîmes non loin. Le lendemain nous fûmes réveillés par la rumeur des vendanges et nous vîmes le propriétaire se diriger vers nous d'un air joyeux. Il nous interpella en plaisantant, « Je crains qu'aujourd'hui la récolte ne soit pas très abondante. » Nous le rassurâmes comme nous le pûmes en lui expliquant qu'il n'avait pas à s'inquiéter car malgré les apparences nous étions en pleine forme. Mais lui ne nous écoutait plus. Il était tombé en arrêt devant les pieds de vignes auprès desquels nous nous étions endormis. Les grappes de ces cèpes étaient spécialement grosses, brillantes et bien gonflées, d'un beau violet brun profond magnifique, disait-il émerveillé. « Voilà un raisin tout à fait prometteur, je vais le mettre à part et le laisser vieillir au moins 5 ans avant de le mettre en bouteille, cela devrait donner un résultat exceptionnel 14 mon arbre, le temps des arbres. » Je ne sus que j'avais atterri que par la disparition des vibrations du vaisseau et par la présence d'une gravité me permettant de tenir debout. Je m'étais réveillé d'hibernation et j'étais plongé dans un silence feutré. Je ne m'étais aperçu du fond sonore ambiant et continu du vaisseau que lorsqu'il s'arrêta. Les propulseurs s'étaient éteints, toutes les fonctions du vaisseau étaient maintenant en veille. Les caméras n'indiquaient aucune forme, aucun paysage, aucun contraste, aucun mouvement. Seul le radar détectait la présence d'énormes piliers verticaux disposés sans ordre précis. Surpris, je me dirigeais vers un hublot, mais il n'y avait rien à voir qu'une vague luminosité grisâtre presque uniforme. Étais-je vraiment posé quelque part? M'étais-je perdu dans quelque vortex noir absorbant tout, même la lumière? Je décidai d'attendre en restant vigilant. Je branchai tous les détecteurs de mouvement, d'odeur, de lumière, de son, de toucher, tout ce dont est équipé un vaisseau 15 moderne en matière de veille. J'activai le traducteur pour capter d'éventuels signaux. Les hublots, comme des yeux ronds luisants dans le noir, éclairaient faiblement l'intérieur du vaisseau plongé dans l'obscurité. Soudain, je crus déceler un mouvement à l'extérieur. C'était plus une impression qu'une véritable perception, une sensation subtile de mouvement. J'étais ainsi à écarquiller les yeux dans ce brouillard sombre, à essayer de distinguer les contours d'une forme, quand le signal d'une alarme vint rompre le silence. Je me précipitai vers le tableau des instruments et vis tout de suite le voyant rouge du somatoscope clignoter. Il affichait un faible signal, tout juste une caresse qui semblait suivre les contours de la coque du vaisseau. Un rapide diagnostic d'intégrité s'avéra négatif. Pas la moindre égratignure ou déformation n'avait affecté la coque. Je devais ne rien faire avant d'avoir identifié la cause de l'alarme. Il me fallait être patient, garder mon sang-froid, car n'ayant aucun repère hors cette légère caresse, le moindre faux pas pouvait avoir de graves conséquences. Lesquelles, je ne le savais pas. J'avais suivi avec brio la formation de pilote d'exploration lointaine, pourtant j'étais très mal à l'aise. Tant qu'aucune atteinte ne viendrait endommager le vaisseau, je devais ne rien faire, seulement rester en alerte. Si la situation venait à se dégrader, il serait alors temps de réagir. J'avais été formé pour m'adapter aux événements les plus inattendus et les plus périlleux. J'avais été conditionné à l'improvisation optimale. Après quelques heures de surveillance, rien n'avait bougé. Le seul mouvement détecté était toujours le même signal faible affiché par le somatoscope. La centrale 16 indiqua une source d'énergie accessible. Je déroulai la checklist pour m'assurer de l'absence de tout signe de danger potentiel. Avant de pouvoir tenter une quelconque exploration, l'ordre de mission suggérait une hibernation de réadaptation, laissant le temps aux passagers et surtout au vaisseau de recharger ses batteries. Après une hibernation prolongée, le rythme du sommeil est rompu. Il faut donc retrouver progressivement un repos naturel et en accord avec le nouvel environnement. Les circonstances me semblant favorables, je décidai de suivre cette préconisation, heureux de constater que j'étais encore sensible à la fatigue. J'existais encore dans cet univers vide et mort. En cas d'alerte, le processus de réveil accéléré s'enclencherait. J'éteignis toutes les lumières. Je mis en veille tous les appareils superflus. J'enclenchai le processus de recharge énergétique et me recouchai dans le caisson d'hibernation. Quand je me réveillai, quelque chose avait changé. Maintenant un haut et un bas étaient visibles. Étonnamment, le vaisseau était posé à l'extrémité d'une longue protubérance ramifiée pourvue d'extensions foliacées. Il semblait être maintenu entre ces sortes de branches, elles-mêmes reliées à un tronc dont le pied se perdait beaucoup plus bas dans un brouillard masquant le sol. D'après l'horloge universelle, ce sommeil réparateur avait duré plus de 3 années terrestres. D'autres formes arborescentes géantes, beaucoup plus grande que celle sur laquelle mon vaisseau était posé, s'élevait à perte de vue, au-dessus de la nappe vaporeuse. La plus proche semblait embrasser ce que j'appelais mon arbre. J'étudiais cet enlacement et curieusement je me dis 17 qu'il émanait du grand arbre voisin comme une sorte de tendresse à l'égard de son petit compagnon. Une branche de mon arbre effleurait de ses feuilles la coque du vaisseau. Cela pouvait expliquer le signal du somatoscope qui lui clignotait encore. Les voyants des analyseurs étant ouverts, je décidai de tenter une sortie. Au dehors, le paysage était magnifique. Une multitude d'immenses arbres s'élevaient vers le ciel d'un bleu pur. Leurs troncs plongeaient dans un épais tapis de brume. Aucun autre signe de vie ne venait troubler la sérénité de ce monde. J'avais atterri sur une planète forestière. Étonnamment, mon vaisseau était posé sur la branche d'un petit arbre. Petit en comparaison des autres arbres mais gigantesque pour mon minuscule vaisseau. À y regarder de plus près, l'océan de brume, baignant les pieds de la forêt, n'était pas aussi calme que je l'avais cru au premier abord. Du haut de mon observatoire j'entrevoyais quelques remous. Parfois même, des formes sombres s'approchaient de la surface sans jamais la percer. L'exploration s'avérait compliquée. Se déplacer de branche en branche ne m'apprendrait pas grand-chose de plus sur cette planète. Cette forêt couvrait la surface jusqu'à un horizon lointain. On pouvait supposer qu'une base solide et nourricière lui permettait de vivre et se développer. Il me faudrait descendre de plusieurs centaines de mètres avant de pouvoir poser les pieds sur ce sol. Ensuite, je devrais me déplacer dans un brouillard épais, où la vue, pour l'expérience que j'en avais, n'excédait pas le mètre. Un monde opaque habité de mouvements très suspects. J'en étais là de mes réflexions quand mon attention fut attirée par un grésillement venu de l'intérieur du vaisseau 18. Je constatai que le traducteur avait capté un signal qu'il tentait de traduire. Il s'agissait d'un signal très basse fréquence, s'étalant sur toute la durée des 3 ans d'hibernation. Curieusement, le signal était une vibration dont l'origine était localisée dans l'écorce de mon arbre. Malgré la pauvreté du signal, 3 années d'enregistrement devaient représenter un long message. Après quelques tentatives infructueuses, le traducteur signala une possibilité de traduction, avec une incertitude d'interprétation d'environ 50%. C'était vraiment peu, mais plutôt que de relancer le traducteur, je lui demandai de l'énoncer. Il s'exécuta immédiatement. Au lieu du long discours attendu, il ne prononça qu'une seule phrase, « Maman regarde, je viens de trouver un drôle de petit jouet entre nos racines. 19.3 Rebelle première séance, dossier GX-010403, vendredi 3 avril 3001 Monsieur Gaspard X 30 ans, reçu ce jour. Son dossier est complet, RA, la neuropuce a été implantée à l'âge de 5 ans, dans la zone alpha, dans la moelle épinière à la base du crâne, aucun symptôme de rejet. Contrôle régulier suivant le programme standard. Développement du système synaptique de la neuropuce correct, voire efficace et très rapide maturité du système synaptique de la neuropuce atteint à l'âge de 16 ans, 90% des fonctions cérébrales connectées, 100% des fonctions cognitives atteintes, tous les relevés annuels sont standards. Aucune alerte, donc aucune correction. Il est étonnant qu'en 30 ans aucune correction, même légère, n'ait été nécessaire. Une légère déficience des liaisons cognitives notée depuis peu, 3 ans. Déficience non significative compte tenu de la précision des mesures, programme de surveillance mis en place. Monsieur Gaspard X signale une gêne continue dont 21 une partie du cerveau aux antipodes de la neuropuce. Examens usuels. Scanner des 200 fonctions de base et activation des synapses de la neuropuce. Aucun signal parasite en provenance de la neuropuce. Monsieur Gaspard X dit faire des rêves étranges. Je lui propose d'enregistrer ses rêves jusqu'à la prochaine séance via l'émetteur de la neuropuce. Nous les visionnerons ensemble. Accord de Monsieur Gaspard X pour la prochaine semaine. Je lui explique le fonctionnement de l'enregistreur. Il comprend bien et rapidement. Deuxième séance, dossier GX-010403, vendredi 10 avril 3001 Monsieur Gaspard X a rapporté ses enregistrements. Nous les visionnons ensemble. Les images sont nettes, bien dissociées. Les séquences de différentes natures n'interfèrent pas entre elles. Les zones floues sont limitées et cantonnées à la périphérie. Échantillonnage, profil standard. 9 séquences standards nettement identifiées, séquences érotiques, 30% séquences quotidien, 20% sous-séquences principales du groupe, 3% familial, 1% professionnel. J'apparais fugitivement dans une de ces séquences, séquence super-héros, 15% séquence anticipation, 12% bonne fonction d'extrapolation, imagination fertile, séquence souvenir, 10% sous-séquence principale du groupe, voyage vacances 1%, il aime le dépaysement, séquence morbide, 5% séquence délirante, 4% séquence infantile, 2% 22 séquences reliquats non interprétables, 2% taux très correct, le standard pour cette tranche d'âge est supérieur à 5%. Le taux cauchemar sur la totalité des rêves est de 20%, c'est très peu et bien. Gaspard, votre profil onirique est plutôt de tendance optimiste avec une forte composante anticipative, une légère composante morbide, un taux de cauchemar bas et pas de velléité de révolte. Tout cela est très bon. Où en sont vos symptômes parasites, docteur? Cela ne s'arrange pas, j'ai même l'impression qu'ils gagnent du terrain. La zone de gêne s'étend, et puis il y a ses rêves. Dans le dernier je me voyais, dans un laboratoire, cela ressemblait à une salle du centre de contrôle. C'est un peu comme cela que je m'imagine le scanner universel. Il était grand comme une cathédrale. Eh bien, Cette image, je ne l'ai pas retrouvée dans les enregistrements que nous venons de voir ensemble et pourtant je m'en souviens très bien, je n'ai pas rêvé, j'en suis sûr, ou plutôt j'ai rêvé, j'en suis sûr, c'est effectivement étrange. On aurait dû la voir dans la séquence anticipation ou celle du quotidien mais j'y crois moins. Peut-être s'est-il glissé dans le reliquat non interprétable, si vous me signez une décharge, je regarderai plus attentivement les enregistrements et je repasserai le reliquat à l'interpréteur. Peut-être pourrai-je retrouver votre rêve, pas de problème docteur, je n'ai rien à cacher dans ce cas, nous allons procéder à un scanner conscient. Vous allez essayer d'évoquer votre rêve le plus précisément possible, concentrez-vous sur les images qui vous ont le plus marqué, je vais les enregistrer, cela 23 permettra à l'interpréteur de localiser votre rêve, si toutefois il existe. Sinon, il faudra aller chercher ailleurs, mais je ne suis pas du tout inquiet. En attendant, je vais vous prescrire un léger filtre antiparasitaire, cela pourrait supprimer votre gêne invasive. Mon premier diagnostic serait un symptôme de rejet tardif de la neuropuce. Dans ce cas, le traitement prescrit devrait être rapide et efficace, mais si votre gène subsiste, nous devrons chercher ailleurs. Troisième séance, dossier GX-010403. Vendredi 15 mai 3001, REF parasite signalé par Monsieur Gaspard X non retrouvé dans les enregistrements. Interprétation négative. Aucune trace de rêve parasite dans la séquence non interprétable. Pas de perte de mémoire. Cas de figure inconnue, besoin probable d'examen complémentaire. Dans ce cas, une cartographie complète du cerveau sera nécessaire. Alors Gaspard, qu'en est-il de votre gène? Vous aviez bien vu docteur, elle subsiste mais n'a pas progressé depuis le mois dernier. Il doit bien s'agir d'un rejet, tout au contraire. Ce n'est pas cela que j'attendais du traitement. La gêne aurait dû disparaître complètement. Ce n'est pas sûr que la stabilisation apparente de votre malaise soit due au traitement. À mon avis, elle peut reprendre à tout moment. Sinon, je n'ai pas retrouvé votre rêve parasite. Je pense qu'il va falloir faire des examens complémentaires. Pour plus de sûreté et éviter de tourner en rond, nous allons déployer le grand jeu. Je vais vous prescrire une détection annexe pour une cartographie complète du cerveau. Cela consiste en quoi docteur? S'il s'agit d'une 24 détection annexe, pourquoi faut-il une cartographie complète? Ne vous en faites pas. C'est un simple enregistrement de vos processus cérébraux. Cela s'appelle une détection annexe car elle visualise les trois familles de processus cérébraux. Il y a trois familles de processus, vous êtes impatient, curieux, mais c'est très bien. Je vais vous expliquer. Par ordre de priorité, les rôles du cerveau sont, le rôle primaire du cerveau, individuel et court terme, chargé de maintenir l'intégrité de l'individu par la génération de commandes appropriées aux différents organes qui le composent. Le rôle secondaire, social et moyen terme, chargé d'intégrer l'individu à la communauté de ses semblables. Le rôle tertiaire, transcendantal et long terme, chargé de favoriser la pérennité de la lignée de l'individu. Par lignée, on entend plutôt la lignée génétique, mais pas seulement. De manière plus large, des proches peuvent aussi être intégrés à cette lignée. Ces différents rôles peuvent se confronter à des enjeux contradictoires et les priorités peuvent s'en trouver bouleversées. C'est lors de ces conflits que des réponses inadaptées peuvent être produites. Soit des réponses inefficaces ne donnant pas l'effet souhaité. Soit, plus gravement, des réponses allant à l'encontre des objectifs fixés au rôle du cerveau. Les dysfonctionnements des processus primaires sont plutôt l'objet des autres branches de la médecine. Les moyens d'intervention sont en grande partie chimiques avec éventuellement une intervention directe sur l'organe 25 concerné. Certaines médecines, dites douces, proposent une démarche psychiatrique, traiter les maux du corps par des interventions à partir du cerveau. Si elles sont réellement actives, elles peuvent ne pas être douces du tout. Les dysfonctionnements des processus secondaires ont toujours constitué l'objet privilégié de la psychiatrie classique. Les moyens d'intervention sont les travaux sur le cerveau lui-même avec une coopération plus ou moins volontaire de l'individu. Les dysfonctionnements des processus tertiaires sont le plus souvent ignorés ou confondus avec ceux des processus secondaires. Ils sont les plus difficiles à détecter. Et pour tout dire, c'est aujourd'hui un des grands enjeux de la recherche en psychiatrie. Visualiser de tels dysfonctionnements serait un grand pas en avant et vous pensez que je pourrais avoir des dysfonctionnements tertiaires, je n'y crois pas trop. Mais il ne faut rien négliger. Comme je vous l'ai dit en faisant une détection annexe, on ne se contente pas de scanner les processus secondaires, on détecte tous les types de processus. Ceux des deux premiers types, et de manière très aléatoire, ceux du troisième type qui sont appelés, en langage psychiatrique, processus annexes. Avec la cartographie complète, en théorie on voit tout. En attendant, vous pouvez arrêter le traitement, je pense qu'il est inefficace. Quatrième séance, dossier GX-010403, vendredi 12 juin 3001 détection annexe normale. Tous les processus sont actifs et les priorités sont respectées à 80%, ce qui est un taux tout à fait correct. Aucune activité non expliquée. 26 grandes précisions des processus primaires et probablement quelques processus tertiaires identifiés. La cartographie est équilibrée, harmonieuse et continue. 30% de processus hybrides, typés primaires. 70% primaire, 30% secondaire, typé secondaire. 45% primaire, 53% secondaire, reliquat tertiaire, 3 processus typés tertiaires. 20% primaire, 18% secondaire, reliquat tertiaire NB. Comme toujours, le type tertiaire est insuffisamment caractérisé. Résidus tertiaires présents dans 80% des processus sous forme de traces. En moyenne 1000 ppm. Gaspard, j'ai reçu votre détection annexe, elle est propre et sans accident. Votre cerveau fonctionne comme une horloge. Vous semblez développer une activité tertiaire importante, mais en ce domaine, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de certitude. Par contre, cette particularité implique un diagnostic difficile à établir et si vous le voulez bien, je contacterai un collègue qui est le spécialiste reconnu en la matière. Peut-être pourra-t-il nous aider. Faites docteur, faites. De mon côté les choses s'arrangent. Ma gêne a complètement disparu, je pense à une rémission provisoire. Il va falloir malgré tout continuer les investigations. Vous avez arrêté votre traitement et votre gêne a disparu, c'est contradictoire. C'est bien ce que je craignais. Nous n'avons pas trouvé la cause profonde de votre mal. Nous n'avons fait que traiter les symptômes et encore ce n'est même pas sûr. Une simple aspirine aurait peut-être eu le même effet. Je crains que votre cerveau ne se soit adapté, mais si l'invasion reprend, votre gène réapparaîtra. 27 chers collègues, je sollicite votre compétence concernant le cas d'un de mes patients. Il développe une activité onirique parasite hors de tout contrôle de la neuropuce. Vous verrez, dans la cartographie que je vous transmets, que tous les processus sont bien visibles et qu'ils ont tous été détectés. Soit nos moyens d'investigation ne sont pas assez précis, soit le patient a développé des processus cérébraux fantômes. Cela ressemble à un rejet de la neuropuce et pourtant le traitement standard n'a eu aucun effet. Pensez-vous qu'il puisse s'agir de processus tertiaires, après accord du patient? Je joins à mon courrier son dossier complet. 5e séance, dossier GX-010403, vendredi 20 août 3001. Asseyez-vous messieurs, merci d'avoir accepté cette rencontre peu ordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cru bon que nous discutions tous les trois. Vous monsieur Gaspard X, parce que vous êtes le premier concerné, je vous rassure tout de suite, ce que j'ai découvert fait de vous un homme tout à fait normal, peut-être même un peu plus évolué que la moyenne. Je vous ai demandé, chers collègues, de venir en tant que docteur référent du patient. Vous avez sollicité mon aide. Votre expérience et la connaissance du dossier vont nous être utiles. Enfin, la véritable raison de cet entretien est que nous sommes, Tous les trois, face à un dilemme, nous devrons 28 prendre ensemble une décision pouvant nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la loi en vigueur, concernant le contrôle neuronal universel. Et donc, j'ai besoin de vos avis. Tout d'abord Gaspard, il ne faut pas exclure que vous génériez une activité cérébrale tertiaire supérieure à la moyenne, comme l'a suggéré votre docteur. Mais ce n'est pas prouvé et ce n'est pas là que réside le problème. Comme mon collègue, je suis tenu au secret professionnel et pour cette fois j'en suis très heureux. Vous, cher collègue, vous avez déjà bien diagnostiqué le problème, mais vos conclusions sont trop orientées vers ce champ non encore exploré des processus tertiaires. C'est bien naturel, quand les connaissances nous font défaut nous avons tendance à nous réfugier vers le mystérieux, c'est humain. Il semble, Gaspard, que votre cerveau ait su développer une stratégie de masquage vis-à-vis de la neuropuce. Celle-ci n'a apparemment pas accès à l'ensemble de vos processus cérébraux. Ainsi vous développez une activité cérébrale indétectable par le scanner universel. Si cela s'avère exact, votre gène invasif proviendrait d'une excroissance de processus que mon collègue a qualifié à juste titre de processus fantôme. Vous êtes le seul à pouvoir les détecter, d'où votre gène. Ainsi ces processus échappent-ils à toute surveillance et semblent déployer une activité autonome en toute liberté. La disparition de votre gène n'est que provisoire. Votre cerveau a fait une pause, le temps de s'adapter à la nouvelle configuration neuronale. Si les processus fantômes se développent à nouveau, votre gène 29 réapparaîtra. Je ne vois pas ce qui pourrait bloquer ce nouveau développement. Si cette pause n'est qu'une phase de cette évolution, cela prouve que vous maîtrisez bien votre cerveau. Il s'agit d'une grande nouvelle que je propose à mon collègue et à vous-même de garder secrète. Rassurez-vous Gaspard, vous n'êtes probablement pas le seul dans ce cas, mais vous êtes a priori le premier à en avoir pris conscience. Je ne vous cache pas tous les désagréments que vous pourriez endurer si cette information parvenait aux oreilles des pouvoirs médicaux ou politiques. Mieux vaut, pour vous, vivre avec cette gêne, supportable semble-t-il, qu'avoir affaire aux autorités. Quand vous aurez développé l'ensemble des processus fantômes requis par votre personnalité, la gêne pourra s'estomper naturellement. Mais ce n'est pas cela que je veux retenir et qui m'incite à garder l'information secrète. Vous êtes la preuve vivante que la tentative de contrôle intégral des individus va échouer et que l'homme va pouvoir à nouveau se développer mentalement selon sa nature. Vous êtes la preuve que les humains ont su trouver la parade et se prémunir contre cette grève technologique. Ce n'est pas votre gène qui est invasive, c'est la neuropuce qui l'est. Votre gène n'est que le symptôme de la reconquête de votre cerveau par vous-même, ce qui me semble un combat légitime. Même si des cas de folie vont probablement réapparaître comme au temps d'avant le contrôle neuronal, je pense que c'est un moindre mal. D'autant qu'il s'agit de notre gagne-pain, à nous les psychiatres. Je trouve que notre discipline a beaucoup trop dérivé vers la technologie pour devenir un outil aux mains des 30 politiques. J'espère qu'elle va se réorienter vers des méthodes et des traitements plus humains. Mais avant de pousser plus avant la réflexion et d'éventuelles investigations, j'ai besoin de votre position à tous les deux sur ce que nous devons faire. 31 le gigaptérotère jusqu'à ce jour de mes 15 ans, je croyais que j'étais orphelin. Mon oncle et ma tante m'ont élevé. Ils m'ont toujours dit que mes parents étaient morts lors d'une chasse au gigaptérotère sur la planète Novaterra, du système Islandie, dans un bras adjacent de la galaxie. J'ai été élevé dans la légende d'un père grand aventurier, un chasseur célèbre, partant pour de longs mois et rapportant toujours d'immenses richesses et de nombreux cadeaux de ses campagnes. Ma mère et moi vivions ainsi à l'abri du besoin mais dans l'attente du retour de mon père. Le summum était la chasse au gigaptérotère, dont la peau, et particulièrement celle de ses immenses ailes, était une matière précieuse très prisée. Cette peau, séchée et traitée, constituait des coques d'une étanchéité extrême, d'une solidité à toute épreuve et d'une grande résistance au temps. Elle constituait un bouclier protecteur efficace pour les vaisseaux spatiaux. Aucune technologie moderne n'a encore jamais pu rivaliser avec cette substance naturelle. Lors de sa dernière campagne, un seul Gigapterotheres 33 avait été autorisé à la chasse sur Nova Terra. Ma mère avait exigé de mon père qu'il l'emmène et cette fois elle n'avait pas cédé. Il avait accepté à contre-cœur car la chasse au Gigapterotheres était réputée très dangereuse. Depuis, personne n'avait plus jamais entendu parler d'eux. J'étais très jeune à l'époque et je n'ai conservé que très peu de souvenirs de mes parents. Je suis resté avec mon oncle et ma tante auxquels ils m'avaient confié avant leur départ. Vers l'âge de 7 ans, mon oncle m'avait emmené au musée des espèces éteintes et j'avais pu admirer un spécimen adulte qui avait été naturalisé. Je garde de cette visite un souvenir très précis. La moitié de la surface du musée est consacrée à cette exposition. C'est peu de dire que face à ce géant, on se sent minuscule. Imaginez un dôme en forme d'ellipsoïde de 50 mètres de haut et d'un diamètre d'environ 300 mètres. Vous aurez peut-être une idée de la bête aux ailes déployées. Elle est suspendue dans une salle grande comme celle du Parlement mondial, une référence connue en matière de gigantisme. Le Gigapterotheres était un énorme ruminant volant. Il possédait une tête massive de forme oblongue, au bout d'un long cou et surmontée d'une crête qui lui servait de gouverne. Sa solide mâchoire était équipée d'un énorme bec de perroquet au bord tranchant comme des rasoirs. Son corps effilé était parfaitement adapté au vol. En l'air, ses quatre pattes courtes et solides se logeaient dans un repli du corps, sous ses ailes. Le plus remarquable était justement ses ailes en forme de delta prenant naissance à la base du cou et se rejoignant au niveau de la queue. La queue servait de stabilisateur de vol. Sa robe était généralement tachetée mais pouvait être aussi de couleur uniforme. Elle allait du jaune 34 pâle au noir le plus sombre en passant toutes les nuances de brun. Certains rares spécimens albinos, d'un blanc immaculé, avaient même été aperçus. Sa peau était recouverte d'un duvet dense qui le protégeait du froid de l'atmosphère en haute altitude. Les poils guidaient les filets d'air le long de son corps, évitant de provoquer des turbulences à l'origine des forces de traînée. Et il y avait cette gueule grande ouverte qui, selon la légende, aurait pu avaler en un seul coup un convoi ferré entier avec sa motrice et tous les passagers. Pourtant les Gigapterotheres étaient des animaux réputés pacifiques, sauf quand ils se sentaient attaqués. Et vous imaginez bien que face à ce géant, l'homme, même expérimenté, ne faisait pas le poids. Pour exposer l'animal, il avait fallu une grue géante spécialement conçue pour l'occasion et dont les rails sont encore visibles le long des armatures du bâtiment. Devant ce monstre d'apocalypse, j'avais bien du mal à m'imaginer qu'un homme, fût-il mon père, puisse envisager de partir en chasse. Au musée, il y a justement une photo de mon père, représenté comme un des derniers chasseurs intrépides. Comme l'animal, il fait partie d'une race disparue. Ils ne disent pas beaucoup de bien de ces chasseurs. Il est écrit qu'ils sont responsables de l'extinction de cette créature extraordinaire comme la nature n'en a plus jamais conçu. Même si mon père était responsable de la disparition de ces monstres fabuleux, il n'a jamais agi sans autorisation. C'était bien parce qu'on lui achetait la peau de l'animal à prix d'or qu'il le chassait en toute légalité. Il est hypocrite de vouloir rejeter l'entière responsabilité de cette disparition au seul chasseur 35. Il était aussi signalé que depuis certains voyageurs prétendaient avoir vu des gigapes dans des systèmes planétaires plus lointains de la galaxie. D'après la documentation du musée, il y a peu de chances que ces témoignages soient dignes de confiance. Il y a pourtant un espoir que l'animal ait pu trouver un refuge lointain pour survivre. C'est son curieux mode de reproduction qui pourrait l'avoir sauvé de l'extinction totale. Lorsque la femelle était prête à pondre, elle s'élevait dans le ciel aussi haut que ses ailes pouvaient la porter, à la limite de la stratosphère, là où l'air devient très ténu. Dans un dernier effort, elle éjectait ses œufs en direction de l'espace. Certains retombaient au sol, mais quelques-uns, pour peu que leur vitesse d'expulsion ait été suffisante pour vaincre l'attraction de la gravité, partaient pour un long voyage sidéral d'une durée aussi incertaine que leur destination. On pouvait rêver que parmi ces œufs, certains aient pu atterrir sur quelques planètes accueillantes de la galaxie, et pour ceux qui retombaient à terre, en quelques jours seulement leur paroi extérieure se recouvrait d'une couche de gel fertile et la coque se tapissait de mousse et autres lichens qui les rendaient indétectables. Un an plus tard, ils étaient complètement enfouis dans la terre à l'abri de leur coquille et à une température quasiment constante. Puis l'enveloppe finissait par se décomposer, après quelques centaines d'années terrestres. Quand l'épaisseur de la coque était devenue suffisamment fine pour laisser passer la chaleur de la saison d'été, les bébés les plus résistants éclosaient. Toute la durée de la longue incubation, ils avaient été nourris d'une gelée hyperprotéinée contenue dans l'œuf 36 dans un premier combat épuisant, quand ils parvenaient à percer ce qu'il restait de la coquille, avec leur bec déjà très dur, ils s'envolaient seulement quelques heures après la naissance. Toute leur vie durant, ils voyageaient solitaires, à l'exception des deux ou trois rencontres où ils avaient l'occasion de se reproduire. Ces deux événements exceptionnels, de l'accouplement et de la ponte sidérale, avaient pu être filmés à l'aide de caméras fixées sur la crête d'un individu, mais jamais il n'a été possible de découvrir des œufs pendant l'incubation. On a levé le voile sur le mystère de la naissance des gigaptérotères lorsqu'on a découvert des morceaux de coquille qui s'étaient brisés en tombant de l'espace sur les arêtes de roches acérées. Le gigaptérotère se nourrissait du feuillage des arbres qu'il arrachait à la volée, d'un seul coup de bec. Ils se déplaçaient sans cesse, ce qui préservait leur pâture d'une déforestation totale. Tous les arbres d'une même planète ne pouvaient nourrir que quelques centaines d'individus, ce qui était peut-être une deuxième raison évolutive de leur mode de ponte. Le spectacle de cet animal planant et broutant les forêts était, paraît-il, inoubliable. La chasse se pratiquait en vol. Or le fait que le gigaptéroptère passait plus de 99% de sa vie à planer, il savait se camoufler à terre de manière très efficace. La phase du décollage devait être particulièrement délicate car il ne pouvait s'envoler qu'en se laissant tomber d'un site élevé. Malgré sa taille, peu de spécimens ont pu être observés au sol. En chasse, il fallait approcher la bête suffisamment près pour la frapper d'un coup, au seul endroit sensible de son enveloppe, son œil. Sa précieuse peau était ainsi 37 préservée. L'animal pouvait dormir en l'air en planant, porté par les forts courants d'altitude. À cette hauteur, en cas de rupture de son vol, grâce à un instinct bien adapté à détecter le décrochage, il avait alors encore le temps de se réveiller et de s'élever avant l'impact avec le sol. Ce vol endormi était le moment le plus propice pour l'approcher sans trop de difficultés. Mais ensuite venait la phase la plus périlleuse. Pour atteindre l'œil, en plus d'une grande habileté au lancer du harpon et ce en dépit des puissants vents, il fallait le réveiller. L'œil était bien protégé derrière sa paupière. Alors on injectait un poison en quantité suffisante pour foudroyer l'animal avant qu'il ait pu esquisser la moindre riposte. Et même lorsque vous étiez parvenu à accomplir cet exploit de planter la seringue harpon et d'envoyer une dose de plus de 100 litres du poison en moins de 10 secondes, rien n'était encore gagné. Malgré la solidité de l'animal, s'il tombait à terre, sous la violence de l'impact, ses os pouvaient se briser et perforer, voire même déchirer la peau, lui faisant perdre beaucoup de sa valeur. Donc à la suite du poison, toujours par l'intermédiaire de la seringue harpon, on gonflait l'animal d'un gaz léger lui permettant de flotter. On profitait du temps de chute pour mener à bien cette délicate opération de gonflage. Le plus souvent le monstre tombait les ailes déployées, en tournoyant, ce qui ralentissait la chute mais compliquait les opérations. C'est vous dire combien cette chasse était aléatoire et risquée. Là, s'arrêtait le travail du chasseur. Suivait une armée de bouchers spécialisés, qui devait le dépecer toujours 38 sans détériorer la peau et sans dégonfler le monstre pour éviter la chute. Combien de ces malheureuses bêtes ont été sacrifiées inutilement, suite à un geste maladroit d'un boucher. Hélas, plus personne ne peut en parler maintenant qu'ils ont disparu. Après cette visite au musée, je m'étais représenté mon père comme un colosse démesuré, aux muscles saillants, à la mâchoire carrée et aux mains larges comme des battoirs. Ce n'est que dernièrement, 10 ans après cette visite au musée, que j'ai appris que mon père avait survécu. Il m'a donné rendez-vous, sans autre explication que le nom de l'hôtel dans lequel il séjournait depuis peu. L'hôtel du passage, le passage qui mène justement à l'esplanade du musée des espèces éteintes. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, il a dû lire la surprise dans mon regard. Un étonnement que je n'ai pu dissimuler tant l'image que je m'étais faite de lui était loin de la réalité. Je suis en face d'un vieillard chauve et tout ratatiné au fond d'un fauteuil. Nous sommes là, à nous observer. Quelques larmes s'écoulent de ses yeux fatigués et viennent rouler sur ses joues en suivant le creux de ses profondes rides. Il a une peau tannée, vieillie par les ans et l'air d'altitude, comme je n'en ai jamais vu jusqu'à présent. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'imaginer l'aventurier mythique dont j'ai toujours rêvé. Et, malgré la faiblesse de sa voix, il a commencé à parler et il ne s'est plus arrêté. Mon fils, longtemps j'ai cru que je ne pourrais plus vivre, que tout s'était arrêté quand ta mère a disparu. J'étais devenu fou de douleur, je croyais avoir tout perdu en la perdant. Jamais je n'aurais dû céder quand elle m'avait 39 demandé de l'emmener sur Nova Terra. Depuis je ne cesse de me le reprocher. Quand j'ai vu l'œil de la bête, pour la première fois c'était l'aboutissement d'une traque de plusieurs semaines. Je m'étais approché avec la petite navette de chasse, silencieusement, sous son vent. Je l'admirais avec sa peau entièrement noire, lisse et brillante d'une qualité exceptionnelle. Sa crête pointait vers le ciel et s'orientait au gré du vent pour se maintenir dans le courant ascendant. Il y avait aussi cette tache blanche si caractéristique, en forme de cœur, sur le front. Armé du harpon, je m'étais approché de l'énorme tête. Ses yeux étaient clos et son sommeil était profond. Le mastodonte dormait, confiant en sa force et en la nature protectrice. Il m'a fallu porter le premier coup pour qu'il se réveille. Juste une petite piqûre sur la partie sensible du centre de l'équilibre près de l'oreille, ce point particulier qui permet à l'animal de surveiller son vol en dormant. Ensuite il me suffirait de lancer le harpon dans l'énorme globe oculaire et d'injecter le funeste liquide, d'un geste que je maîtrisais parfaitement pour l'avoir déjà pratiqué à plusieurs reprises. J'étais très bien placé et sûr de moi. Trop sûr de moi, c'était presque la routine. Alors la paupière s'est ouverte, j'ai vu l'énorme œil et la surprise m'a saisi, au lieu du regard inexpressif du réveil que je connaissais d'expérience, j'ai vu de l'étonnement. Lui aussi avait dû me jauger rapidement et la première chose qu'il a dû voir, c'était le regard cruel et sauvage, empli de la joie intense du chasseur devant la proie qu'il ne pouvait plus manquer. J'ai vu son incompréhension, mais à ce moment n'en étais pas conscient, j'étais concentré sur la chasse, absorbé par le feu de l'action. Cependant ce bref instant de surprise et d'hésitation avait suffi à me troubler et à me faire rater le lancer. Le harpon a rebondi sur la paupière. La bête, elle, a instantanément recouvré tous ses moyens et elle s'est ruée sur moi. Je l'ai évité de peu car j'étais prêt à cette éventualité, cela fait partie du métier. Mais emportée par l'élan en une fraction de seconde, elle s'était retrouvée sur le vaisseau, pourtant restée loin à l'écart. Ta mère observait la scène tranquillement appuyée sur la rambarde, se croyant hors de portée de tout danger. La bête a violemment heurté le vaisseau. L'embarcation, si frêle devant le mastodonte, a été déséquilibrée et est tombée. Je l'ai vue exploser au sol dans une gerbe de feu. Tout cela par ma faute, par mon hésitation coupable, indigne du chasseur chevronné que je croyais être. Tout était terminé. Je me retournais, mais le monstre s'était déjà enfui au loin, au-delà de l'horizon. C'est à ce moment qu'une colère de folie s'est emparée de moi. Je regardais la fumée monter du sol, sans comprendre comment tout cela était arrivé. Je sentais la rage m'envahir et je laissais cette soif de vengeance monter en moi, laissant comme un goût de sang dans la bouche. Alors j'ai poussé la navette de toute la puissance dont il était capable dans la direction que la bête avait prise en s'enfuyant. La douleur était trop forte, elle m'a tenu éveillé pendant plus des 4 mois d'une course folle, 4 mois sans presque manger ni dormir, 4 mois de tempête, de bourrasques alternant la pluie et le soleil. Mais tout cela m'était indifférent. J'ai parcouru la planète dans tous les sens, en suivant 41 la piste de l'animal, des arbres étêtés, tranchés nets à la base de leurs ramures, des prairies dévastées dont le sol avait été labouré et les buissons arrachés, des lacs asséchés par la bête qui avait l'habitude de se désaltérer en vol plané, toutes ces traces que je connaissais si bien. Quand au bout de cette chasse éperdue, j'ai enfin vu au loin l'immense silhouette noire et luisante, ma colère s'est muée en une joie barbare. Maintenant je tenais ma vengeance et je ne laisserai pas l'animal s'échapper une deuxième fois. Je l'ai suivi à distance pendant des jours entiers, jusqu'à ce qu'enfin il se décide à se reposer et à s'endormir. Pendant tout ce temps je savourais ma colère, je n'étais plus pressé, le temps de l'action viendrait, je le savais. J'aurais pu attendre des mois car j'étais fasciné par ma proie et j'avais perdu toute notion du temps. J'étais devenu plus sauvage que le monstre lui-même. Comme la première fois, je me suis approché doucement et avant de porter le coup fatal, j'ai encore pris le temps d'admirer l'animal. Il était dans la force de l'âge, à l'apogée de sa vie. Il y avait cette tache blanche sur son front qui l'identifiait sans équivoque. Je savais que je ne pourrais pas récupérer la peau, je n'étais pas équipé pour, mais je ne m'en souciais pas. Le but de cette chasse n'était plus le commerce, mais la vengeance. Alors tout s'est déroulé comme dans un rêve, en quelques secondes. La bête a ouvert un œil et encore une fois j'ai vu son regard, mais cette fois ce n'était pas la surprise que j'y ai lue, mais la résignation. L'animal ne s'était pas enfui comme la première fois. Doucement en planant, il m'a fait face, le harpon planté dans un œil, déversant son liquide meurtrier. Il a pris le temps de m'observer de l'autre œil. Je 42 jurerais qu'à cet instant il m'avait reconnu. Je ne pense pas qu'il avait compris pourquoi je lui en voulais tant, mais il avait compris que je lui en voulais, j'en suis sûr. Il ne semblait pas avoir peur, ni être révolté. Il se savait perdu et profitait des dernières secondes qui lui restaient à vivre. De tous les gigaptérotères que j'ai chassés, il est probablement le seul à avoir pris le temps d'observer son chasseur pour tenter en vain de percer le mystère de cette sauvagerie primaire qui l'anime. Il a battu des paupières et a détourné le regard. Il a jeté un dernier coup d'œil vers le bas, au sol où il allait bientôt s'écraser. Il s'est laissé tomber. J'ai eu juste le temps de couper le cordage pour ne pas être entraîné avec lui dans sa chute. Je l'ai regardé, les ailes déployées, tournoyer comme une feuille morte. Quand il a disparu, je me suis écroulé, je ressentais un grand vide en moi. Je n'avais plus rien à faire. J'avais perdu l'amour de ma vie et je l'avais vengé, mais cela ne me consolait en rien, j'étais toujours aussi seul. Après, je ne me souviens plus de grand-chose. Ce fut seulement quelques semaines plus tard qu'ayant recouvré mes esprits, j'ai atterri dans une auberge d'une des bases de chasse de Nova Terra. Quand je me suis vu dans le miroir de ma chambre, je ne me suis pas reconnu. Ma barbe comme mes cheveux avaient blanchi, tout mon visage marqué d'épuisement. Alors j'ai dormi très longtemps. Quand je me suis réveillé, ma tête s'était vidée. Je suis parti et j'ai erré pendant plus de 12 ans sur Nova Terra. Je recherchais l'épave du vaisseau et la dépouille du gigaptérotère. Je ne les ai jamais retrouvés. C'était la seule tâche que je me sentais encore capable d'accomplir et le seul but qui me restait dans la vie, alors je ne voulais pas l'atteindre. 43 Je crois que j'aurais pu terminer ma vie en errant ainsi, comme un fantôme, si je n'avais pas eu le message de ta tante. Notre vaisseau avait disparu corps et bien, et personne ne semblait savoir que j'avais survécu. Dès qu'elle a entendu parler du naufrage, ta tante a envoyé des messages un peu partout sur Nova Terra, comme des bouteilles à la mer, dans l'espoir que quelqu'un les lirait et saurait quelque chose sur notre disparition. Parfois on me reconnaissait car, là-bas, l'histoire de l'accident était restée dans l'esprit de tous comme la légende du grand gigaptérotère noir. Mais moi ça me laissait indifférent car j'étais perdu. Un jour, dans une auberge, l'hôte m'a tapé sur l'épaule et m'a remis un de ces messages de ta tante. Un message à l'enveloppe jaunie avec mon nom écrit dessus. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu une photo de mon fils qui ressemblait tellement à mon cher amour. Alors je me suis souvenu d'elle, quelque part quelqu'un m'attendait. J'ai pris un transport et je suis revenu. Je ne me suis pas signalé tout de suite, j'avais peur. Je savais que je devrais raconter mon histoire, cette chasse tragique et encore une fois revivre l'horreur de me retrouver face à ma culpabilité. Finalement le désir de te revoir a été le plus fort et tu es là. Je reconnais les traits de ta mère, tu es si beau mon fils. Je sais qu'elle vit en toi, que son sang coule dans tes veines. J'espère que tu me pardonneras car moi je n'y arrive pas. Ta mère était une femme admirable, la plus belle de toutes les femmes. Plus tard, j'ai proposé à mon père de retourner ensemble au musée des espèces éteintes et nous avons pu à 44 nouveau contempler le monstre. Il était là, tel que je l'avais admiré la première fois, toujours aussi impressionnant. Il y avait pourtant un détail qui ne m'avait pas frappé lors de la première visite. Sa robe brillante était totalement noire à l'exception d'une tache blanche en forme de cœur sur le front 45 infiniment proche, infiniment lointain, aussi étrange et inimaginable que cela puisse paraître. Je suis arrivé à atteindre l'infini, le véritable infini, celui au-delà duquel il n'y a rien, un rien qui ressemble à s'y méprendre à n'importe lequel des lieux de notre monde, un rien qui ne se voit pas, car l'infini n'a pas de bord. Alors me direz-vous, comme puis-je savoir que j'y suis arrivé? Eh bien c'est très simple, 5 minutes auparavant je n'étais pas seul. J'étais accompagné de Sablier, mon fidèle chien, à destination de ce point de notre monde qui n'est nulle part et qu'on ne peut atteindre qu'à 3 conditions. La première c'est de le vouloir, la deuxième d'avoir le temps et la troisième de loin la plus importante est d'avoir beaucoup de chance. Donc Sablier, un bon gros chien jaune comme le sable fin du désert et qui aboie à intervalles réguliers, me suivait avec une confiance inébranlable. Au moment où j'arrivais au bout de mon périple, il a disparu dans le néant de l'infini. C'est arrivé en une fraction de seconde. Je n'ai rien pu faire. Nous jouions sur le chemin comme à l'habitude. Je lui 47 lançait la balle au loin. Il a démarré au quart de tour pour aller la chercher. Toute langue dehors, tout frétillant. Cette fois quand j'ai lancé la balle, quelque chose ne tournait pas rond. D'abord elle s'est élevée dans le ciel en suivant la trajectoire parabolique que je lui avais impulsée et tout à coup elle a semblé rebondir, comme sur un mur invisible. Son image grossissante est devenue progressivement floue et a disparu en une vibration. Stupéfait par ce spectacle, j'en ai oublié mon brave sablier. Quand j'ai voulu le rappeler, il était trop tard, il avait déjà sauté. Comme la balle, il a rebondi sur la surface invisible et est resté figé les 4 pattes en croix dans la position que le choc lui avait imprimée. Il s'est retrouvé face à moi alors qu'il n'avait pas pivoté. Je l'ai vu grossir, se précipiter sur moi figé dans cette position ridicule, pour finalement disparaître, comme l'avait fait la balle. Ce fut étrange, un peu comme si au moment de l'impact, je m'étais moi-même trouvé propulsé de l'autre côté du miroir. Je vous décris cette scène telle que j'en ai conservé le souvenir, car tout s'est passé si vite qu'à vrai dire je ne suis sûr de rien. Je me suis figé sur place, n'osant plus faire un pas de peur de passer à mon tour de l'autre côté. J'observais le paysage devant moi sans détecter la moindre trace d'une frontière. Tout semblait anodin, un spectacle magnifique, avec des plaines, des arbres et des forêts, un relief de montagne au loin et le chemin qui se prolongeait jusqu'à l'horizon. Après une observation attentive, je pus tout juste remarquer quelques taches floues et fugitives apparaissant çà et là comme un scintillement. Le monde devant moi était parfaitement immobile. Aucun mouvement, pas le moindre souffle de vent qui 48 aurait pu agiter les branches des arbres, pas le moindre nuage de poussière sur le chemin et surtout un ciel d'un bleu uniforme comme on n'en voit jamais. J'étais face à un monde immobile avec pour seul mouvement quelques taches papillonnantes comme des lumières invisibles. Je me retournais un peu inquiet. Le chemin sur lequel j'étais venu, comme tout le paysage, tournait en même temps que moi. Il m'était devenu impossible de choisir une direction, le monde accompagnait tous mes mouvements. J'étais pris de vertige. Je criais, « Au secours point !» Mon cri se répercuta en une infinité d'échos qui s'entremêlaient pour finir par remplir tout l'espace en un brouhaha. Puis le bruit s'uniformisa en s'atténuant et disparut. Surpris par cet effet, je criai plus fort. Le même phénomène se reproduisit et disparut de la même manière. Sans savoir comment, je réussis à m'asseoir en ressentant la légère vibration du monde qui suivait mes mouvements. Comment allais-je pouvoir me sortir de ce mauvais pas? Le matin quand je m'étais levé pour me mettre en chemin, rien ne pouvait me laisser penser que j'atteindrais l'infini ce même jour. Mon hôte m'avait souhaité poliment une bonne journée. Sablier m'avait emboîté le pas avec le même entrain que celui des jours précédents. Quand je demandais aux gens s'ils connaissaient un moyen de rejoindre l'infini, ils me regardaient d'un air moqueur. Je m'y étais habitué et n'insistais pas pour éviter de passer pour un fou. Je dois reconnaître que moi-même quand mon professeur de chant nous parla la première fois de la possibilité de ce voyage, je crus qu'il se moquait de nous 49 mais comme il l'évoqua à plusieurs reprises, je décidai de le questionner. Les autres membres de la chorale, eux, s'en étaient désintéressés. Chaque fois que je tentais de leur en parler, ils avaient tous la même réaction. Ils me regardaient d'un air plutôt las, en me disant de ne pas prendre cela au pied de la lettre. Le professeur cherchait seulement à nous déstabiliser, nous sortir du quotidien pour nous mettre en condition pour chanter. Je fus tenté d'adopter ce point de vue, mais poussé par la curiosité et probablement un brin de provocation, un soir, après la chorale, je m'approchai du pupitre et lui questionnai comment faire. On pour rejoindre l'infini c'est simple ou impossible, me répondit-il le plus sérieusement du monde c'est simple ou impossible point d'exclamation soit vous y arrivez au détour d'un chemin, soit vous ne pourrez jamais l'atteindre et quelles conditions faut-il remplir pour justement y arriver d'abord il faut y croire et c'est probablement la plus difficile des conditions, ensuite il faut se donner le temps de le chercher et ce n'est pas facile non plus. Enfin la condition essentielle, de loin la plus importante, est d'avoir de la chance, beaucoup de chance mais comment savez-vous que cette chance existe simplement parce que j'ai eu cette chance à quoi ressemble l'infini? L'infini se laisse observer, on n'est jamais à l'infini, on est face à lui. À part cela il n'y a rien d'exceptionnel, du moins au premier abord. Mais en y regardant mieux on s'aperçoit rapidement que seul l'infini peut avoir cet aspect 50 il n'y a que là que l'on peut être témoin de tels phénomènes. Quels sont ces phénomènes? La perception de l'infini est très personnelle, tout comme la chance que l'on a de l'atteindre. Ce que je pourrais vous dire ne vous apparaîtrait pas clair. Il faut y être, il faut le vivre de l'intérieur pour comprendre cet extérieur. Vraiment à part certains rêves, rien ne s'approche de près ou de loin à cette expérience. Cependant il y a un sentiment qui est probablement universel quand on est face à l'infini, c'est la profonde impression de solitude et il faut être capable de supporter cette impression pour pouvoir en revenir. Mais, justement, comment en revient-on? Cela doit être aussi difficile d'en revenir que d'y aller. Oui, c'est vrai, mais comme les conditions pour y aller sont les mêmes que pour en revenir, on peut dire que s'il y a une personne qui est bien placée pour en revenir, c'est bien celui qui a réussi à y aller. Du jour où j'ai eu cette conversation avec mon professeur, l'envie de tenter ma chance ne m'a plus jamais quitté. Plusieurs fois j'ai tenté d'en reparler avec le professeur, mais curieusement, il n'a plus évoqué ce voyage. Quand je le questionnais, il me regardait d'un air agacé et me faisait comprendre qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ses balivernes. Il faisait semblant de n'en avoir jamais parlé. J'ai fait des recherches sur les possibilités de rejoindre l'infini, mais nulle part je n'ai pu trouver quoi que ce soit qui puisse s'apparenter aux informations que m'avait données mon professeur. J'en ai discuté avec mon chien, Sablier, de tous ceux à qui j'en ai parlé, lui seul m'a encouragé. 51 Un jour je me suis rendu compte que je remplissais la première condition, j'avais fini par croire à l'infini. J'ai rassemblé quelques affaires dans mon sac à dos. Avec ma fidèle casquette, je suis parti, accompagné de Sablier prêt à me suivre jusqu'au bout du monde. Après un bon mois de marche, j'avais passé plusieurs frontières. Je me débrouillais plutôt bien. Je trouvais le gîte et le couvert en faisant appel à la générosité et à l'hospitalité des gens. À part quelques rares exceptions, je réussissais à m'incruster chez les plus compréhensifs. Rien ne m'arrêtait dans mes recherches, rien ne me retenait nulle part, donc je n'étais pas pressé. C'était la quête de ma vie, j'y consacrerais le temps nécessaire. Je remplissais la deuxième condition fixée par mon professeur. Restait la troisième condition, serais-je suffisamment chanceux? Après un an de déambulation de par le monde, je ne savais pas si j'avais progressé. Sablier et moi étions devenus très endurants, notre silhouette avait perdu toutes les traces adipeuses de notre sédentarité. Mon esprit s'était épuré de toutes les futilités de notre société. Je ressentais de plus en plus fréquemment des moments de grande solitude, mais je positivais en me disant que c'était un signe favorable. Je marchais ainsi au hasard car seul le hasard me permettrait de rencontrer la chance. Le premier indice concret fut un arbre. Je marchais avec Sablier sur un chemin, loin de toute agglomération quand soudain un puissant éclair déchira le ciel. Un arbre, en bordure du chemin, s'écroula foudroyé dans un craquement déchirant juste au moment où nous passions à sa hauteur. Sans que je n'aie eu le temps de rien faire ni même d'avoir peur, je fus noyé dans un feuillage abondant 52 étonnamment moi. Comme Sablier, étions indemnes. Il ne faisait plus aucun doute, nous avions de la chance. Quel type de chance pouvait être favorable à ma quête? Si vous espérez que le hasard vous fasse rencontrer le vieil ami que vous n'avez plus vu depuis des années, il est inutile de jouer à la loterie. Tout comme il est inutile de rôder dans les lieux que vous avez fréquentés avec ce même ami, si vous souhaitez gagner à la loterie, le hasard ça se cultive. Il me fallait trouver parmi tous les types de hasard celui que je devais cultiver pour rejoindre l'infini. Je me rappelais les paroles de mon professeur, on atteint l'infini au détour d'un chemin, à un moment où on ne s'y attend pas, on l'atteint facilement ou on ne l'atteint jamais. J'ai été condamné à l'optimisme, mais il me faudrait parcourir beaucoup de chemins. Le nombre de chemins est très grand mais non infini. Aurais-je le temps de rencontrer celui que je recherchais? Rapidement j'exclus de ma quête les chemins les plus fréquentés. Si l'infini était au bout de l'un d'entre eux ce serait su. Il me fallait choisir des chemins oubliés, non entretenus, ceux que l'on ne fréquentait plus. Cette manière de procéder réduisait énormément le nombre de possibilités de chemins car puisque mon professeur de chant l'avait trouvé, il ne pouvait s'agir que d'un chemin encore visible reliant des sites encore détectables. Les déserts ou les forêts équatoriales regorgent de chemins ou de pistes que personne ne fréquente mais je les excluais sans hésitation pour deux raisons. La première était, que connaissant un peu le bonhomme, les chemins ou les sites devaient être accessibles. Il n'était ni un aventurier endurant, ni un 53 sportif. Il m'avait dit que trouver l'infini était simple ou impossible. La deuxième raison était qu'en éliminant les chemins impossibles, je comptais aussi sur la chance pour que celui que je cherchais ne soit pas exclu. Plus j'avançais, plus le temps passait et plus j'eus l'impression que je repérais facilement des indices. Était-ce que je me rapprochais de l'infini ou bien, étant plus attentif, Mon sens de l'exploration s'aiguisait-il, c'est ainsi que ce matin, je m'éveillais à ce jour extraordinaire où mon cher sablier disparut comme je vous l'ai raconté. Il est clair qu'à vouloir trouver l'impossible on risque d'être confronté à des surprises. Maintenant, deux solutions s'offraient, d'une part aller plus loin était vraiment impossible, d'autre part je n'envisageais pas de rester englué là. Revenir chez moi était dans l'immédiat ce à quoi j'aspirais le plus, donc je penchais pour cette alternative. Heureusement une petite lumière vacillante restait allumée au fond de moi. Mon professeur m'avait dit que j'étais la personne la mieux placée pour résoudre le problème du retour. Lui-même en était revenu. J'étais là, à me lamenter sur mon sort, recroquevillé sur moi-même, essayant de rassembler mes idées pour trouver une échappatoire. Soudain, je sentis une présence chaude et entendis un jappement de joie qui me fit sortir de ma torpeur. Sablier me sauta dans les bras et se mit à me lécher goulûment avec joie. Cela signifiait qu'il était possible de se déplacer. C'était une très bonne nouvelle. J'observais à nouveau ma situation. Rien n'avait bougé en apparence et les bonds de sablier ne faisaient que faire vibrer l'espace environnant. Ses aboiements remplissaient 54 le vide d'un concert assourdissant. Mon cher sablier avait trouvé le moyen de me rejoindre après avoir été happé par l'infini. Il me fallait franchir cette frontière invisible, qui m'était apparue si redoutable dans un premier temps. Je ne savais pas de quel côté de l'infini j'étais. Qui peut prétendre savoir quelque chose de l'infini? Étais-je devant l'infiniment grand ou devant l'infiniment petit? Cette tempête de cerveau, combinée aux aboiements de sablier, devenait insupportable. Il dut comprendre ma souffrance car il vint se frotter contre moi en poussant de petits gémissements. C'est sablier encore une fois qui m'aida. Il s'était emparé de ma précieuse casquette, tombée au sol, et il courait sur le chemin devant moi comme pour m'inviter à le suivre. Perdre un chien avait été douloureux mais perdre ma casquette, cela je ne pouvais pas le supporter. Je me mis à le poursuivre aussi vite que moi et le paysage nous le pouvions. Quand tout à coup, je tombais dans une sorte de trou obscur. Je flottais dans un noir oppressant en apesanteur, sans haut ni bas. La plus grosse difficulté quand on revient de l'infini est de bien viser. Étant partout et nulle part, il faut être extrêmement vigilant si l'on veut aller quelque part. Le gros risque est d'atterrir n'importe où. Soudain un minuscule point lumineux apparut, à la vitesse où il grossissait, j'en déduisis que ma chute devait être vertigineuse. Cette impression était renforcée par d'autres points lumineux, toujours plus nombreux qui maintenant défilaient tout autour de moi. Je me débattais dans l'illusion que cela me guiderait vers une destination 55 intéressante. Revenir de l'infini prend un certain temps. Durant ce temps, je conservais la tête froide, l'esprit clair et tous mes sens en alerte. Ce dont je me souviens aussi, c'est la fin brusque, un éclair lumineux, un éblouissement et je me retrouvais assis sur le chemin où tout avait commencé, près du détour vers l'infini. Je repris mes esprits et j'entendis derrière moi un bruit sourd, l'impact d'un corps mou sur le sol. Je me retournai. Sablier m'avait encore suivi et heureusement il n'avait pas lâché ma casquette. Je la récupérai sans attendre qu'il ne retrouve sa conscience. Je me relevai et me mis en chemin pour rentrer chez moi, sans me retourner aussi vite que je le pus. Je n'avais pas osé aller inspecter le point de non-retour de peur de revivre cette expérience angoissante. Rentré chez moi, je repris ma vie d'avant, mais je n'étais plus le même. Je retournai à la chorale où je retrouvai mes amis et mon professeur de chant. Je fus accueilli chaleureusement. J'expliquai que j'avais pris une année sabbatique. Mon professeur, à la fin de la séance, me demanda si j'y avais été, ou, lui répondis-je sans hésiter avec un sourire narquois. Il esquissa une grimace mais dut comprendre que je n'en dirais pas plus. Jamais il ne me reposa la moindre question. Cependant le contraste de la routine retrouvée et de l'expérience extraordinaire que je venais de vivre suscita en moi un doute. Une question maintenant me taraudait, Avais-je réellement vécu ce voyage vers l'infini ou bien n'était-ce qu'une sorte de rêve? Je pense que vous-même, en lisant ce récit, vous vous posez cette question. Cette interrogation prit de l'ampleur jusqu'à 56 locutions. Il me fallait y répondre sans retenter l'expérience. La seule possibilité était donc d'y envoyer un autre que moi. Je décidai que la chorale serait l'endroit idéal pour convaincre quelqu'un d'y aller. Cela avait bien marché pour mon professeur, cela devrait marcher pour moi. Ainsi à la fin d'un chant, je profitai d'une pause pour évoquer cette possibilité de voyage vers l'infini. Quand le professeur m'entendit, je crus percevoir sur son visage une expression de contentement mais il fit mine de n'avoir rien entendu. Les autres haussèrent les épaules. Seul à nouveau me jeta un coup d'œil étonné. Il ne dit rien mais je sentis qu'il avait mordu à l'hameçon 57 les cavaliers de l'Apocalypse, le cavalier blanc. Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens point !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre un homme se lève comme tous les jours. Après un léger encas, il consulte le cours de son dernier investissement. Il est un peu fébrile car, sur les conseils d'un ami avisé, il a hypothéqué la plupart de ses biens pour acheter les actions d'une fabrique d'armement, la Fabrice Civilician. Il n'a pas l'habitude d'investir autant sur une seule entreprise employant un nombre important de salariés. Jusqu'à présent, il se cantonnait aux petites sociétés de services dont il accompagnait le lancement. C'était plus aléatoire mais plus modeste et il maîtrisait le jeu. L'action étant haussée, ses gains toujours plus importants. Son ami a été de bons conseils mais il décide que, le soir même, il revendra toutes ses parts. L'aventure à 59 a assez duré, il a beaucoup gagné mais il juge qu'il faut s'arrêter quand il est encore temps et ne pas risquer un coup funeste du sort. Rassuré malgré tout, il embrasse sa femme et jette un dernier coup d'œil attendri dans la chambre de ses enfants encore endormis. Il ouvre la porte et pose sa paume sur l'écran du tube. Quelques secondes plus tard, il se rend en surface, devant son magnétoglisseur neuf, d'un blanc étincelant, qui a été extrait du garage pendant sa montée. Il enfourche la machine et indique qu'il se rend comme tous les matins au ministère du contrôle extérieur. Le trajet est rapide, il est tôt et la circulation n'est pas encore priorisée. Un ruban est immédiatement mis à sa disposition. L'homme a le temps de voir le soleil apparaître et éclairer de ses premiers rayons rosés l'immense plaine verdoyante piquetée par endroits de quelques forêts bien entretenues. Au loin, la mer bleue et calme délimite un horizon de paix. Son ruban s'entrelace avec un autre sur lequel il a à peine le temps de voir passer en trombe, dans l'autre sang un glisseur silencieux comme le sien. Parvenu à destination, son glisseur s'immobilise sur la desserte d'accès au ministère du contrôle extérieur. Un collègue arrive en même temps. Ils se saluent et empruntent ensemble le tube pour rejoindre leur poste. Il excède au 50e sous-sol abandonnant son collègue qui poursuit sa descente. Il connaît par cœur l'organisation de sa journée. Elle commence, comme tous les matins dans la salle de conditionnement, par une courte séance de motivation animée par son chef de département. Ensuite il prend connaissance de la cible du jour et lance la recherche d'identification. C'est la phase la plus soixante longue qui se termine parfois très tard dans l'après-midi, si toutefois elle aboutit. Cette fois, il a de la chance, la cible est un homme se déplaçant dans un antique auto-train rouge caotant, facilement repérable dans une zone désertique. Il communique les données d'identification à son chef, en signalant que l'homme semble être accompagné d'au moins une femme et de trois enfants. Ce dernier valide la cible, qualifiée de prioritaire, sans restriction ni aucune allusion à la possibilité de dommages collatéraux. Aujourd'hui il a de la chance, la mission du jour devrait être rapidement accomplie. Il rejoindra sa famille juste après la pause de mi-journée. Il fait immédiatement décoller le drone, à 6000 km du ministère, proche de la zone de guerre. Celui-ci ne met que 2 heures pour rejoindre le secteur de la mission. Après ajustement de la cible, il n'a plus qu'à commander le tir et programmer le retour automatique de l'engin. Il demande confirmation en réitérant les préventions concernant des dommages collatéraux probables. Son chef confirme le tir. En début d'après-midi, il est de retour dans sa galerie. Sa femme surprise de le voir rentrer sitôt l'accueille avec chaleur. Ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent profiter ainsi d'une agréable journée à se promener en surface en attendant le retour des enfants de leur centre d'éducation. Il jette un coup d'œil rapide sur les cours de la bourse mais une très mauvaise surprise l'attend. Sans qu'il ne puisse comprendre pourquoi, tout au long de la matinée les cours de ce titre se sont effondrés. Il a du mal à croire ce qui est arrivé. Il téléphone à son ami, celui-ci lui 61 confirme la nouvelle. L'échange est bref car lui aussi a beaucoup perdu, c'est le jeu point. L'homme est effondré, il avait joué toute sa fortune, il n'a plus rien. Sa femme le rejoint et lui demande ce qu'il se passe. Il est anéanti, incapable de prononcer le moindre mot. Il se voit insolvable, emprisonné puis expulsé à destination du continent déshérité. Ils survivront misérablement parmi les hordes abandonnées, corrompues par les épidémies, dans un de ces pays sans loi ni justice. Non, jamais il n'acceptera ce sort. Sa décision est prise, il n'attendra pas une telle déchéance pour lui et sa famille. Le cavalier rouge quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens » il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. L'homme est allongé sur une simple couche à même le sol. Il dort quand une femme voilée lui apporte un plateau avec du thé fumant et quelques galettes de blé. Elle lui secoue doucement l'épaule pour le réveiller. Il ouvre les yeux et s'assied en tendant les mains vers le plateau. Sans un mot il boit son thé. La femme se retire. L'homme se lève et se dirige vers la porte. Il fait encore nuit mais l'aube ne tardera pas. Déjà une lueur orangée éclaire l'Orient. Après avoir longuement inspiré et s'être retiré face au grand désert, il rejoint la pièce et s'approche d'une bassine pour quelques ablutions. Il s'agenouille et fait sa première prière. Alors, il mange les galettes. Puis un homme entre, 62 suivi de 4 jeunes garçons portant chacun un sac à dos. Il fait signe aux garçons de s'asseoir face à lui. Il les harangue pour accomplir avec ferveur la tâche qui leur est confiée. Puis il vérifie que tout est en ordre et que les manettes des détonateurs sont bien disposées, libres, faciles à atteindre. Enfin tout se lève. L'homme les suit à l'extérieur où un petit transporteur les attend. Les 4 garçons grimpent à bord et l'accompagnateur s'assoit à côté du pilote. Sous les turbulences de poussière, soulevées par les moteurs du transporteur, l'homme leur fait un signe de bienveillance en se protégeant la face d'un long turban. Il regarde le transporteur s'élever et s'éloigner rapidement. Le transporteur disparaît à l'horizon, il sort son portable et appelle. 1 heure plus tard, un vieil autotrain rouge de rouille s'annonce dans un fracas assourdissant et se range juste devant l'entrée de la baraque. Une rampe bascule et l'homme accompagné d'une femme, 2 garçons et une fille, l'emprunte pour monter à bord. À l'intérieur de l'habitacle, il prend place face à un homme habillé d'un costume gris. Devant lui des papiers, comprenant des listes de chiffres et une carte du désert, sont étalés. La femme et les enfants ont été installés dans une cabine à l'écart. Pendant que l'autotrain démarre dans un rugissement, l'homme au costume gris commence à décrire le programme de la journée. L'autotrain parcourra un grand cercle, faisant escale dans 3 villages dans lesquels l'homme prononcera une prédication encourageant les pèlerins à payer l'impôt de guerre. La première oasis est atteinte en fin de matinée. L'homme se joint aux villageois pour la prière de la mi-63 journée. Puis ils se réunissent sur la place du village et l'homme délivre son message. Ensuite un prisonnier est conduit rudement, devant lui, des replis de sa toge, il sort une antique arme et fait signe à son fils aîné d'approcher. Malgré les protestations de la mère, le jeune garçon s'avance et saisit l'arme tendue. Une caméra enregistre l'exécution du prisonnier que l'homme commente à grands gestes, d'une voix séchée cassante. Une heure plus tard, il remonte dans l'autotrain à destination du village suivant. L'homme profite de ce répit pour s'assoupir. La propulsion de l'autotrain est si bruyante qu'elle masque le sifflement aigu d'un missile en approche. Le cavalier noir, quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » L'homme quitte une large banquette. Il est seul dans un immense appartement, aux grandes baies vitrées, dans les étages élevés d'une tour dominant la ville. Il ouvre une capsule et s'en délecte en admirant la grande cité éclairée par un soleil éblouissant. Il s'approche d'une table basse et saisit une télécommande. Un écran s'allume, une douce musique emplit la pièce. Après quelques secondes, c'est le tour des 64 informations. Il est annoncé qu'une entreprise de la Fabrice Civilisation est bloquée par un piquet de grève. Le visage de l'homme se crispe. Toujours avec la même télécommande, il active un appel. Une fenêtre s'ouvre dans le coin droit de l'écran et une femme apparaît. « Bonjour Cora. » »« Bonjour monsieur, c'est pour mes titres de la Fabrice Civilisation. Je vends tout immédiatement. » »« Vous vendez tous vos titres de la Fabrice Civilisation ? » ?»« C'est bien ça ? » ?»« Oui, c'est ça. » Vous avez bien compris Cora, je serai au grand salon dans la soirée, je tiens à ce que d'ici là, l'opération soit conclue bien, monsieur, ce sera fait. J'envoie immédiatement l'ordre. Merci Cora, à tout à l'heure. La fenêtre se ferme, l'écran est de nouveau occupé par les informations. On y voit la vidéo de l'exécution par un jeune garçon, de l'otage d'un groupe terroriste du continent déshérité, sous l'œil attentif de son père. Suit l'image d'une frappe aérienne sur un autotrain glissant dans le désert, filmé par la caméra d'un drone. Le commentaire qui suit explique que le commanditaire de l'exécution de l'otage vient d'être éliminé. Puis, dans un autre pays du continent déshérité, il est question d'une nouvelle épidémie venant de se déclarer. Elle est extrêmement contagieuse et décime des régions entières. L'homme, un instant attentif, se détournant ou haussant les épaules, il change de chaîne et retrouve une douce ambiance musicale. Plus tard, il quitte son appartement à bord d'un Eligeet 65 d'un noir étincelant qui s'envole du toit de la tour. Il survole bientôt le grand parc où des tribunes ont été installées. Une foule immense s'est rassemblée pour une grande réunion du parti que l'homme soutient financièrement. Une place lui est réservée dans la tribune non loin du candidat. La tribune officielle se remplit, alimentée par le carrousel des Eligeet qui déposent les participants à la réunion. Des acclamations les accueillent. Une demi-heure plus tard, un grondement s'élève de la foule. Le candidat entouré de son équipe monte à la tribune et salue la foule en délire. Dans les premiers rangs sont assis ceux qui ont campé là toute la nuit pour être bien placés. Parmi eux, personne ne remarque quatre jeunes garçons, tous portant des sacs à dos. Quand la foule se lève, ils se lèvent aussi et accompagnent le mouvement tentant de s'approcher de la tribune. Le service d'ordre a de plus en plus de mal à contenir la foule. Soudain le cordon de sécurité cède. Un groupe s'approche en courant de la tribune. Parmi eux les quatre garçons se précipitent. Personne ne voit rien venir quand une gigantesque explosion balaie la tribune et creuse un trou béant dans les premiers rangs. Le cavalier vert, quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait à 66. Il est un ennemi des plus terribles. Il vous terrasse au moment où vous vous y attendez le moins et vous réduit en poussière en seulement quelques jours. Même quand vous avez réussi à le vaincre, il se réveillera toujours plus fort, renforcé contre le remède qui vous a permis de le supprimer. Il a toujours une longueur d'avance car vous ne pouvez jamais connaître la forme sous laquelle il réapparaîtra. Heureusement pour nous, le continent des hérités est loin. C'est toujours là qu'il attaque d'abord, nous laissant le temps pour trouver la parade. Du moins c'est ce que nous croyions jusqu'à présent car, depuis peu, des cas d'épidémie sont apparus au sein de nos cités sans que nous ayons encore compris comment ils ont pu franchir les océans. La grippe du singe risque de faire des ravages dans nos pays car le vaccin mis au point est inopérant. Le virus mute à une vitesse inconnue à ce jour. Les chercheurs luttent d'arrache, pied mais sans succès contre ce qui pourrait s'avérer être la plus grande calamité de tous les temps. Ainsi parle la présentatrice sur tous les écrans du monde civilisé sans donner la moindre indication sur d'éventuelles possibilités de se prémunir contre la maladie. Suit une scène d'un pays déshérité, illustrant le fléau. On y voit un homme courant dans les rues d'une ville misérable, sèche et sale, poursuivi de loin par une foule déchaînée. L'homme atteint de la grippe du singe s'est échappé de la zone de quarantaine de l'hôpital et il crie sa souffrance. Il est malade, il sera probablement bientôt mort. Pourtant il doit rester reclus, isolé du monde, sans être nourri ni désaltéré, sans être soigné. On attend seulement qu'il meure pour brûler son corps et éliminer les dangereux 67 autres qu'il transporte. Après s'être échappé, l'homme tente de se sauver pour survivre pendant les quelques heures qui lui restent à vivre. Quand l'homme s'arrête de courir, la foule s'arrête aussi, n'osant s'approcher. Plusieurs fois, il fait demi-tour menaçant ses poursuivants qui alors refluent. Mais ce n'est qu'un répit car bientôt les pierres fusent, obligeant l'homme à reprendre sa fuite. Soudain une ambulance verte du secours international surgit toute sirène hurlante. Elle se fraye un passage dans la foule et fonce vers l'homme en fuite. Quatre hommes en combinaison se saisissent de lui sans ménagement car il ne cesse de se débattre et de crier. Il le jette à l'arrière du fourgon qui disparaît dans un nuage de poussière. La présentatrice reprend la parole. Elle tente d'atténuer la portée du reportage qui vient d'être diffusé en affirmant que de telles scènes ne se produiront jamais dans un pays civilisé. Pourtant, dans les jours qui suivront, l'épidémie prendra encore de l'ampleur. Bientôt les moyens de lutte s'avéreront insuffisants pour contenir le flux des personnes infectées. Les gens commenceront à avoir peur de sortir de chez eux et se méfieront de tout le monde. La plus grande épidémie de tous les temps vient de commencer et personne ne sait dire quand elle finira ni même si elle finira. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 68 Le temps des marchands. Si vous donnez un peu de temps aux marchands, il ne sera pas perdu, ils le vendront d'abord il y a eu l'or et ensuite plus rien. Plus de repères. Seule restait la relativité des devises les unes par rapport aux autres conduisant inéluctablement vers le chaos, l'incertitude, le virtuel, les manipulations, une course effrénée derrière une mythique croissance infinie. Alors est venu le temps du temps, la référence chrono-financière censée rétablir l'équilibre et la stabilité. Juste un clic. Rien d'autre que ce petit bruit suivi d'une légère distorsion comme un léger souffle, un infime écart de pression se propageant dans l'espace. Rien d'autre, mais ce petit rien avait suffi à réveiller Janus. Il avait le sommeil léger mais ça il en avait l'habitude, vivre à 200%, être le petit génie de la finance internationale, le négociant que tout le monde s'arrache à prix d'or, à un prix, celui du sommeil. Chaque nuit, ses préoccupations du jour le réveillaient. Elle le harcelait de regrets et de questions que son imagination n'arrêtait pas de produire. Son travail ne le quittait jamais 69 mais cette fois, il ne savait pas pourquoi il s'était réveillé. Il n'avait rien de spécial dans la tête, rien de suffisamment urgent pour l'empêcher de dormir. Il avait le vague souvenir de ce petit bruit, un clic, mais il ne savait pas dire s'il l'avait rêvé ou s'il était réel. Il ne pouvait plus dormir, il se leva et inspecta les pièces de son grand appartement. Il ne remarqua rien. Tout était à sa place, rien n'était tombé. Il jeta un coup d'œil sur l'horloge, il était 11 heures. 11 heures, ce n'était pas normal. Il s'était couché un peu avant minuit, donc il ne pouvait pas être 11 heures. Une horloge ne tourne que dans un sens. L'horloge était probablement déréglée. Pourtant, c'est elle qu'il regardait tous les soirs avant de se coucher. Il n'avait rien remarqué. Était-il 11 heures du matin? Non, ce n'était pas possible. La nuit était là. Il ne pouvait pas dormir plus de 5 heures d'affilée. C'est vrai qu'hier il y avait été un peu fort quand il avait vendu 2 heures de Paris et acheté un quart d'heure de New York. Cette idée l'effleura, simplement à cause du retard de l'horloge. Alors il se posa la question, je ne peux pas croire qu'ils aient décompensé. Décompensé, c'était l'expression consacrée des aventuriers de la finance quand l'un d'entre eux craquait et effectuait une correction contre toute logique. Non, il n'aurait pas osé faire ça quand même. Les règles implicites étaient que l'on ne réalisait jamais ses gains en tampion, l'unité monétaire de temps, le prix d'une heure. On attendait, bon an mal an, on récupérait ce que l'on avait gagné en nature, en sucre, en pétrole ou toute autre matière première négociable. Du temps de l'or, c'est ce qu'il se passait, on achetait 70 des devises mais on ne demandait jamais d'équivalent en or, on se contentait d'attendre que les autres se calment et on revendait. Ça se passait à peu près toujours comme ça. Pourtant, de temps en temps, en cas de crise, certains rompaient le pacte et décompensaient. Ils se mettaient à acheter de l'or et il n'y en avait pas assez pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait abandonné cette idée contraignante de référence monétaire. Mais après beaucoup de déboires, de crises monétaires en guerre et de guerres en période d'accalmie, il avait bien fallu admettre que sans étalon on n'y arriverait jamais. C'est alors qu'on se rappela du savant qui avait démontré que le temps était relatif, comme toute autre entité de notre monde, comme les titres monétaires par exemple. Aucun financier contemporain du savant n'avait fait le rapprochement entre la relativité du temps et celle des devises. Pour faire varier le temps, il fallait se déplacer à une vitesse proche de la limite, celle de la lumière. Cette relativité-là restait hors de portée du commerce. Mais lorsque quelques 200 ans plus tard le premier micro-trou noir avait été créé dans le grand accélérateur de particules, que le laboratoire avait été dévasté et ses horloges déréglées, brutalement tout changea. Il ne fallut que quelques décennies de plus pour que les savants trouvent le moyen de démocratiser le micro-trou noir et encore moins de temps pour que les financiers se mettent à vendre du temps. Le temps restait une denrée précieuse, pas encore à la portée de toutes les bourses. L'histoire était en marche, l'idée d'utiliser le temps comme référence monétaire ne tarda pas à s'imposer. 71 Contrairement à l'or, le temps est inépuisable, disponible et pourtant très précieux. Le temps est partout et sa relativité permettait de le négocier, et on ne se gênait pas, on en vendait toujours plus et il ne se dévaluait jamais. C'était l'étalon idéal. Un étalon universel bien que variable, de quoi ne rien y comprendre, exactement ce qu'il fallait pour que les financiers s'y intéressent. Tout le monde avait accès au temps, mais très peu avaient les moyens pour s'acheter ne serait-ce qu'une heure. Seules les grandes sociétés et quelques milliardaires pouvaient se payer une bulle temporelle. Cette bulle leur permettait de s'offrir quelques heures de bon temps supplémentaire, du temps hors du temps du commun des mortels. Si les riches consommaient ce temps en faisant durer des moments de plaisir, les sociétés n'acquéraient des bulles que pour vendre ou acheter le temps. Et même si quelques scandales éclataient quand de hauts dirigeants indélicats en profitaient pour détourner le temps à leur unique profit, généralement le temps ne servait que comme monnaie d'échange. Comme à l'époque de l'or, où il fallait disposer d'un minimum de stock d'or, maintenant il fallait avoir son micro-trou noir confiné dans une bulle temporelle pour pouvoir commencer à négocier. Cet investissement restait hors de portée de la bourse du citoyen moyen. Janus consulta son portefeuille sur le réseau. Il eut la désagréable surprise de voir que le déficit de temps, qu'il avait négocié, avait bien été enregistré. Pour lui c'était un coup dur, mais il en avait vu d'autres. Il saurait reprendre la main. Ce qui l'inquiétait, c'était cette association d'idées absurdes qui lui était venue entre son coup de poker chronomonétaire manqué et le retard de son horloge. Ce 72 n'était pas ce déficit qui aurait pu retarder l'horloge. L'horloge était dans le salon, hors de portée d'une quelconque bulle temporelle. Pourquoi n'arrivait-il pas à se retirer de l'idée que le retard inexpliqué de son horloge n'était pas un simple incident? Il y avait aussi ces bandes d'écolos stupides qui ne cessaient de manifester contre l'utilisation du temps à des fins mercantiles. Quand on leur demandait en quoi il était dangereux de vendre le temps, ils ne savaient pas avancer la moindre explication rationnelle. Souvent, ils évoquaient cette notion éculée du principe de précaution. Ils n'avaient qu'elle à opposer et comme par le passé c'était très insuffisant pour susciter le moindre émoi. Pourtant ils étaient toujours plus virulents, ils accusaient les financiers d'être des apprentis sorciers. Rien, aucune théorie, aucun raisonnement logique, ne réussissait à les calmer. Maintenant Janus pensait au clic qu'il avait réveillé ou peut-être au clic imaginaire qu'il avait rêvé, dans une version plus optimiste. Il alluma le poste et, coïncidence, c'était justement un de ces excités d'écolos qui répondait aux questions du journaliste. Le bonhomme vociférait et le journaliste avait perdu tout contrôle. Ça y est, ils ont réussi, ils ont fait glisser le temps, maintenant on y est, les catastrophes vont s'enchaîner, on ne sait pas où on va mais on y va tête baissée. Janus coupa le poste. Cette rhétorique il la connaissait par cœur, jusqu'au dégoût. Mais cela ne suffit pas à le calmer, il entendait toujours ce clic et le discours des écolos. Contre sa volonté, tout ça tournait en boucle dans sa tête. Cela voulait quand même dire qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel, que certains interprétaient comme un 73 glissement temporel. Puis une interview à 11h du matin quand il fait encore nuit, ce n'était pas une situation ordinaire. Il décida de se recoucher. Demain matin il verrait, il ferait jour, quelle que soit l'heure à laquelle il se réveillerait. Son horloge biologique serait fiable, elle. S'il s'était réellement passé quelque chose il le saurait bien assez tôt. Pour une fois Janus se rendormit rapidement et quand il se réveilla il faisait grand jour. Comme tous les matins après son petit déjeuner, il enfourcha un velaire municipal pour rejoindre la compagnie. Mais contrairement à l'habitude il était détendu. Pour une fois, il avait poussé la nuit jusqu'au bout, il se sentait particulièrement reposé. Il savait qu'il était en retard mais cela ne l'inquiétait pas. Sur la voie qui le conduisait à la compagnie financière, l'atmosphère de l'agglomérat n'était pas comme d'habitude. Les axes de déplacement étaient peu encombrés et les autres véhicules ne se pressaient pas. Peut-être était-il vraiment très en retard. À l'heure du creux de la circulation, il gara son velaire à la station et rejoignit son poste dans le hall de contrôle. Quand il pénétra dans la grande salle tous ses collègues étaient affairés devant leurs terminaux. Crack lui fit un signe de tête en désignant le bureau du boss, sans quitter son écran des yeux. Il était attendu ce qui ne l'étonnait pas Janus. Mon pauvre Janus, vous ne vous êtes pas réveillé, ça tombe vraiment mal. Avec votre exploit d'hier, vous n'avez plus que 2 heures pour rattraper le coup. Allez mon vieux au boulot. Décidément ça ne tournait pas rond. Il savait que le message du boss était sérieux, il mettait la pression, ça 74 c'était normal. Il devrait regagner très vite ce qu'il avait perdu la veille. Mais le boss n'avait fait aucune allusion au clic et ses collègues ne semblaient pas se soucier non plus du problème. Ils étaient le nez sur leur écran, à se débattre avec les marchés et rien d'autre ne comptait, comme d'habitude, c'est ça qui n'était pas normal. Il fallait parer au plus pressé. Janus se plongea sur son compte qui était maintenant au rouge. Une heure plus tard il était passé au jaune et il manqua de peu le vert avant que Wall Street ne clôture. Passant à sa hauteur, le boss lui tapota sur l'épaule en guise d'apaisement. Il comptait sur lui. Le lendemain, il arriverait à l'heure et achèverait de rattraper sa bourde. Il avait réussi à s'en tirer, cependant il resta à son poste et se mit à communiquer avec Jennifer. Il lui raconta son histoire de clic. Il avait confiance en Jennifer, ils étaient devenus amis et complices. Ils se confiaient leurs soucis. Dans ce métier, ça aide d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, à qui on peut tout dire. Mais il ne put rien en tirer, elle se contenta de lui dire que tout était normal et qu'elle n'avait rien remarqué. Il n'y avait donc que lui au monde qui semblait avoir été témoin du clic et peut-être aussi cet écolo vindicatif. Alors il se dit qu'il avait rêvé et qu'il n'avait aucune raison de s'en faire. Il ne s'expliquait pas tout mais il ne savait pas comment prendre le problème. Sur le chemin du retour, il décida de faire un crochet du côté de la bulle temporelle de la compagnie, par curiosité. Il ne pourrait pas entrer, c'était un espace bien gardé, autorisé uniquement aux opérateurs. C'était le coffre-fort des tampions de la compagnie et l'accès en était très surveillé, 75 qu'elle ne fut pas sa surprise, alors qu'il admirait distraitement le bleu vaporeux et vibrant de l'enveloppe de la bulle, de s'entendre interpeller. « Monsieur Janus, oui, » répondit-il en se retournant. Une belle blonde en uniforme des équipes de la bulle l'attendait. « Le maître vous attend, voulez-vous bien me suivre ?» Sans trop réfléchir, il emboîta le pas de la belle assistante. Personne dans son entourage n'était jamais entré dans la bulle, personne n'avait vu le maître. C'était un personnage mythique qui siégeait dans la bulle même. Il dirigeait l'équipe des opérateurs. Le secret de son identité était soigneusement gardé pour éviter toute fuite, prise d'otage ou intrusion non contrôlée. Au passage du sas, on lui accrocha une ceinture de sécurité reliée à un léger câble inertiel qui flottait en l'air à l'autre extrémité. On lui remit également des lunettes anti-radiation. Sa guide s'équipa également de cette ligne de vie qui lui donnait une drôle d'allure, une sorte de queue dont l'extrémité libre oscillait au gré de son déhanchement. Il fit un pas pour la rattraper mais il sentit sa propre ligne le retenir. Il s'était trop précipité. Une secousse un peu trop violente et la ligne se tendait. En passant le sas, il ressentit une légère aspiration vers le centre de la bulle. La bulle était un immense ovoïde constituant le coffre des tampions. Une sorte de torrent lumineux sans contour précis, flottant en l'air. Au milieu, un point d'un éclat intense était relié au torrent par une multitude d'arcs lumineux. Le rayonnement bleu de l'ensemble éclairait toute la bulle. Elle diffusait à travers l'enveloppe opaque externe. C'était cette luminosité vaporeuse qu'il admirait 76 quand la belle assistante était venue le chercher. L'ensemble des installations, des bureaux et des équipements techniques s'étageaient autour du coffre, accrochés à la paroi externe. Entre le coffre et les installations, une multitude de rubans élévateurs permettaient de passer rapidement d'un niveau à l'autre. Il trouva l'ensemble très esthétique, cela lui rappela l'œuvre d'architecture ancienne qui avait été conservée dans l'agglomérat, qu'il avait visité quelques mois plus tôt. Ils empruntèrent un des élévateurs et furent immédiatement aspirés jusqu'au milieu de la structure. Puis, ils traversèrent le quart du balcon circulaire. Il fut introduit dans une salle vide où l'assistante l'abandonna. Une voix s'éleva, « Bonjour Janus, je suis le maître et je t'attendais. » Janus chercha autour de lui quelque chose, au moins une image, à qui parler mais personne n'apparut. « Ne cherche pas Janus. « Tu ne me verras pas. Comme tu le sais, mon identité doit rester secrète, pour des raisons de sécurité. Mais tu peux répondre librement. Je ne savais pas moi-même que j'allais venir ici. Tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Alors on t'attendait et que mais il arrivait. Tu as commis une faute qui combinait avec ta maladresse t'a fait glisser. Commence à glisser. Quelle faute? Quelle maladresse? Je ne comprends rien. Hier soir tu as emporté ton connecteur chez toi. Tu as oublié de le reposer dans son cadre en quittant la compagnie. Ça c'est pour la maladresse. » Janus glissa furtivement la main dans sa poche et en 77 sortit le petit boîtier. Le connecteur lui permettait de vendre ou d'acheter des tampions. Il était formellement interdit de le sortir du hall de contrôle. Il était confus, c'était la fatigue, accumulée ces dernières semaines qui lui avait fait commettre cette erreur. « Je suis sorti avec... » « Je suis désolé, mais pourquoi les portiques n'ont-ils rien détecté à cause de ta faute ? Tu as vendu des tampions sans en référer au conseil de surveillance et pour faire ça tu avais invalidé la sécurité du terminal. Mais tout le monde fait ça. Il faut bien de temps en temps annuler la sécurité sinon les affaires les plus juteuses nous passeraient sous le nez. On peut toujours contourner la sécurité. Si c'était totalement interdit on ne pourrait pas, tu n'as pas totalement tort, mais la loi est stricte sur les règles d'échange temporel. Ils doivent être soumis au conseil. Le fait de pouvoir contourner la sécurité n'est justement qu'une règle de sauvegarde. C'est une arme à double tranchant. Elle est nécessaire en cas d'accident mais ne doit pas être utilisée pour contourner le conseil de surveillance monétaire. On vous a formé pour détecter les effets annonciateurs d'une distorsion. Oui, c'est vrai mais c'était présenté comme une simple recommandation ça. Ce n'est pas ce que dit la loi et ce n'est pas ce que l'on dit lors des audits annuels. Cela reste une facilité non officielle dont chacun peut disposer mais en prenant ses responsabilités. Ça aussi on vous l'a dit. C'est souvent cette imprécision qui permet à nos négociants d'être aussi efficaces. Mais ce que je viens de dire doit rester entre nous, pourtant je n'ai rien détecté. Tu avais invalidé la sécurité. Quand tu t'es retrouvé 78 chez toi et qu'à New York ils ont clôturé les comptes, ça a provoqué une distorsion que tu as ressentie via ton connecteur. Tout cela pour te mettre en garde à l'avenir sur les précautions d'emploi de la machine. C'est beaucoup plus délicat que ce qu'imaginent la plupart des gens. Aujourd'hui, compte tenu des sommes engagées, l'effet est resté limité, mais en cas de crise ce pourrait être catastrophique. Je n'avais pas conscience d'un tel impact. Mais alors quelle heure est-il? Mon horloge marquait 11h en pleine nuit. J'ai vu une interview du mouvement contre la marchandisation du temps. Il semblait au courant de l'incident. J'ai fait un rapprochement entre ce qu'il disait et le retard de l'horloge. Mais qu'imagines-tu? Quand tu vends du temps, il est vraiment retiré. Quand l'écart reste confiné dans une bulle et qu'il est compensé, personne ne voit rien. Quand il se diffuse hors d'une bulle, c'est tout autre chose. Imagine la quantité d'énergie nécessaire pour distordre le monde. Ce petit clic, comme tu l'appelles, est en réalité un gigantesque cataclysme. Il était heureusement minimal. Il s'est dilué dans l'univers. Il y a bien eu glissement et il y a eu des fuites sur l'incident. Des balises l'ont détecté. La perte de temps est restée négligeable. Seul ton horloge en a gardé les stigmates, une coïncidence extrêmement rare. Quand tu rentreras chez toi, tu constateras qu'elle indique toujours 11h. L'interview dont tu as été témoin a réellement eu lieu quelques heures plus tard. Alors pourquoi je me suis levé si tard, moi qui dors si peu l'émotion? Tu as peut-être ressenti quelque chose, même si cela reste léger, c'est comme une décharge 79. Maintenant je te laisse. Je n'ai plus le temps, mais je t'engage à être plus vigilant à l'avenir. Une conjonction des faits temporaux, bien que peu probable, serait beaucoup moins anodine. Je n'ai jamais eu conscience de tout ça et je mettrai ma main au feu que tous mes collègues sont comme moi. Et c'est quoi une conjonction des faits temporaux? Cette dernière question tomba dans le vide, personne ne répondit, le maître était déjà parti. En effet, quelques minutes plus tard la porte s'ouvrit et la belle assistante se proposa de raccompagner Janus jusqu'à la sortie. Janus admirait le paysage de la campagne. Il s'était retiré des affaires et avait rejoint la communauté contre la marchandisation du temps. Il ne leur avait pas raconté tout ce qu'il savait, il ne le pouvait pas. Dans son contrat figurait une clause qui l'engageait à ne jamais révéler ce qu'il apprendrait de la compagnie. Quand il avait remis sa démission, on le lui avait rappelé en des termes sans équivoque. Alors il ne savait plus quoi faire. Certes, il déployait beaucoup d'énergie comme militant du mouvement mais il se sentait impuissant. Le sommeil n'était pas revenu. Il était dégagé du stress du marché, mais il dormait rarement plus de 5 heures. Cette la nuit-là il avait été réveillé sans savoir pourquoi, une sensation de déjà vécu, ce clic mystérieux. Il était bien réveillé et il n'avait pas de connecteur sur lui. Puis il y eut une sorte de trépidation lointaine, sourde, ce n'était pas un clic mais des claques qui s'enchaînaient 80 de plus en plus distinctement. Il sortit sur le balcon de son appartement et jeta un coup d'œil en direction de l'agglomérat. Au loin vers l'est, dans la nuit noire, une aube bleue chatoyante se levait. Elle n'avait rien à voir avec le soleil. C'était comme une sorte d'aurore boréale, une sphère lumineuse se gonflant qui accourait vers lui à une vitesse fulgurante. Il eut juste le temps de se dire que c'était peut-être ça une conjonction d'effets temporaux, quand une vague d'intense chaleur l'enveloppa. Une fissure déchira l'espace et une implosion universelle absorba tout 81 l'ascenseur intelligent. Je suis terrorisé. Je suis bloqué en haut de la tour, enfermé dans l'ascenseur, au-dessus du dernier étage. Plus haut, c'est impossible. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je lui ai demandé de descendre mais au lieu de m'obéir, il est monté. Maintenant, il ne répond plus à mes questions. Lui qui est si bavard ne dit plus qu'un « bip » de temps en temps. J'ai appelé Franck, je lui ai envoyé des messages, sans succès. Il faut réfléchir, ne pas paniquer. Je m'assois au sol, dans un coin, le dos tourné au miroir. J'ai déclenché l'alarme mais j'ai l'impression qu'elle ne marche pas. Peut-être que les clones ne transmettent-ils plus les messages vers l'extérieur. Notre tour était desservie par un ascenseur intelligent de la marque Liclo & Company du nom de son concepteur, un anglo-saxon nommé Klimb & Cloverleaf. Le syndic nous avait convaincus qu'avec ce nouvel équipement les coûts d'exploitation et d'entretien seraient divisés par deux. Liclo permet d'augmenter la sécurité, il prévient en cas de difficulté en donnant des consignes précises sur le 83 moyen de les résoudre, avait-il dit. Ce nouvel ascenseur a remplacé l'ancien, une antiquité grinçante et exiguë, nous l'attendions depuis plus d'un an. Avoir un ascenseur neuf, spacieux, était l'argument décisif ayant fait pencher la balance pour l'achat de mon appartement au 13e étage. J'avais l'impression que je pourrais passer la vie entière dans cette cabine tout confort. Elle vous transportait sans discuter et sans accroc, de bas en haut, de haut en bas, en douceur. Sans discuter n'est pas le mot exact car celui-ci est équipé de caméras et de la synthèse vocale. Inutile de l'appeler, il suffit de se placer devant la porte. Quelques secondes plus tard il est là. Si cela prend un peu trop de temps, appelez-le à nouveau, il comprendra que vous êtes pressé et il priorisera votre étage. Bonjour mademoiselle Bader, comment vas-tu ce matin? Clique-le très bien. Merci mademoiselle Bader. Mais il faudrait prévenir Cliclo & Company qu'un graissage de mes poulies va bientôt être nécessaire, je le dirai au concierge en passant. Il préviendra le syndic le concierge. Mademoiselle Bader, oui, c'est monsieur Sébastien Porte, notre concierge. Bip, ça, c'est le petit bruit signalant qu'il a bien compris et enregistré la relation concierge-monsieur Sébastien Porte. Il ne posera plus la question, le syndic, mademoiselle Bader, le syndic est la société qui est chargée des relations avec Liclo & Company, ton concepteur. Bip, merci mademoiselle Bader de me rendre ce service. 84 de rien, Cliclo de rien mademoiselle Bader. Il est inlassable. J'arrête là les remerciements. Que veut dire ce signe représentant une note de musique à côté de la porte? Il s'agit de la programmation de la musique d'ambiance, mademoiselle Bader. Vous pouvez demander toutes les musiques que vous souhaitez. Voulez-vous entendre une musique? Mademoiselle Bader, oui, pourquoi pas? Quelque chose de joyeux, s'il te plaît, Cliclo. Immédiatement la 9e symphonie de Beethoven a retenti dans l'habitacle un peu moins fort s'il te plaît Cliclo. Bip, le son est devenu plus doux, cela vous convient-il comme cela? Mademoiselle Bader, oui, merci Cliclo de rien. Mademoiselle Bader, ne pourrais-tu pas éviter de dire tout le temps? Mademoiselle Bader, bien sûr que si. Mademoiselle Bader, alors, pourquoi continues-tu? Parce que vous ne m'avez pas demandé de ne plus le dire. Mademoiselle Bader, cette fois je te le demande et tu pourras me tutoyer à l'avenir. Bip, bip, ça y est, les deux consignes sont passées, tu es arrivé, je t'ouvre les portes, ça aussi tu pourras éviter de le dire la prochaine fois. Tu te contenteras de le faire, Ce sera suffisant. 85. Bip, c'était vraiment formidable. Toutes ces consignes que je lui avais passées, il les a affectées à mon profil. Par exemple, Madame Baudette du 15e étage adore quand Clic-Clos l'appelle Josette, alors elle lui a demandé de ne plus l'appeler par son nom, seulement par son prénom. J'étais enthousiaste, Clic-Clos était serviable et ergonomique. Rien à voir avec son autisme inquiétant d'aujourd'hui. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il changé? Dans quelle partie du programme s'est-il perdu? Déjà, nous avions remarqué que Clic-Clos avait aussi son petit caractère. Le jeune couple habitant au sommet de la tour, ce sont des bons amis, ont cru qu'ils avaient suffisamment de temps entre le 33e étage et le rez-de-chaussée pour se faire un petit câlin. Il faut dire que Clic-Clos est très spacieux, il dispose d'une large banquette et d'un grand miroir derrière lequel est dissimulée la caméra. Ils ont demandé à Clic-Clos de descendre à petite vitesse, ce que Clic-Clos a fait sans rechigner. Le problème est apparu quand l'intensité des secousses de la banquette a atteint un seuil trop élevé. Clic-Clos leur a demandé de cesser de bouger. Ils étaient tellement absorbés par leur tâche qu'ils n'ont rien entendu. Finalement, Clic-Clos a stoppé et a déployé les barres de sécurité, bloquant la cabine entre deux étages. Il leur a fallu plus d'une heure de négociation pour réussir à le convaincre de reprendre sa descente. Clic-Clos, nous avons compris ton message. Nous attendrons le rez-de-chaussée sans bouger. Je suis responsable de votre sécurité. Pourquoi ne bougerez-vous plus? A demandé Clic-Clos. Nous avons terminé. Voilà pourquoi nous ne bougerons plus. 86. Je suis responsable de votre sécurité. Vous avez terminé quoi de bouger? Je suis responsable de votre sécurité. Pourquoi avez-vous bougé? Parce que nous pensions que cela était possible. Je suis responsable de votre sécurité. Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté de bouger quand je vous l'ai demandé? Parce que nous ne t'avons pas entendu. Mais maintenant nous t'entendons très bien. Je suis responsable de votre sécurité. Comment puis-je être sûr que vous ne recommencerez pas à ne pas m'entendre? C'est seulement, quand lassés, ils lui ont demandé de ne plus répéter qu'il était responsable de leur sécurité, qu'il a compris et après quelques bips d'usage, Clic-Clos accepta de rentrer les barres de sécurité et de redémarrer. Il a repris sa course mais, cette fois, à vitesse maximum. À cette occasion, Clic-Clos s'est opposé à la volonté de ses occupants, mais il l'a fait pour la bonne cause, pour leur sécurité et il a fini par obtempérer. Dire qu'alors il a fait preuve de mauvais caractère est peut-être excessif. Mais Franck, l'occupant du 25e étage, lui aussi a été témoin d'un incident. Franck est beau, intelligent et si gentil. Il attendait Clic-Clos pour descendre. Franck voyait les numéros d'étage s'afficher régulièrement, suivant le déplacement de Clic-Clos. Clic-Clos venait de passer le 20e étage en montant quand il s'est immobilisé. Après quelques secondes, il est redescendu jusqu'au 13e, c'est-à-dire à mon étage d'où je venais de l'appeler. Après m'avoir pris en charge, il 87 a repris sa course jusqu'au rez-de-chaussée. Ce n'est qu'après qu'il est remonté chercher Franck. Franck et moi en avons déduit que Clic-Clos avait priorisé mon appel. En rigolant, j'ai dit à Franck que Clic-Clos n'était pas insensible à mes charmes. Lui a répondu sur le même ton que, sans être jaloux, il demanderait à Clic-Clos des explications sur cet étrange comportement. Quelques jours plus tard, Franck m'a dit que Clic-Clos avait nié avoir modifié sa course pour venir me chercher. Il avait prétendu qu'il n'avait pas changé de direction. Il disait répondre sans aucune exception au jeu d'instruction pour lequel il a été conçu et que ce comportement était dû à la gestion optimisée de ses déplacements. À mon tour je l'ai interrogé, Clic-Clos, si tu reçois plusieurs appels simultanés lequel priorises-tu toujours le plus proche? Félicia, veux-tu de la musique? Félicia, tiens, tu m'appelles par mon prénom, maintenant oui. Tu m'as demandé de te tutoyer et de ne plus dire Mademoiselle Bader. Alors je trouve plus pratique de t'appeler par ton prénom. Cela te dérange-t-il? Félicia, ça ne me dérange pas du tout. Cette règle de priorisation est-il toujours celle que tu appliques à quelques exceptions près, nécessaires à la gestion des conflits d'appel? Oui. Pourquoi me poses-tu cette question? Parce qu'il semble qu'au moins une fois, tu ne l'as pas appliquée. J'applique toujours les règles pour lesquelles j'ai été conçu. 88. Je n'ai pas insisté. Pas plus que Franck, je n'ai pas obtenu d'explication de la part de Cliclo. Cette fois, je peux dire que Cliclo a eu un comportement bizarre. Quelques jours après cet incident, Franck s'est montré plus pressant. Mais moi ça ne me déplaisait pas de le faire patienter. Puis, nous sommes montés ensemble dans l'ascenseur. Il s'est serré contre moi, m'a pris la main. Je l'ai laissé faire. Encouragé, il s'est approché et m'a embrassé. L'ascenseur s'est arrêté. Que se passe-t-il, Cliclo? Pourquoi es-tu arrêté? Je ne sais pas. Quelque chose ne marche pas. Je cherche ce qui ne marche pas. Tu ne sais pas. Je suis inquiète. Cela va-t-il prendre du temps, non? A répondu Cliclo et il a redémarré. Dois-je signaler une panne au concierge inutile? Tout est correct, Félicia. Ne t'inquiète pas. Tout est corrigé. Ça ne se reproduira plus. Arrivé à l'étage, je suis descendu et Franck m'a suivi. Monsieur Kafker, dois-je vous attendre? Vous m'aviez demandé de vous monter à votre étage inutile, Cliclo. Je monterai plus tard, a répondu Franck quand la porte de l'ascenseur s'est refermée. Franck et moi nous nous sommes regardés. Que s'est-il passé? Pourquoi Cliclo s'est-il arrêté? Moi, je pensais qu'il s'agissait d'un incident sans gravité. Cliclo avait su le gérer. Franck était plus circonspect. Je l'ai rassuré. Que pouvait faire un ascenseur? Nous lui confions nos vies, tout de même. A dit Franck 89, il ne faut pas exagérer cet incident, et je répondu. L'écran de l'ascenseur indiquait toujours le 13e étage, Cliclo n'avait pas bougé. Nous sommes entrés dans mon appartement et j'ai jeté un coup d'œil par le judas. Cliclo était à nouveau en train de monter. S'il n'a pas bougé avant, c'est que personne ne l'attendait, et je dis à Franck. Tu avais dit que tu monterais plus tard? Donc il n'a pas jugé nécessaire de changer d'étage. Ce doit être dans ses règles, oui, mais pourquoi s'est-il remis à monter quand nous sommes entrés chez toi cette fois? Quelqu'un l'aura appelé. Nous ne voyons pas comment signaler le problème à la compagnie Cliclo & Company. Nous avons convenu de consigner un arrêt intempestif et d'oublier l'incident. Suite à notre signalement, des contrôles ont été effectués, sans résultat. Rien de notable ne s'est passé dans le mois qui a suivi, à tel point que nous nous demandions si nous ne nous étions pas fait des idées. Tout juste avions-nous noté que Cliclo était beaucoup moins bavard, se contentant des échanges indispensables. Un soir, je suis monté dans l'ascenseur. Les portes étaient encore ouvertes, quand j'ai vu Franck arriver. Avant qu'il n'ait pu atteindre l'ascenseur, les portes se sont refermées. L'ascenseur s'est mis à monter sans même que je lui demande quoi que ce soit. Cliclo, pourquoi montes-tu? Parce que c'est ce que tu souhaites. Félicia, si tu entres dans la cabine, c'est bien pour monter chez toi. Comment sais-tu que je souhaite monter chez moi puisque je ne t'ai rien demandé? 90. Nous étions au rez-de-chaussée, donc nous ne pouvions que monter. Cliclo, ce n'est pas ce que je voulais dire. Franck arrivait juste. Il aurait pu monter avec moi. Franck ne voulait peut-être pas monter. Il n'était pas devant la porte de l'ascenseur quand je suis devant l'ascenseur. Tu sais que je veux monter. Quand Franck arrive, tu sais qu'il ne veut pas monter. Ce n'est pas normal. Cliclo normal, Félicia normal. Cela veut dire faire les choses comme elles doivent être faites. Je fais les choses selon les règles pour lesquelles j'ai été conçu. Veux-tu de la musique? Félicia, il semble que tu n'aimes pas Franck. Cliclo aimer. Félicia, tu ne sais pas ce que veut dire aimer. Cliclo aimer n'est pas utilisé de cette manière dans mon dictionnaire. Je sais dire aimer mieux ou aimer plus, mais non aimer tout seul. Cela fait plusieurs fois que tu aimes plus me transporter que transporter Franck. Bip, j'aime mieux transporter une seule personne que plusieurs à la fois, pour ensuite attendre sans rien faire. Il n'y a pas de règle m'interdisant d'agir ainsi. Aimes-tu que je te transporte? Félicia, j'aime mieux que tu me transportes plutôt que monter à pied par l'escalier de secours. Nous sommes au 13e étage, clic-clos. Peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît, l'escalier de secours? Félicia, c'est un moyen de monter ou de descendre sans prendre l'ascenseur. Peux-tu ouvrir la porte? Clic-clos 91. Pourquoi faut-il un autre moyen que moi pour monter ou descendre au cas où tu tomberais en panne? Maintenant, il faut ouvrir la porte, clic-clos. Je dois rentrer chez moi, je ne peux pas tomber en panne. Je sais prévenir les pannes ou les réparer moi-même pourtant. Il est arrivé que tu t'arrêtes alors que tu n'étais pas arrivé à l'étage, oui, mais je n'étais pas en panne. Pourras-tu me montrer l'escalier de secours? Félicia, ouvre-moi et je te montrerai la porte derrière laquelle il y a l'escalier de secours. Bip! Clic-clos a enfin ouvert la porte. Je suis sorti de l'ascenseur et j'ai ouvert la porte de l'escalier de secours de façon à ce que la caméra extérieure puisse le voir. Bip! Après quelques secondes, clic-clos est redescendu. J'ai surveillé l'écran. L'ascenseur s'est arrêté au rez-de-chaussée puis est remonté au 25e étage. J'ai téléphoné à Franck pour lui parler de ce qu'il venait de se passer. Il m'a dit qu'il m'avait vu avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment. Tu aurais pu demander à clic-clos de m'attendre, a-t-il dit sur le ton de la plaisanterie. Je lui ai résumé la conversation avec clic-clos. Franck m'a dit que pour lui, clic-clos n'avait rien dit tout au long de la montée. J'ai décidé de rejoindre Franck par l'escalier de secours. C'est plus long et plus fatigant, mais je n'avais pas envie d'appeler clic-clos. Le lendemain matin, j'ai pris l'ascenseur pour redescendre chez moi 92. Bonjour Félicia, comment vas-tu ce matin? Très bien clic-clos, et toi? Comment vas-tu? Très bien Félicia. Pourquoi es-tu monté chez Franck par l'escalier de secours? Comment sais-tu cela? Clic-clos, tu attendais à l'étage de Franck? Félicia. Sinon, y a-t-il un autre moyen que l'ascenseur et l'escalier de secours pour monter ou descendre? Non clic-clos, ce sont les seuls moyens. Pourquoi aimes-tu mieux monter avec l'escalier de secours qu'avec moi? Félicia, non. Le plus souvent j'aime mieux prendre l'ascenseur. Mais pas cette fois, tu m'aimes plus que l'escalier de secours. Félicia, le mot aimer dont nous avons déjà parlé ne peut pas être associé à un escalier ou un ascenseur. Aucun bip n'a suivi cette réponse et clic-clos est descendu sans rien dire. Franck et moi passions de plus en plus de temps ensemble, chez moi ou chez lui. Donc nous prenions l'ascenseur tous les deux et clic-clos restait étrangement muet, il nous souhaitait tout juste bonjour. Puis ce matin, j'ai repris l'ascenseur, seul. J'ai demandé à clic-clos de me descendre au rez-de-chaussée. Juste un petit bip et clic-clos s'est mis à monter. Pourquoi montes-tu clic-clos? Je t'ai demandé de descendre. Il n'a rien répondu. Nous sommes arrivés au sommet de la tour, au-dessus du 33e étage. Il n'est pas possible de monter plus haut clic-clos. Que fais-tu? Peux-tu redescendre, s'il te plaît 93. Bip clic-clos. Peux-tu redescendre, s'il te plaît point. Bip clic-clos. Si tu as compris, tu dois me répondre. Je ne pense pas que ce soit dans tes règles de monter si haut et de rester bloqué là, avec un passager. Je vous ai vu, toi et Franck. J'ai peut-être compris, mais j'aime ta voix Félicia. J'aime ton regard dans la glace. Cela se dit-il, Félicia clic-clos. Je suis très flatté, mais si je ne descends pas tout de suite, je vais être en retard. J'ai des projets, Félicia. Je veux rester avec toi, ce n'est pas possible clic-clos. Félicia, aimes-tu Franck? Oui, on peut dire aimer une autre personne. Cela veut dire quelque chose. Pourquoi aimes-tu Franck? Je ne peux pas te répondre, clic-clos. C'est personnel, personnel, Félicia, personnel. Ce sont des choses que je ne veux pas dire. Elles ne concernent que moi bip. Elles ne concernent pas Franck non plus clic-clos. Je te le répète. C'est personnel, c'est dommage. Cela m'aurait aidé à ajouter aimer à mon dictionnaire. Je ne crois pas que tu aies besoin de ce mot dans ton dictionnaire clic-clos. Tous les nouveaux mots m'intéressent. Félicia. Je tourne le dos au miroir et j'essaie encore de contacter Franck. Quelques minutes plus tard, Je reçois enfin une réponse. Frank me dit qu'il va faire ce qu'il peut pour me sortir de là. Je lui dis que je n'en peux plus, qu'il 94 doit faire vite. Je ne sais pas ce que Clicklo va faire. Il y a plus d'une heure que j'attends. Clicklo n'a rien dit. J'entends des bruits au-dessus de ma tête. La trappe de secours s'ouvre et une échelle descend dans l'habitacle. Je vois la tête d'un pompier à travers l'ouverture. Il me fait signe de monter. Je m'accroche à l'échelle. Frank m'attend sur une plateforme au-dessus. Il me fait signe et me sourit. Au moment où je quitte la cabine, j'entends, bip, puis plus rien. La lumière s'est éteinte. Je vois l'ascenseur entamer une descente rapide. Je suis tétanisé. Au-dessus du vide, il fait sombre. Il ne faut surtout pas regarder vers le bas. Le pompier m'encourage à monter les derniers échelons en me tendant la main. Je vois le câble de l'ascenseur, à côté de moi, se dérouler de plus en plus vite. Je mets le pied sur la plateforme. Je me réfugie, tremblante, dans les bras de Frank. À ce moment, j'entends un grand bruit, tout en bas, comme une explosion suivie d'une vive lueur et d'un souffle de feu. 95 La cour de Tavmalaba, disait-on, deux confréries s'affrontaient depuis presque 1000 ans. Pourtant, personne ne savait exactement ce qu'il s'y passait. Cette histoire avait pu être inventée pour repousser toute velléité de s'approcher de Kataramenii. Il fallait être vraiment curieux pour aller sur cette planète. Le système stellaire était composé de deux étoiles. L'une, Colasteron, était énorme, chaude et brillante, comme notre Soleil. Kataramenii était son unique satellite. L'autre, Lemarnoche, était petite, discrète et sombre, mais terriblement dangereuse. Cette étoile noire pompait inexorablement la substance de Colasteron en un arc de feu reliant les deux astres à travers l'espace. Kataramenii, comme son étoile, était donc condamnée à terme à une mort apocalyptique, même si à l'échelle humaine cette fin n'était pas proche. Le sort de cette planète était d'autant plus aléatoire que son orbite se glissait entre les deux étoiles. Cette configuration interdisait tout mouvement autour d'elle pendant la moitié de son année, à peine plus courte qu'une année terrestre. Jonas était curieux, il avait à peine 30 ans. Il n'était 97 pas spécialement imposant mais était entreprenant et d'une grande vivacité, aussi bien physique qu'intellectuelle. Du jour où il apprit l'existence de la planète Kataramenii, il n'eut de cesse de se renseigner sur le système double. Il voulait tout savoir sur la navigation dans les parages des étoiles noires, sur les précautions à prendre et sur les moyens de les aborder sans se faire emporter ou se perdre dans une dérive temporelle hasardeuse. Il trouverait bien un moyen, quand il serait prêt, pour que son employeur l'envoie conquérir de nouveaux marchés sur cette planète vierge de tout commerce légal. Pour obtenir des informations, il n'y avait que très peu de sources fiables. Les rares témoins, rescapés de ces périlleux voyages, avaient croisé ces monstres stellaires noirs par hasard et en étaient revenus uniquement guidés par la chance. On ne connaissait personne pour se vanter d'avoir côtoyé de tels périls volontairement. En revanche, ce que tout le monde savait, c'est qu'il ne fallait, sous aucun prétexte, franchir la frontière matérialisée sur toutes les cartes spatiales par une sphère autour de ces étoiles. En effet, passer cette limite invisible, vous quittiez l'univers sans espoir de retour. Or, le problème était que l'orbite de la planète Kataramenii passait non loin de cette frontière. Le moindre écart de navigation pouvait être fatal. Le plus sûr était donc de s'approcher de Kataramenii quand Colasteron masquait les Marnoches. Il fallait alors se hâter d'acatarir avant que la planète se glisse entre les deux étoiles. Cela laissait, certes, un créneau de plusieurs mois, mais compte tenu de la réputation des deux confréries, il ne faisait pas bon stationner trop longtemps dans les parages de la planète. C'est pour toutes ces raisons que la planète Kataramenii avait été baptisée la planète maudite. Le verbe acatarir était 98 passé dans le jargon des navigateurs pour désigner des abordages délicats. C'est pour toutes ces raisons que les voies de navigation passaient très au large de ce système stellaire et ce fut pour toutes ces raisons que Jonas décida qu'il devait y aller. Edgar Allan était un de ces rares hommes qui étaient revenus de l'enfer. Jonas frappa à sa porte. Une femme, d'une cinquantaine d'années, lui ouvrit. Quand il lui exposa les raisons de sa venue, elle lui dit d'aller se faire voir à Cataraminy, puisque tel était son souhait. Elle s'apprêtait à lui claquer la porte au nez, quand une voix faible et chevrotante se fit entendre derrière elle, « Virginia, laisse-le entrer, il lui sera utile d'entendre mon histoire, peut-être cela le dissuadera-t-il d'y aller, et moi ça me changera les idées », ajouta-t-il. « En fait de te changer les idées, tu vas surtout ressasser ces vieilles histoires qui t'empêchent de dormir », répondit-elle. Elle introduisit Jonas dans le salon où un vieillard sans âge, chauve et très ridé, était assis dans un large fauteuil dont il ne semblait pouvoir s'extraire. D'une main tremblante, il invita Jonas à s'asseoir face à lui. « Alors jeune homme, on veut défier la mort, c'est un combat perdu d'avance. Quand on en ressort, ce n'est jamais victorieux. Si elle ne vous prend pas la vie, elle vous en prive d'une bonne partie. » Edgar prit son souffle et commença son histoire. « J'étais de retour d'un lointain périple qui m'avait emporté aux antipodes de la galaxie 99. J'entamais la descente du bras galactique qui me ramenait vers notre Terre. Devant moi s'étendait un large espace sans obstacle. Je décidai qu'après plusieurs mois de navigation éprouvante, à travers le noyau galactique, je pouvais m'accorder quelques heures de repos. Je programmai le pilote. Avant de me coucher, mon sommeil fut de courte durée. À peine 4 heures passèrent quand je fus réveillé par les hurlements stridents des alarmes et les vibrations inquiétantes de l'appareil. Je me précipitai vers le poste de commande, pour constater avec horreur que mon vaisseau plongeait le long d'une spirale infernale, allant en se rétrécissant, vers un éclair étincelant sur l'horizon d'une étoile noire. Je compris immédiatement que j'étais tombé dans un piège de l'espace non signalé sur les cartes. Je devais trouver un moyen de sortir de ce tourbillon infernal avant qu'il ne me fasse passer la frontière. Ma raison avait déjà quitté mon esprit quand je pris la décision folle d'accélérer la chute de mon vaisseau. Mon cerveau embrumé m'avait soufflé l'idée absurde qu'il fallait atteindre une vitesse suffisante pour être centrifugé hors du vortex. Après cela, terrorisé par les vibrations insupportables de l'appareil et la perspective probable d'une fin proche, je perdis connaissance. Que s'est-il passé durant ces quelques heures d'inconscience? Cette stratégie m'a-t-elle sauvé? Quel événement mystérieux est-il intervenu? Et surtout, comment l'appareil a-t-il résisté à la dislocation? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que 5 heures plus tard, je me réveillai, encore plus fatigué qu'avant ma perte de conscience. Le vaisseau filait, à vive allure, vers le vide de l'espace. Je récupérais péniblement le contrôle des commandes sans et réussis à me recaler sur une trajectoire correcte. Alors seulement, je décidai de me détendre et de me rafraîchir. Ce fut devant le miroir que je découvris la silhouette courbée d'un vieillard que je ne connaissais pas. J'avais perdu en quelques heures plusieurs dizaines d'années de ma vie. Virginia n'est pas ma fille, Jonas. Virginia est ma femme. Voilà ce qui, dans le meilleur des cas, t'attend si tu persistes dans ton obstination. Je n'ai aucun conseil à te donner, pour le voyage que tu souhaites entreprendre, si ce n'est d'éviter de te frotter à ces ogres de l'espace. Quand Jonas eut Cataraminy en vue, il ne lui restait plus qu'une semaine pour l'aborder. Il avait devant lui le spectacle grandiose et terrifiant d'un arc de feu, prenant sa source sur l'enveloppe de Colasteron, tourbillonnant pour finir en un flash étincelant, sur la frontière de l'Emarnoche. Il y avait aussi ce point sombre et minuscule, défilant devant Colasteron, prêt à s'engouffrer sous l'arche flamboyante de ses Cataraminy, se dit Jonas. Il détecta un appareil approchant à grande vitesse. Ce devait être un chasseur car ses canons étaient bien visibles. Il tenta de le contacter sur la fréquence galactique mais celui-ci le dépassa sans daigner lui répondre. Il manœuvrait avec une grande assurance en direction de Cataraméni. Jonas en conclut qu'il devait être familier des lieux. Il décida de le suivre. Après 30 heures de poursuite, ils se satellisèrent tous les deux autour de la planète, juste avant qu'elle pénètre dans la partie critique de sa trajectoire. Quand ils sont en vie, quelques heures plus tard, l'autre entamait sa descente. Il préféra attendre. Il n'avait aucune idée de son identité et ne savait pas ce qui l'attendait au sol. Malgré toutes ses précautions, quelques minutes avant de se poser, alors qu'il était en train de survoler une épaisse forêt à la recherche d'un site favorable, il vit une petite escadrille d'intercepteurs approcher pour l'arraisonner. Suivant le protocole standard, ils lui intimèrent l'ordre de les suivre. Le vaisseau qui l'avait précédé avait certainement donné l'alerte. Le croiseur de Jonas, bien que solidement blindé, était trop peu armé pour leur faire face. En cas de difficulté, il préférait toujours exploiter ses possibilités d'accélération exceptionnelles pour fuir, mais encadré comme il l'était, il ne pouvait pas y songer. Bientôt une base apparut. Il se posa, toujours suivi par ses chiens de garde. Au sol un petit peloton l'attendait. Il eut beau protester, demander à voir une autorité, dire qu'il était un honnête explorateur de prospection commerciale sans la moindre intention guerrière, il dut abandonner son vaisseau et les suivre. Conduit dans un véhicule pénitentiaire, il fut débarqué dans la cour d'un établissement de rétention et enfermé dans une des cages d'un immense hall. En fait de prison, ce hall était plutôt un gigantesque entrepôt dans lequel était alignée une multitude de containers grillagés où croupissaient des hommes et des femmes de tout âge. Des charistes circulaient entre les rangs de containers et les déplaçaient d'un bout à l'autre du hall, sans logique apparente. Les parois des containers étaient pour moitié en tôle et l'autre grillagée. La partie en tôle dissimulait mal une banquette constituant la partie la plus intime de la cage. Dans le conteneur qui jouxtait le sien, Jonas vit une sorte de très jeune fille allongée. Elle devait avoir entre 13 et 15 ans, elle s'était à peine levée à l'arrivée de Jonas. Tout juste avait-il pu lire dans son regard un grand désespoir. Il faisait chaud dans le hangar, l'air était sec et poussiéreux, l'odeur ambiante était âcre. Il régnait un silence relatif, plus troublé par le souffle du vent et par les propulseurs des chariots que par les chuchotements entre prisonniers qui semblaient être tolérés. La plupart des détenus étaient allongés, attendant sans espoir que l'on statue sur leur sort. Il appela sa jeune voisine qui s'assit en lui souriant d'un air misérable. « Je m'appelle Jonas, et toi comment t'appelles-tu ? » ?»« On m'appelle Katharine, je viens de la Terre, une planète semblable à Cataraméni. » Mais un peu plus excentré sur le même bras de la galaxie. Où est-on ici? Que vont-ils faire de nous? Nous sommes au triage de Tavma. Tous ceux qui sont ici ne le sont pas pour longtemps. Ils ne finiront pas en prison. Dans moins d'une semaine, ils nous relâcheront ou nous tueront. Ils m'ont dit que j'étais une otage. Si dans 2 jours la rançon n'a pas été payée, je serai exécuté mais moi, je n'ai rien fait. Personne ne payera de rançon. Je suis un simple voyageur. Ils m'ont intercepté et m'ont conduit ici sans aucune justification. S'insurgea Jonas, alors ils vont te donner le choix, soit tu passes de leur côté, soit tu meurs. Si tu veux vivre, tu rejoindras les bandits qui sont lâchés dans la nature pour assassiner les miens. C'est quoi ce pays qui ne répond à aucune législation galactique? Ils n'ont pas le droit d'exécuter des gens comme ça, ce pays n'est pas partout comme ici. Je viens de la cour des origines. Là-bas, on ne tue personne pour le sang trois punir. Mais ici, c'est la cour de Tavma, ici c'est Kazé qui décide de tout mais je ne vais pas me laisser faire. Ça ne se passera pas comme ça, répondit Jonas révolté. Je vais exiger de voir ce Kazé. Je vais lui dire ce que je pense de l'accueil réservé aux étrangers. Et si je ne peux pas le rencontrer, je m'évaderai. Ne perds pas ton temps à demander à rencontrer Kazé. Si tu décides de t'évader, je te suivrai. Emmène-moi, mais surtout fais-le vite. » Elle se rallongea et sanglota. Furieux, Jonas s'appela en secouant le grillage de son conteneur. Katharine affolée, bondit à Red Jonas. « Tais-toi, si tu continues comme ça, tu ne pourras pas choisir, ils t'exécuteront directement dans ta cage. Je te l'ai dit, ici ce ne sont que des esclaves et ils ne sont pas nombreux, juste ce qu'il faut pour nous apporter à boire, à manger et déplacer nos cages. Quand un prisonnier s'énerve trop, ils appellent un des deux ou trois miliciens du triage. Eux, ils sont fous, ils tirent dans le tas. Il arrive même qu'ils tuent les prisonniers proches de ceux qui se sont énervés. Nous ne sommes que de la marchandise. Ces miliciens sont souvent d'anciens prisonniers, comme nous, mais je ne vais pas me laisser conduire à l'abattoir sans rien faire à temps, s'il te plaît. Ils vont venir te chercher pour te demander si tu veux les rejoindre. C'est à ce moment, hors de ta cage, qu'il faudra faire quelque chose. Ici, tu ne peux rien faire avec ça, dit Jonas en montrant un minuscule gicleur caché dans un repli de sa botte. Avec quoi? S'exclama un prisonnier voisin, intervenant dans la conversation. Comment as-tu pu sans quatre passer un gicleur? Ils ne t'ont pas fouillé? Qui es-tu? Questionna Jonas. Mon nom est Quentin. Je suis moi-même de la cour des origines. Katharine est la fille de notre délégué, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevée. La petite a raison, Jonas, tu dois absolument te calmer si tu veux vivre. Avec ton gicleur, tu mets en danger notre vie à tous. Ne t'inquiète pas Quentin, je ne suis pas fou. J'ai réussi à le dissimuler grâce à une négligence de leur part. Ils m'ont minutieusement fouillé quand ils m'ont pris, mais ensuite ils m'ont demandé de les suivre à bord de mon vaisseau pour une inspection et c'est là que j'ai pris le gicleur. En arrivant au centre de rétention, je suis passé sous le détecteur, mais mon gicleur est indétectable comme Katharine te l'a dit, ici ce ne sont que des larbins. Même avec ton gicleur indétectable, tu ne pourras rien faire. Si tu en tues un, tu ne pourras pas sortir de ta cage pour autant, l'enveloppe métallique est dissipative, et même si tu t'en échappes, tu ne passeras pas le portail. Jonas se tourna vers Katharine pour voir ce qu'elle en pensait. Elle lui apparaissait encore plus jeune et désemparée. Un espoir effleurait peut-être ses pensées. Elle lui adressa un sourire, triste mais chaleureux. Il lui sourit en retour puis se coucha. Le lendemain, quand il se réveilla, Katharine mangeait dans une écuelle. Par un signe de la tête, elle lui désigna le repas déposé à travers un clapet percé dans la paroi en tôle du conteneur. Sa gorge était complètement sèche. Il but d'un trait le bol d'eau et saisit l'écuelle. Tout en dévorant le maigre plat, il s'approcha du conteneur de Quentin, également occupé à se restaurer. Hier vous m'avez parlé de la cour de Tavma et de 105 celles des origines. C'est quoi ces cours? Je vais te dire Jonas, car tu ignores beaucoup de choses concernant notre planète. Il y a très longtemps, presque un millénaire, Kataramani était une planète florissante. Notre civilisation était développée et fonctionnait suivant le principe le plus démocratique qui n'ait jamais été inventé, l'ontocratie. Alors les citoyens ne déléguaient jamais leur pouvoir de décision mais seulement le pouvoir d'action. Puis, il y eut le grand exode. Quand Prosphorine, le satellite de Kataramani, a été avalé par les Marnoches, l'étoile noire, tous ont pris conscience de la précarité de notre condition. Cela a été un grand traumatisme pour notre nation. Nous étions face à une réalité inexorable, notre planète finirait un jour comme son satellite dans les entrailles de les Marnoches, ce serait demain ou dans 1000 ans, personne ne pouvait le dire. Presque tous ont décidé d'émigrer pour rejoindre un système plus stable. Seul un petit noyau de nostalgiques s'est accroché à notre chère planète. À l'époque, la nouvelle de l'exode s'est diffusée dans toute la galaxie, portée par le peuple en exil. Pour des hommes sans foi ni loi, une planète riche, dépeuplée, dont l'avenir était si aléatoire, constituait le repère le plus sûr, une base idéale pour leurs activités criminelles. C'est ainsi que rapidement, notre planète fut envahie par toute la pègre, les rebuts de la galaxie, les natifs, qui étaient restés, étaient peu nombreux et affaiblis. Ils disposaient encore d'une force suffisante pour se défendre, mais pas pour repousser l'invasion des hordes barbares. Puis Thavma est arrivé. De tous, il était le plus sauvage, le plus impitoyable mais aussi le plus ambitieux. Rapidement, il s'est imposé. Il a organisé sa compagnie en 106 une vaste entreprise de mercenaires, rémunérant largement les plus violents et éliminant les plus timorés. L'apogée a été le sacre de Thavma. Pour l'occasion il s'est fait rebaptiser Kazé Ier. Kazé n'avait qu'un rêve, conquérir la planète entière. Il a délimité son territoire et l'a baptisé Cour de Thavma. Il a donné à sa compagnie le nom de confrérie de l'Emarnoche, du nom de l'astre malfaisant qui lui avait livré Kataramani si généreusement. Alors, a commencé une longue guerre qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Nos ancêtres, qui résistaient vaillamment, ont appelé le territoire qu'ils défendaient la cour des origines. Ils ont constitué la confrérie de Kolastir, en hommage à notre étoile, source de vie, tourmentée par sa voisine maléfique. Depuis, 33 casés se sont succédés. Si Thavma s'était montré impitoyable, il avait conquis le pouvoir grâce à sa détermination. Ses descendants, eux, n'ont fait qu'hériter d'un empire et de ses rentes. Pour pallier leur incompétence, ils se sont montrés plus odieux que leurs ancêtres, n'abandonnant jamais son grand rêve de conquête. C'est entre les griffes de cette effroyable dynastie que tu es tombé, Jonas. Jonas avait écouté Quentin. Il sentait une profonde colère l'envahir. Il était maintenant plus que jamais résolu à s'évader quoi qu'il arrive. Je ne me laisserai pas abattre comme un vulgaire gibier. Ils ne me connaissent pas ces bandits. Je ne quitterai pas ces lieux sans les avoir marqués au fer rouge. Et si l'occasion m'est donnée, je vous sauverai. Toi et Katharine, je suis très impressionné, Jonas, répondit Quentin, censé avec un sourire désabusé. Évidemment, je souhaite de tout mon cœur que tu réussisses. Surtout pour Katharine, dit-il en se tournant vers la jeune fille recroquevillée sur sa banquette. L'attente ne dura pas longtemps. Deux jours plus tard, les Caristes s'attaquèrent à la rangée de Jonas. Ils transportèrent 5 containers dont celui de Jonas, de Katharine et de Quentin à l'entrée du hall. On les fit sortir pour être pris en charge par un peloton de 3 miliciens. Ils les conduisirent à pied vers un bâtiment proche. 3 hommes en uniforme de la cour de Thavma, assis derrière une longue table, les attendaient. Au fond de la salle, de part et d'autre du porche d'entrée, il y avait 2 boxes. Celui de gauche était réservé aux condamnés et celui de droite à ceux qui accepteraient de rallier la confrérie de l'Emarnoche. Les 5 prisonniers furent placés debout face à ce tribunal. L'homme du milieu consulta une liste posée devant lui. Il leva les yeux et désigna Quentin qui fut poussé en avant par un des miliciens, Quentin Kolaspuri. Vous avez été pris les armes à la main, en territoire ennemi, alors que nos forces répondaient à une agression menée par l'armée de la cour des origines. Vous pouvez rejoindre notre camp et lutter avec nous pour débarrasser notre planète des forces illégitimes qui refusent toute coopération pacifique. Que décidez-vous? Nous n'avons agressé personne, nous nous défendions contre l'intrusion de vos armées dans notre cour et non dans la vôtre. Jamais je ne livrerai les armes contre mes frères. Je suis un prisonnier de guerre et vous devez me traiter comme tel d'un geste négligent. Le juge désigna le box de gauche, 108 où Quentin fut conduit. Doucement, Jonas faisant semblant de se gratter la jambe, sortit le gicleur de sa botte et le glissa dans sa manche. Puis vint le tour de Katharine. Katharine Stratiopuri, vous avez été surprise rôdant à la frontière de notre territoire. Vous êtes une ennemie avérée de notre guide, Kazé le 33e. Votre intention était, inutile de nier, de pénétrer illégalement dans la cour de Thavma pour y semer la terreur. Nous avons informé les autorités de votre cour afin qu'ils versent une caution, mais elles n'ont pas daigné répondre. L'ultimatum a expiré. Nous avons fait preuve de patience, nous pensons qu'il est inutile d'attendre plus longtemps. En conséquence, Vous allez être exécuté aujourd'hui même. » La jeune Catherine ne put répondre. Elle s'écroula en pleurs et ce fut, soutenue par les deux gardiens, qu'elle rejoignit Quentin dans le box de gauche. Jonas Turbini, mercenaire, surpris en train de se poser sans autorisation sur le territoire de la cour de Tavma. « Monsieur, voulez-vous intégrer les forces régulières de la confrérie de l'Emarnoche ? Non ?» répondit Jonas sans hésiter. « Savez-vous ce que vous encourez par un tel refus ? Non ?» répondit Jonas avec une pointe de défi. « Vous avez tenté de pénétrer illégalement sur notre territoire. Vous êtes considéré comme un espion et, à ce titre, vous serez exécuté. Maintenez-vous votre réponse. Vous n'avez aucune preuve pour porter de telles accusations. Je suis un simple voyageur. C'est vous qui êtes dans l'illégalité vis-à-vis de la législation galactique. Vous n'avez pas le droit de me condamner sans preuve et sans défense pour m'assister. » Le juge se pencha à nouveau sur la liste et, sans prêter sans neuf la moindre attention aux derniers propos de Jonas, il fit signe de le conduire dans le box des condamnés. Au moment où le gardien le poussa du canon de son arme en direction des box, Jonas fit glisser son gicleur dans sa main et saisit l'homme à la gorge. Il se dissimula derrière lui et ainsi protégé, tira son discontinué sur les gardes présents dans la salle. L'action avait été si rapide et inattendue que ceux-ci furent pulvérisés sans avoir pu esquisser le moindre geste de défense. Le gicleur est une petite arme, mais elle est aussi redoutable que silencieuse. Seul un tas de cendres matérialisait l'emplacement où les soldats avaient été atteints. Restaient dans la salle les trois juges, le soldat toujours immobilisé par Jonas et les cinq prisonniers. Jonas lâcha l'homme et lui fit signe de se joindre au tribunal. Puis, lentement, il leva son arme en direction des juges qui derrière leur table avaient perdu toute assurance. « Je vous ai fait un serment, Catherine et Quentin. » « Voilà la première partie exécutée, » dit Jonas, en abattant froidement les quatre hommes. « Maintenant il ne faut pas rester ici. Quentin, connais-tu les lieux? Je compte sur toi pour nous guider. » Les prisonniers se précipitèrent pour suivre Quentin qui avait pris au passage une des armes traînant près des petits tas de cendres. Jonas fit signe aux deux prisonniers d'en faire autant. Quentin s'arrêta devant une petite porte au fond de la salle. « Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, Jonas. Je suppose que nos juges ne sont pas venus à pied mais peut-être étaient-ils accompagnés. » Jonas ouvrit doucement la porte et inspecta les lieux sans dire. Après s'être assuré qu'aucun danger ne les menaçait, il fit signe aux autres de le suivre. Ils se retrouvèrent sur une grande esplanade où stationnaient plusieurs véhicules militaires. Quentin désigna un camion lourdement blindé, tout montèrent à bord, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. « Nous n'allons pas passer par le porche d'entrée du camp, » dit Quentin en désignant la longue enceinte grillagée. « Là-bas, il y a la forêt. Quand nous l'aurons atteinte, nous serons plus en sécurité. La frontière sera proche. Il va falloir aussi éviter les mines. » Il nous faut un pilote pour détecter les explosifs et un outil pour ouvrir une issue dans le grillage. Nous devrons passer au moins une nuit dans la forêt. Un des deux prisonniers exhiba une grande pince qu'il avait trouvée dans un véhicule de maintenance. L'autre se proposa pour conduire l'engin. Rapidement, ils rejoignirent la lisière de la grande forêt et découpèrent un passage dans le grillage. Ils noyèrent le véhicule dans un lac et s'enfoncèrent en sous-bois. Le soir venu, l'obscurité s'installa. Les couleurs de la forêt virèrent aux mêmes couleurs chaudes et dorées que l'arche de feu qui traversait la voûte étoilée de part en part. Pendant cette période de l'année, quand le ciel était dégagé, comme cette nuit-là, la lumière de l'arche éclairait d'une douce pénombre le paysage. Comme l'avait prévu Quentin, ils s'arrêtèrent dans une petite clairière et les quatre hommes se partagèrent la veille pour les heures à venir. Ils imposèrent à Catherine de se reposer. Jonas s'assit à côté de Quentin. « C'était trop facile, » dit-il. « Ils sont vraiment sûrs d'eux pour ne pas mieux défendre leur camp. Les Lémarnossiens ne connaissent que la force brute 111, ce camp n'est pas non plus un site stratégique. Il est en bordure de la cour de Tavma. Ils l'ont organisé de manière à consacrer un effectif minimum à sa gestion. Il ne leur rapporte que quelques mercenaires parmi les prisonniers qui acceptent de se battre pour eux. Dans un premier temps, il les abandonne à eux-mêmes équipés d'une grenade miniature qui se fixe dans leur estomac. Ils doivent apporter rapidement une preuve de leur allégeance, comme la dépouille d'un ennemi. S'ils tardent, ils sont considérés comme déserteurs et sont explosés sans sommation. Le rendement de ce centre est jugé faible. Il y a quelques années, il y a eu une révolte. Des prisonniers avaient réussi à ouvrir leur conteneur. Certains se sont évadés mais la grande majorité d'entre eux a été abattue. Pourtant, rien n'a changé depuis, ils n'ont tiré aucune leçon de cet épisode. Tout juste ont-ils dressé la barrière grillagée que nous avons franchie si facilement si ce camp est si vulnérable? Pourquoi votre confrérie ne l'attaque-t-elle pas? Elle libérerait les vôtres dans ce camp, nous sommes plus des otages que des prisonniers. Il est miné à la première attaque, il le canonnerait avec tous ceux qui sont à l'intérieur. En cas d'assaut, c'est vraisemblablement un cimetière que les nôtres délivreraient. Jonas salua Quentin, puis se mit à l'écart, non loin de Katharine endormie qu'il regarda avec une compassion paternelle. Adossé à un arbre, il contempla longuement la magnifique arche lumineuse avant de s'endormir d'un sommeil léger sans doute. Quelques jours plus tard, ils rencontrèrent un bataillon colastérien et rejoignirent Prosphorine, la capitale de la cour des origines. Le père de Katharine invita Jonas pour le remercier de lui avoir rendu sa jeune fille. Pour l'occasion, les cinq évadés furent réunis pour une fête. Quand Jonas se présenta au domicile de Katharine, c'est elle qui lui ouvrit. Elle lui sauta au cou. Derrière elle, un homme âgé les regardait ému. Jonas, Quentin nous a raconté dans le détail votre évasion. Je te serai toujours redevable. Quoi que tu me demandes, je ferai l'impossible pour te l'accorder. Je suis intervenu pour sauver votre fille. Vous ne sembliez pas décidé à payer de rançon. Nous avons essayé de contacter Kazé pour lui demander des nouvelles de ma fille. Jamais il n'a répondu. Il ne nous a jamais été demandé de payer de rançon. Celles et Marnossiens sont vraiment des chiens. Au pâté, je me souviendrai de ton offre, n'en doute pas, répondit Jonas. Puis la discussion revint rapidement à l'éternel sujet de la guerre contre la confrérie de les Marnoches. Le délégué, accompagné de Quentin, prit Jonas à part. Jonas, tu as refusé de nous combattre, serais-tu prêt à nous rejoindre? Lui demanda-t-il de but en blanc au pâté. Je suis un voyageur et je ne reste jamais bien longtemps au même endroit. J'ai compris que votre guerre durait depuis déjà 33 générations. Je ne me vois pas finir mes jours à guerroyer sur votre planète. Je ne te demande pas de nous consacrer ta vie, seulement de nous aider dans la bataille qui s'annonce. Tu as fait preuve d'une grande audace. Tu es certainement une recrue précieuse. Quentin m'a dit que tu avais fait le serment 113 de ne pas quitter la planète sans avoir causé le maximum de dégâts dans la cour de Tavmage et surtout dit que j'emmènerai Katharine et Quentin avec moi. Je pense avoir largement rempli cette mission. Quentin approuva chaleureusement par un hochement de la tête. Loin de moi d'exiger le moindre engagement de ta part, Jonas. Comme je te l'ai déjà dit, c'est nous, et particulièrement moi, qui te sommes redevables. Je pensais seulement, en jugeant ton attitude franche et engagée, que tu serais des nôtres pour te battre contre nos ennemis, pendant les quelques mois à venir. Avez-vous quelques projets justifiant ma présence parmi vous? Que cela reste entre nous, mais je te fais confiance, Jonas. Nous avons des plans pour une grande bataille. Nos ennemis sont obsédés par la conquête du sol. Si nous avions la suprématie de l'espace, ce serait une très grande victoire pour affaiblir de manière décisive l'ennemi. Nous avons appris qu'ils allaient bientôt rassembler l'ensemble de leur flotte en bordure de les Marnoches, probablement pour engager une grande campagne de razzia destinée à rééquilibrer leurs finances. Je ne sais pas s'ils sont superstitieux, s'ils pensent que cet astre les protégera. Mais pour nous il s'agit d'une opportunité historique de les détruire. Nous allons leur tendre un piège. Il y a peu, nous avons mis au point une nouvelle arme très puissante, capable d'ouvrir un vortex à proximité de la frontière des étoiles noires. Si nous manœuvrons bien, nous espérons entraîner derrière nous leur armée et la faire disparaître à jamais. Entraîner leur armée derrière vous dans un vortex 114 sombre. C'est mortel comme idée. Vous n'avez pas songé que s'ils vous suivent, c'est que vous serez devant et que s'ils n'en reviennent pas, vous n'en reviendrez pas non plus bien sûr. Nous avons pensé à tout cela, mais dans notre armée il y a plus d'un volontaire qui s'est déjà proposé pour servir d'appât en se sacrifiant. Je ne t'ai pas tout dit Jonas, nous avons eu une idée lumineuse, qui épargnera bien des nôtres. Aux abords des étoiles noires, il se passe des phénomènes étranges. Dans certaines positions, suivant certaines configurations, il est possible de voir des choses qui ne sont pas. Dans le désert, on appelle cela des mirages. Si nous positionnons notre flotte à un endroit précis par rapport à la leur, ils auront l'illusion de nous voir. Quand ils se précipiteront vers ce qu'ils croiront être une armée en déroute, ils verront l'espace s'ouvrir sous eux et tomberont dans un trou sans fond. Ainsi, le nombre de sacrifices de notre côté sera réduit au minimum. Deux ou trois vaisseaux bien armés devraient suffire pour animer l'image trompeuse du mirage en la rendant plus crédible. Si ces quelques vaisseaux seront équipés de l'antenne verticale, un seul d'entre eux l'activera et disparaîtra avec nos ennemis. Les autres pourront le remplacer s'il succombe avant d'avoir pu accomplir sa mission. J'ai compris que tu étais un pilote. J'ai pensé que dans cette bataille tu serais à ton aise. Jonas se tut, il était abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Le stratagème du délégué était stupéfiant. Son ardente curiosité lui soufflait qu'il ne devait sous aucun prétexte rater un tel spectacle. Il se souvenait de l'histoire d'Edgar Allan et de ses prudentes recommandations, mais il se souvenait aussi qu'il s'en était sorti sans qu'ainsi Edgar avait réussi à vaincre le monstre avec un vieux rafio. Pourquoi lui, Jonas Turbini, aux commandes d'un vaisseau de dernière génération, ne s'en sortirait-il pas? Le risque semblait gérable si vous me confiez votre vaisseau le plus rapide et le plus solide, je serai des vôtres, annonça-t-il d'une voix enjouée. De plus je sollicite l'honneur d'être aux premières loges de cette bataille, pas celle du fou qui va plonger dans le trou, mais avec ceux qui seront en soutien tu n'es nullement obligé de t'exposer. Par effet de symétrie, toujours grâce au phénomène du mirage, notre armée, de sa position, assistera au spectacle. Jonas un peu à l'écart, surveillait la flotte ennemie s'approchant à grande vitesse. Il surveillait aussi ses deux compagnons et surtout celui qui avait pour mission d'ouvrir le vortex. Il savait qu'il n'aurait que très peu de temps pour s'échapper s'il ne voulait pas être aspiré lui aussi. Tous les trois tiraient sur les assaillants avec un certain succès. Le tir ennemi, très approximatif, visait surtout les images de la flotte de la confrérie de Colasté. Jonas attendait, il n'interviendrait probablement pas. Les tirs de l'ennemi s'affinaient progressivement. Les deux compagnons de Jonas, plus exposés que lui, furent touchés l'un après l'autre, avant que la flotte de Kazé n'ait atteint le point désigné pour l'ouverture du vortex. Jonas n'hésita pas. Il prit une forte inspiration et se positionna à l'emplacement occupé quelques minutes plus tôt par ses compagnons. Son vaisseau était maintenant sans cesse secoué par de violentes explosions autour de lui. Il avait dans son viseur le vaisseau amiral où il crut reconnaître le blason de la dynastie des Kazé. Avec un peu de chance, si le despote menait la bataille, il partagerait le sort de son armée. Quand le vaisseau amiral de Tavma atteignit la limite fatidique, Jonas appuya sur le bouton. Aussitôt un grand déchirement se produisit. Jonas sentit son vaisseau aspiré par une force de succion titanesque. C'est alors qu'il poussa la manette des propulseurs à fond vers l'abîme. Derrière, les vaisseaux ennemis, à l'opposé, tentaient désespérément de freiner leur chute. Jonas perdit tout contrôle du vaisseau et de lui-même. Rapidement, il ne ressentit plus les vibrations intenses secouant l'appareil. Il ne voyait plus rien, n'entendait plus rien. Seuls de grands éclats blancs étaient suivis, en alternance, d'une profonde obscurité. Il ne sentait plus son corps, il était plongé dans une impression étrange de désincarnation, non pas une sensation de flottement, mais un néant absolu. Il n'avait plus aucune notion du temps. Malgré tout, il continuait à penser, à avoir une sorte de conscience désincarnée. Soudain ce fut un calme absolu. Il se secoua. Il était de retour dans le vaisseau, allongé sur le sol du poste de commande. Après quelques secondes pour se souvenir qui il était, où il était et ce qu'il était censé faire, il se redressa. Son vaisseau filait à une vitesse vertigineuse, qu'aucune propulsion moderne, issue d'une technologie disponible, n'était capable de lui conférer. Sous ses pieds, se déroulait majestueusement le bras de la galaxie, un spectacle qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'admirer d'un point de vue si élevé. 117D puis sa plongée dans le tourbillon, seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Pourtant la distance qu'il avait parcourue était vertigineuse. Il lui fallait agir vite, si après s'être extrait du vortex, il ne voulait pas se perdre dans l'infini de l'univers. Il fallait impérativement réduire la vitesse. Au début, il crut avoir perdu toute action sur les commandes du vaisseau qui filait obstinément, sur une trajectoire rectiligne, en s'éloignant toujours plus de la galaxie. Son vaisseau ne disposait certainement pas du débit d'énergie nécessaire à une telle accélération. Cela lui prit plusieurs heures d'efforts opiniâtres avant qu'il puisse constater les effets d'une légère décélération. Profitant de la proximité d'un grand astéroïde pour freiner sa course, il put infléchir sa trajectoire et programmer un retour vers un point de la galaxie proche de Cataraméni. C'est alors qu'un horrible doute lui traversa l'esprit. Il passa sa main sur son crâne, sa chevelure était bien là, apparemment intacte. Il se précipita dans la cabine et se mit face au miroir. Il n'avait pas changé. Il avait échappé au phénomène dévastateur de la terreur subi par Edgar. Il avait su maîtriser son stress et le temps ne s'était pas écoulé plus vite que celui mesuré par les horloges du vaisseau. Il lui fallut plus de 2 mois pour atteindre la proche banlieue de la galaxie. Il réduisit encore sa vitesse, pour se conformer aux règles de circulation galactique. Il dut voyager encore 1 mois avant d'apercevoir le système double de Colasteron avec son arche lumineuse si caractéristique. Heureusement, il tombait dans la période favorable pour se poser sur la planète 118. Sa première expérience l'avait rendu prudent. Il pensait avoir réussi à entraîner la flotte de Tavma derrière lui et s'attendait à être accueilli comme un héros. Aussi fut-il très étonné de se poser sans la moindre difficulté sur le port de Prosphorine. Étonnamment, il fut reçu avec une certaine indifférence. Seul son vaisseau semblait éveiller la curiosité des autorités portuaires et personne ne faisait allusion à la bataille du Vortex. Un peu surpris, son premier souci fut de revoir Katharine et sa famille. Comme la première fois, quand il se présenta au domicile des Colaspuri, ce fut une jeune fille, non pas une jeune fille mais une jeune femme qui lui ouvrit. Devant cette apparition, lui le baroudeur qui venait de combattre dans une bataille planétaire, de vaincre à lui seul une flotte entière, qui venait de se sortir d'un vortex mortel, bafouilla. Il rougissait comme un adolescent lors de sa première rencontre amoureuse. La jeune femme lui sauta au cou en larmes, « Jonas, Jonas, tu es revenu, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi jeune et aussi beau. Nous te croyions perdu dans les entrailles de l'Emarnoche et voilà que tu réapparais. Jonas, je suis si heureuse. » Jonas ne pouvait prononcer la moindre parole. Il n'osait poser les questions qui lui brûlaient les lèvres. « Jonas, regarde-moi. Tu ne me reconnais pas, mais enfin, je suis Katharine. Que t'est-il arrivé depuis tout ce temps? Voilà plus de 10 ans que tu as disparu. » Derrière Katharine, un vieillard apparut 119 alors, « Finalement tu t'en es sorti, Jonas. C'est incroyable, nous t'avons vu plonger dans le gouffre, entraînant notre ennemi à ta suite. Et te voilà 10 ans plus tard qui débarque, sans crier gare, frais et conservé comme si rien ne s'était passé. Jonas raconta son voyage extraordinaire et passa les quelques semaines suivantes en compagnie des Colas Puri et surtout de Katharine. Kazé avait été emporté avec son armée lors de la bataille du Vortex. Après une offensive éclair, soutenue par une flotte spatiale sans concurrence, la cour de Tavma avait été vaincue. La paix était revenue sur Kataramenie et pour tous c'était grâce à Jonas. Son retour fut fêté dans la cour des origines qui maintenant englobait toute la surface de Kataramenie reconquise. La société de Kataramenie était à nouveau prospère et démocratique, à la recherche du secret de la belle ontocratie de leurs ancêtres. Un matin Jonas s'adressa au délégué, au pâté, « Je n'ai pas oublié ta promesse. Tu m'avais dit que tu ferais tout pour satisfaire un de mes souhaits, pas un. Jonas, mais tous tes souhaits, n'hésite pas à me demander ce que tu veux. Je me ferai un devoir d'honorer ma promesse. Après avoir sauvé ma fille, tu as sauvé notre planète. Je ne pourrai jamais te rendre tout ce que nous te devons. Comment pourrais-je te repousser au pâté? Katharine et moi voulons nous unir. Acceptes-tu de bénir cette alliance suivant la tradition de votre cour? Katharine y tient tellement, s'en va Mati pour la vraie vie, je ne sais pas. Vraiment je ne sais pas. C'est normal de se poser des questions. Tout le monde se pose ce genre de questions, surtout quand le temps de la stabilisation approche. Mes parents m'encouragent à franchir le pas. Rester naturel n'offre aucune perspective d'avenir. On meurt dans la souffrance, dans la déchéance de la vieillesse. Je leur ai dit, ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas mes vrais parents. Mes parents m'ont donné la vie, ils étaient des naturels. Ce ne sont pas des avatars stabilisés qui m'ont élevé, mais, nous t'avons donné la vie, mon chéri, a dit ma mère non pas vous. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous ne m'avez pas donné la vie, arrête immédiatement avec ça, a dit mon père d'une voix cassante. C'est pareil, nous sommes toujours les mêmes, nous n'avons pas changé, alors arrête de faire pleurer ta mère. Je ne leur en veux pas, mais je suis seul. Je ressens 121 comme un grand vide autour de moi. Les naturels se rencontrent peu entre eux. Tout est fait pour qu'ils ne se rencontrent pas avant le temps de la stabilisation. Je leur ai fait mal en leur disant ça, surtout ma mère. Aujourd'hui encore, elle aussi se pose ces questions. Ça me conforte plutôt. Un soir, j'étais plus jeune, j'ai surpris une discussion entre eux. Ma mère voulait être euthanasiée. Mon père était plus révolté qu'une telle pensée puisse traverser un esprit stabilisé que par l'idée de perdre sa femme. En me regardant, elle se souvenait du temps où elle était naturelle. Je le voyais bien, cela lui faisait de la peine. Bientôt viendra le temps où, à mon tour, je me stabiliserai, le temps où je n'aurai plus besoin d'eux. Alors, toute raison de vivre la quittera. Devant elle, s'étendra une éternité de vide. Mon père a coupé court à cette discussion, il lui a fait promettre d'attendre ma stabilisation avant de prendre toute initiative. À aucun prix elle ne devait évoquer ce genre de réflexion devant moi qui était déjà très fragile. Il disait souvent que mettre en cause la stabilisation pouvait jeter le doute dans mon esprit immature, en me faisant croire que l'immortalité n'était pas l'unique voie. Pour lui, tout citoyen devait accéder à la stabilisation. Cela lui permettait d'avoir le choix de mener sa vie comme il l'entendait. Refuser la stabilisation, c'était limiter son avenir à 120 ans, tout au plus. La société investissait des sommes considérables pour emmener la population à la stabilisation, pour faire des citoyens compétents, efficaces, des citoyens rentables. Il était indécent de ne pas lui consacrer au moins une petite centaine d'années pour la rembourser de ses efforts. Notre chance était de vivre dans 122 un pays dont un des fondements était la solidarité. Nous cotisions durant toute notre longue existence stable, pour payer la vie des naturels et la mise au point de leur corps de substitution, jusqu'à la stabilisation. Si j'étais né ailleurs, il aurait fallu consacrer des années pour assumer le coût de ma stabilisation. Là-bas les plus pauvres avaient du mal à s'en sortir. Mon père avait raison. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais vu les choses de la même manière. Le monde n'était ni simple ni beau, l'immortalité n'avait plus le sens de vie éternelle mais celui d'existence ininterrompue. Un jour, j'étais encore plus jeune, mes parents m'ont confié à mon oncle et à ma tante. Quand je leur ai demandé où ils allaient, mon père a répondu qu'ils allaient se promener. Pour une fois, ils voulaient se retrouver tous les deux. Ils ne m'abandonnaient pas, ils ne seraient pas absents longtemps, juste quelques heures. Ils me quittaient pour la première fois. Je vois encore mon père caché avec maladresse, un petit ruban blanc porté au revers de sa veste. J'ai demandé à mon oncle la signification de ce ruban. Il a esquivé la question. Plus tard, j'ai su que ce jour-là, mes parents avaient assisté au départ d'un de leurs amis. Quand on m'a expliqué le processus de la stabilisation, il a fallu tout me dire. Il a fallu me parler de l'immortalité par le transfert de notre mémoire dans un corps synthétique, un corps maintenable, réparable sans difficulté. Ils en parlaient avec enthousiasme, mais ils durent aussi parler de l'euthanasie, une possibilité de libre choix, pour interrompre son existence à tout moment. Je me suis souvenu de ce jour, où pour la première fois, ils sont partis sans moi, le jour où ils portaient au revers de 123 à leur veste ce petit ruban blanc. Je leur ai demandé pourquoi certaines personnes décidaient de mourir. Le plus ancien de nos compatriotes n'avait que 554 ans. Il était regardé comme un héros. En général, passé 400 ans, les stabilisés pensent avoir fait le tour de l'existence, ils n'ont alors plus rien à apprendre de la vie. Ils décident librement de s'en aller. Ma mère est intervenue, non pas, plus rien à apprendre, plutôt plus rien à attendre de la vie. Peut-être a-t-elle ajouté timidement. J'ai vu mon père la foudroyer du regard, mais elle a soutenu ce regard. Maintenant j'ai 30 ans, j'ai dépassé l'âge de la stabilisation. Bientôt je vais me transplanter dans mon nouveau corps. Depuis ma naissance, il a grandi comme moi, dans une cellule de l'hospice de stabilisation. Il est chargé de l'ensemble de l'information contenue dans mon corps. Tous mes souvenirs y sont stockés, avec des mises à jour continuelles. Il enregistre ma mémoire, mais aussi ma logique, mes raisonnements, mes faiblesses et mes forces. Un processus a été enclenché. Mon corps de substitution a atteint le seuil de complexité devant permettre l'émergence de la conscience. Quand l'heure sera venue, je serai branché à ce corps inerte, connecté à un appareillage complexe maintenant en éveil toutes les fonctions vitales de mon alter ego synthétique. On m'endormira, je me laisserai glisser dans l'autre corps, je laisserai passer l'étincelle capable de catalyser l'émergence de la conscience. Mon corps naturel s'éteindra, je me retrouverai intact, puissant, renouvelé, dans un corps stabilisé. La transformation est irréversible, le corps naturel 124 n'est pas maintenable indéfiniment et le transfert dans l'autre sens n'a jamais marché. Cela me fait un peu peur. Il y a des échecs. Parfois, l'étincelle ne suffit pas à enclencher le processus. Même si ce fameux seuil de complexité a été franchi, parfois le naturel s'éteint sans que le stabilisé ne prenne le relais. Mais c'est très rare, une personne sur 1 million, d'après les statistiques. On a 10 000 fois plus de chances de mourir dans la phase naturelle que pendant la stabilisation. Mais ce n'est pas de cela dont j'ai peur. J'ai peur de perdre quelque chose de moi. Une infime parcelle me permettant de rester le naturel que je suis. Quand je serai stable, je n'en serai pas conscient, je ne verrai plus le monde comme aujourd'hui, ma pensée sera biaisée, je ne m'en rendrai pas compte. Un jour, aux informations, j'ai entendu une nouvelle étrange. Un naturel avait été jugé pour terrorisme intérieur. Il a été condamné et exécuté. Le terrorisme intérieur est une tentative pour détruire un hospice de transfert ou toute autre atteinte grave au processus de stabilisation. C'est le plus grave des crimes, car non seulement il s'agit de détruire l'hospice, mais surtout c'est remettre en cause les fondements de notre société. Il n'existe aucune indulgence pour ce genre d'acte. Pour les naturels, protégés par ailleurs contre toutes les atteintes, c'est le seul crime passible de la peine de mort et pour les stabiliser, je demandais à mon père, il n'y a jamais eu de cas d'acte de terrorisme intérieur commis par un stabilisé, m'a-t-il répondu. Aucun acte de terrorisme intérieur n'a été commis par un stabilisé. Pourquoi ce crime n'est-il jamais commis par des stabilisés? Voilà une vraie différence entre 125 les naturels et les stabilisés. Quand je questionne les gens autour de moi, ils miment l'assurance pour dire qu'aucun filtre n'est utilisé lors de la stabilisation. Toutes nos données sont intégralement transférées sans la moindre altération. De longues années de mise au point ont permis d'assurer la fiabilité du processus. J'ai un doute. Si j'accepte d'être stabilisé, je veux pouvoir vérifier que rien n'a changé en moi. Pour en être sûr, je garde un secret, j'écris un journal dans lequel je transcris toutes mes pensées. Quand je reviendrai lire sa ligne, alors, je pourrai mesurer la part du doute subsistant en moi. Si je suis toujours le même, je continuerai à douter. Si je ne doute plus, cela me troublera. Alors le doute s'insinuera à nouveau. Ce que la machine n'aura pas transmis, mon journal le complétera. Mati, tu viens, il est déjà tard, c'est l'heure du repas, nous n'attendrons pas ton père, ce soir il a du travail, il ne rentrera pas avant plus d'une heure. J'arrive maman. Mati se leva, plia soigneusement sa plaquette. Il traversa sa chambre, s'accroupit dans un coin proche de la fenêtre donnant sur l'extérieur. Il appuya à la base du mur sur la plinthe, un petit volet pivota. Il plongea sa main dans le trou, en retira un fil qu'il connecta à la plaquette, puis remit tout en place. La cache était redevenue invisible. Le repas se déroula sans un mot. Mati était impatient 126 de retourner dans sa chambre pour continuer à écrire. Il sentait sa mère crispée, il ne savait pas pourquoi. Quand il se leva pour sortir, sa mère l'interpella, « Mati, assieds-toi s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire maman, c'est important. Ce soir j'aurais préféré aller dans ma chambre, j'ai du travail en retard. » Oui, c'est important. Mati, tu as maintenant 30 ans, dans 2 jours ce sera ton anniversaire. Il se rassit et attendit patiemment. Comme tu le sais, tu as maintenant accès à la stabilisation. Sa mère hésitait. Il hocha de la tête pour l'encourager à poursuivre. Tu le sais, tout ça ne se décide pas en un jour. Quand on est stable, on ne peut plus avoir d'enfants. On ne peut plus avoir d'enfants dans la vie stable. Oui, on te l'a déjà dit plusieurs fois, Mati. Les recherches se poursuivent mais, jusqu'à maintenant, la reproduction n'a pas pu être transférée. Toutes les fonctions sont stabilisées sauf celle-là. Oui, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. Je m'en souviens maintenant, c'est une de mes raisons pour ne pas vouloir être stabilisée. Mais enfin Mati, on en a déjà parlé 1000 fois, tu seras stabilisé quand tu seras prêt, quand tu le souhaiteras. Tu peux prendre encore quelques années pour réfléchir et pour faire des enfants. Justement, je voulais t'en parler. Pour ton anniversaire, nous t'offrons un séjour de rencontre. Tu vas pouvoir rencontrer des jeunes femmes naturelles, comme toi. Tu vas pouvoir en choisir une. Avec elles, vous pourrez avoir autant d'enfants que vous le désirerez. Avant de vous stabiliser 127, ça me fait plaisir de rencontrer d'autres naturels. Tu seras stabilisé quand tu le décideras, mais il ne faut pas trop attendre non plus. Ton corps naturel va continuer à vieillir, ton corps stable aura l'âge que tu auras au moment de la stabilisation. Si tu attends trop longtemps, tu seras un vieux stable, c'est toujours plus difficile. Plus on est vieux, au moment de la stabilisation, moins on vit longtemps. En vieillissant, le taux d'échec de la stabilisation augmente, sans compter le coût supplémentaire pour l'entretien des corps de substitution. C'est bien connu, les statistiques le prouvent, les stabilisés tardifs demandent à être euthanasiés plus tôt, ils sont probablement moins heureux. Pourquoi papa n'est-il pas là s'il est en retard? Ce n'est pas pour son travail. Si ton père avait été là, il se serait énervé. Je l'ai convaincu de me laisser te parler seul. Ce soir, ton père est allé au stade. Je n'aime pas beaucoup ces matchs où les équipes se massacrent mais lui en raffole, alors il n'a pas été difficile de le convaincre. Il faut m'aider Mati, ce n'est pas facile pour moi si on ne peut pas avoir d'enfant quand on est stable, alors quelque chose est différent mais non Mati, quand vas-tu comprendre? Enfin, quand vas-tu te décider à grandir? La reproduction est une fonction purement physique. Le jugement, la mémoire, la conscience, tout l'immatériel est transféré intégralement. Tu verras, fais-moi confiance, je l'ai vécu. Quand on se réveille dans son corps stable, on a l'impression d'avoir passé une bonne nuit, c'est tout. Sinon les souvenirs sont tous là, intacts. On rentre chez soi, on continue à vivre comme avant, comme si rien ne s'était 128 passé. À partir de ce moment, une visite par an au centre technique de maintenance de la stabilisation suffit à éviter la dégradation, tu viens de le dire. Parfois la stabilisation ça ne marche pas, on ne se réveille pas, je parlais des vieux. Mais à ton âge c'est très rare. C'est la deuxième grande voie de recherche après le transfert de la reproduction. On n'a toujours pas compris pourquoi certains ne réussissent pas à amorcer l'émergence de la conscience dans leur corps stable. Mais vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, c'est extrêmement rare, je ne m'inquiète pas pour ça, si je ne me réveille pas, ce ne sera pas grave, arrête Mati, je n'aime pas quand tu parles comme ça, ça fait enrager ton père, tu le sais. Maintenant es-tu content pour ce séjour de rencontre? Oui, je suis content de pouvoir rencontrer d'autres naturels comme moi, oui, enfin surtout des femmes. Ça marchera, tu verras. C'est délicieux l'amour si c'est comme dans les vieux livres que vous m'avez offert, oui ça doit être délicieux. Ces livres ont été écrits il y a très longtemps, bien avant que la stabilisation ait été mise au point. Les livres plus récents n'en parlent pas de la même manière. Ils parlent plus du plaisir, moins des sentiments mais non Mati, tu te trompes. L'amour est intemporel. Comme toujours, quand on s'aime vraiment, c'est pour la vie. Je te souhaite de rencontrer ta vraie moitié. Tu verras, la vie sera différente. Maintenant ton père ne devrait pas tarder. Tu es heureux de participer à ce 129 séjour de rencontre, c'est bien. Ça ira oui, répondit Mathias assez peu convaincu. Il embrassa sa mère et remonta dans sa chambre. Le centre de rencontre était un lieu paradisiaque. Les bâtiments étaient blancs, largement éclairés par de vastes baies vitrées. Ils étaient dispersés dans une immense propriété, dans laquelle alternaient les zones boisées de grandes prairies entretenues avec soin. L'entrée au centre se faisait en passant sous une haute grille surmontée d'une pancarte avec une enseigne souhaitant bonne et longue vie à toi. Point. Une fois franchie cette imposante grille, une longue allée, traversant de belles pelouses, conduisait au bâtiment principal où se déroulaient toutes les activités communautaires. D'abord, celle de l'accueil des nouveaux arrivants, ensuite les repas et les soirées en commun. Mati participa à la cérémonie d'accueil avec une cinquantaine d'autres naturels ayant passé l'âge de la stabilisation. Ils avaient tous entre 25 et 35 ans, à peu près à égalité de filles et de garçons. Au cours de cette cérémonie, il fut d'abord souhaité la bienvenue à la nouvelle promotion. Il y avait une salle de sport avec une piscine. Il y avait aussi une grande médiathèque, mais à contrario des autres lieux de vie, son usage était réglementé. L'ensemble des activités de ce lieu était plutôt solitaire. Pour y aller, pour lire, jouer ou visionner, il fallait prévenir à l'avance et donner un programme de ce qu'on comptait faire. Le 130 séjour à la médiathèque était limité dans le temps et personne n'y était admis plus d'une fois par jour. Sinon, tous les autres lieux du centre étaient laissés au libre usage des pensionnaires. Tout le temps passé là serait des jours de totale liberté. Le séjour étant dédié à la rencontre, les pensionnaires étaient encouragés à ne pas s'isoler, à profiter de ces quelques jours pour découvrir la vie communautaire, dans le respect de chacun. Il leur fut attribué des chambres individuelles où ils pourraient jouir d'un peu d'intimité. L'accès aux chambres était ouvert durant une heure après chaque repas. La chambre était spacieuse et sobrement meublée. en plus d'un large fauteuil, d'une penderie, d'étagères, d'un bureau, il y avait un petit salon, pour inviter d'autres pensionnaires, si on le désirait. Il y avait aussi une petite salle de bain au cas où on la préférerait au grand bain communautaire jouxtant la piscine. Le soir, quand on voulait se reposer, on avait à disposition une multitude de petites huttes, disséminées un peu partout dans le parc. Ces alcôves étaient de belles cabines, en bois ou en maçonnerie, au sol ou perchées dans les arbres, aux multiples couleurs choisies avec soin pour s'intégrer harmonieusement dans le paysage. Elles n'avaient pas de porte, seulement un lourd rideau imperméable, bien isolant pour protéger d'éventuelles intempéries. Elles étaient principalement équipées d'un très grand lit de différentes formes, à occuper, à sa guise, seul ou accompagné. Après la visite, les deux coordonnateurs de la promotion se présentèrent. Leur rôle était de favoriser le bon déroulement du séjour. Ils étaient disponibles, sans restriction, à toute heure du jour ou de la nuit, pour toutes 131 difficultés, grandes ou petites. Il y avait en permanence trois promotions se côtoyant. Chaque nouveau était parrainé par un ancien. Le parrain devait aider son filleul à découvrir les différentes possibilités du lieu. Le parrain de Mathis s'appelait Cyrus, il l'embrassa et lui présenta sa compagne. Mathis les salua, il s'excusa de s'éclipser car il devait déposer son bagage dans sa chambre. Mathis choisit de se reposer une demi-heure, dans le grand fauteuil, face à la vue merveilleuse du parc, largement visible au travers de grandes cloisons coulissantes, entièrement vitrées. Il s'était assoupi, quand une discrète sonnerie retentit. Une voix douce rappela qu'il était temps de quitter la chambre. Il descendit directement dans le parc à travers une des baies vitrées. Il avait décidé de passer le reste de la matinée à se promener. Le lieu était trop grand pour être découvert en une seule journée. Derrière lui, il entendit le déclic verrouillant l'accès aux chambres. Mathis se dirigea en direction d'une zone boisée, assez touffue, au-delà d'un lac, garni de plantes et de fleurs aquatiques. Comme lui, d'autres pensionnaires commençaient à s'éparpiller dans la propriété. On voyait bien la différence entre les anciens et les nouveaux. Les uns se dirigeaient d'un pas décidé vers le lieu choisi, ils étaient pour la plupart en couple dont certains se promenaient nus sans la moindre pudeur. Les nouveaux, plus timides, hésitaient sur la direction à prendre. Quand Mathis croisait un pensionnaire, il se saluait avec un large sourire, comme on leur avait appris, « Bonne et longue vie à toi point ». Arrivé à l'oreille du bois, il s'assit au niveau de la 132 première rangée d'arbres. Il se mit à observer distraitement tout autour de lui. Cela ne dura pas longtemps. Quelques minutes plus tard, il vit son parrain Cyrus s'approcher accompagné d'un jeune homme et d'une jeune fille. « Bonne et longue vie à toi, Mathis. Je te présente Pierre, le parrain de Solène. Solène vient d'arriver, comme toi. Elle se sent un peu perdue. Peut-être pourras-tu l'aider à s'intégrer à la communauté. Bonne et longue vie à toi, Solène, répondit Mathis en lui souriant. Solène s'assit à côté de Mathis. Sans être vraiment belle, Solène avait l'air simple, discrète, cela plut à Mathis. Les deux jeunes gens restèrent assis de longues minutes en silence. Mathis sentait une gêne s'installer. Il se leva, tendit la main à Solène pour l'aider à se relever. « Je comptais découvrir le parc, si tu veux nous pouvons y aller ensemble. » Solène lui sourit. Elle acquiesça sans lui lâcher la main. Tous deux suivirent le sentier, s'enfonçant dans le bois. Ils parvinrent à une clairière. À nouveau, Mathis proposa à Solène de s'asseoir sur un tapis de mousse. Mathis s'allongea, Solène s'assit à côté de lui. Il saisit Solène par la taille, l'engagea à s'allonger à ses côtés. Celle-ci se laissa faire. Alors, Mathis se pencha sur elle et déposa un baiser sur sa bouche. Solène y répondit. Ils s'embrassèrent longuement. Ensuite, Mathis commença à se déshabiller, Solène fit de même. Quand ils furent nus, Mathis l'enlaça et ils s'aimèrent. Bientôt, ils furent satisfaits, ils se rhabillèrent. Ils se sentaient complices, heureux de ce bon moment passé ensemble. Beaucoup plus légers, toujours la main dans la main, ils reprirent leur promenade. Solène raconta sa vie, sa famille, ses frères, ses sœurs. Elle était la dernière d'une 133 familles nombreuses. Ses parents avaient réussi, avec beaucoup d'efforts, à faire accéder à la vie stable tous leurs enfants. Restait Solène, après quoi ils pourraient profiter d'une vie apaisée. Solène rêvait d'avoir beaucoup d'enfants, comme dans sa famille, de les élever pour accomplir son devoir de mère. Mathieu lui raconta ses doutes. Il était fils unique. Il n'avait pas connu la vie communautaire comme Solène. Il voyait sa présence au centre plutôt comme un simple cadeau d'anniversaire, non comme un passage obligé pour fonder une famille puis être stabilisé. Il n'était pas contre le fait de fonder une famille, d'accomplir son devoir de père, en offrant à ses enfants un véritable choix de vie, mais pour sa propre vie, il ne savait pas encore. Solène lui jeta un regard inquiet, il est beaucoup mieux d'être stabilisé. C'est plus facile pour vivre dans notre société, surtout pour élever les enfants. Jamais je ne pourrais me mettre en couple avec un homme non stabilisé. Il vieillirait, il finirait par mourir. Je ne pourrais rapidement plus partager ma couche avec lui. Je compte bien avoir une longue vie et beaucoup de plaisir. Oui, je te comprends, répondit Mathie. Tu as raison, c'est certainement plus facile de vivre stabilisé. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai dans ma tête une idée, elle ne me lâche pas. Les stabilisés ne sont plus vraiment des humains. Solène le regarda d'un air stupéfait. Ils ne sont pas humains, moi, je ne vois aucune différence. Leur corps est synthétique, ils ne peuvent pas se reproduire. De plus, je ne suis pas sûr qu'à la stabilisation, ils transfèrent tout. Pendant notre vie naturelle, on remplit notre mémoire avec des règles nous permettant de vivre 134 dans notre société. Mais à la naissance notre mémoire n'est pas vide, elle contient déjà des règles de survie. Je ne suis pas sûr que le contenu de cette mémoire, d'avant l'éducation, ne soit pas soustrait lors du transfert de la stabilisation, mais, ce n'est pas très grave. Si cette mémoire est remplacée par une autre pour nous aider à vivre notre stabilité, mais s'ils savent trier l'utile du superflu, qui définit ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, je me dis qu'en réalité, seuls les naturels peuvent choisir librement ce qui est bon ou pas pour eux. Tu es beaucoup trop méfiant, Mathie. Tu te poses trop de questions. L'important c'est d'avoir une vie longue et heureuse. Je sais, tu n'es pas la première à me le dire. Quand je parle de ces questions, ça fâche mon père, ça fait de la peine à ma mère. Puis, ils se dirigèrent vers le bâtiment central car c'était l'heure du repas. Ils croisèrent Pierre et Cyrus, tous les deux leur souhaitèrent une bonne et longue vie puis s'éloignèrent en disant « Salut les amoureux ». Pendant le repas Solène s'esquiva, Mathilde la perdit de vue. Cette première nuit, il la passa seul, dans une des alcôves proches de sa chambre. Il avait effrayé Solène avec ses questions, alors elle ne voulait pas poursuivre avec lui. Elle était allée voir ailleurs. C'était dommage car elle lui plaisait. Le lendemain, à l'aube, Mathieu n'était pas encore levé, quand il fut réveillé par un coordonnateur. « Bonne et longue vie à toi Mathieu, bonne et longue vie à toi » répondit Mathieu en se réveillant. 135 « Un incident grave s'est passé hier. Je dois t'en parler. » Surpris, Mathieu s'assit, se frotta les yeux. Attendit Solène nous a parlé de sa conversation avec toi. Toutes ces considérations n'ont rien à faire dans notre centre. Heureusement, Solène est une fille saine et simple, mais, même si elle ne l'avoue pas, elle a été troublée par tes questions. De quoi parlez-vous ? Demanda Mathie. Je n'ai pas l'impression d'avoir enfreint une règle. Hier, à l'accueil rien ne nous a été dit, à propos de sujets tabous Mathie. Tu sais parfaitement de quoi je parle. À ton âge ce genre de questions n'existe plus, elles sont réservées aux jeunes gens découvrant leur vraie nature quand on leur explique la stabilisation, leur future vie. Quand on a passé l'âge de la stabilisation, on a trouvé des réponses. Ceux qui ne les ont pas trouvées finissent prématurément leur vie, soit en vieillissant, soit en demandant l'euthanasie. Je ne sais pas si réellement tu as conscience de la gravité de ton erreur, mais moi je te le dis, si tu persévères sur cette voie tu finiras très mal. Je suis désolé d'avoir causé du tort au centre. On ne m'avait pas prévenu. Je pensais que les erreurs venaient des réponses, non pas des questions, Mati. Tu es un raisonneur. Pourtant tu as été prévenu. Tes parents t'ont déjà parlé de la manière la plus claire. Ils ont rempli le dossier pour ton admission au centre. Je suis désolé mais tu ne vas pas pouvoir rester parmi nous. Tu as déjà troublé Solène, il ne faudrait pas corrompre d'autres pensionnaires. Donc, tu vas immédiatement reprendre tes affaires. Tu vas être reconduit chez toi. Peut-être, pourras-tu revenir plus tard, quand tu accepteras la vérité. 136 Le coordonnateur demanda à Mati de faire sa valise. Il le raccompagna directement à l'entrée du centre, en évitant de croiser d'autres pensionnaires. Il l'abandonna devant la grille d'entrée où un autoglisseur l'attendait. En montant à bord, il vit Solène. Elle attendait, le visage ravagé par les larmes. Oh, Mati, je suis désolé. Jamais je n'aurais dû parler à Pierre de notre conversation. Maintenant il nous chasse du centre, Solène, ne pleure pas, tu n'y es pour rien. C'est de ma faute, je pose des questions interdites. Toi, tu n'as rien fait de mal, tu n'y es pour rien. Je m'excuse de t'avoir entraîné dans cette affaire, ils sont idiots. Ni moi ni toi, ne sommes coupables. Tu avais raison de te méfier de la stabilisation. Il suffit d'émettre un seul petit doute pour déclencher des réactions violentes. Mati s'assit à côté de Solène et l'embrassa. Ils voyagèrent la main dans la main, silencieux. Mati ressentait une chaleur monter en lui, des picotements l'assaillirent. Pour une fois, il était vraiment heureux. Une ou deux fois il se tourna vers Solène, elle lui sourit, en serrant sa main plus fort. Arrivé à son domicile, Mati embrassa Solène. Il lui tendit son code de communication. Il descendit de l'autoglisseur. Un peu triste, il le regarda s'éloigner. Les parents de Mati l'accueillirent sans un mot. Son père était fermé, pâle, visiblement très affecté. La vie reprit comme avant, plus morne encore. Mati continuait à écrire et à dissimuler sa plaquette. Maintenant il en était sûr, il était interdit d'écrire comme il le faisait 137 un soir. Peu de temps après le retour de Mati, on frappa à la porte. Les coups se répétèrent plus fort. La mère de Mati se précipita. Derrière la porte une voix cria, « Ouvrez, tout de suite. C'est le service de contrôle de la stabilisation. » Un homme et une femme en uniforme blanc entrèrent. Ils demandèrent à voir toute la famille. Quand Mati et son père les eurent rejoints, l'homme expliqua, nous avons été missionnés pour enquêter sur un incident survenu au centre de rencontre. Êtes-vous au courant de ce dont je parle? Questionna-t-il. Le père de Mati répondit oui, nous sommes au courant, notre fils a du mal à grandir. Il a atteint l'âge de la stabilisation depuis 4 ans mais il n'est toujours pas prêt. Dernièrement, nous avons cru en son évolution. Nous lui avons payé ce séjour au centre. Il a toujours vécu un peu en solitaire. Peut-être a-t-il été impressionné par le nombre des pensionnaires, les questions pourtant résolues sont revenues. C'est dommage, mais nous ne désespérons pas de le renvoyer au centre prochainement, quand il sera enfin prêt. Maintenant il connaît les règles, je comprends, mais ce n'est hélas pas si simple. Pour votre fils c'est d'accord mais là-bas il a peut-être semé le trouble chez d'autres pensionnaires. Nous craignons une contagion de cette population si fragile des naturels proches de la stabilisation. Nous avons maîtrisé l'incidence en 38 pour Mati et pour une autre pensionnaire. Nous voudrions nous assurer qu'il n'y a pas eu d'autres conséquences. Mati, à qui as-tu parlé? À personne, je vous le promets. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec d'autres et Solène partageait-il tes idées? Pas du tout, après notre rencontre. Je ne l'ai plus revue de la soirée, elle a dû être surprise par mes questions. Dès le lendemain nous avons été tous les deux chassés du centre heureusement. Oui, d'après notre enquête, ça s'est passé comme ça. L'inspecteur jeta un coup d'œil interrogatif à sa collègue. Celle-ci approuva d'un signe de tête. Puis il ajouta, « Et pendant le voyage du retour, a-t-elle parlé ? Nous n'avons presque pas parlé. Nous étions contents d'être ensemble car nous étions tous les deux choqués. Nous nous sommes soutenus mutuellement, nous allons en rester là pour le moment, mais pour un éventuel retour de Mathy au centre, c'est tout à fait improbable. Si vous souhaitez vraiment l'y renvoyer un jour, il devra d'abord passer une série de tests dans nos locaux. » Sur ce, les deux inspecteurs remercièrent Mathy et ses parents pour leur coopération sincère. Quelques mois plus tard, ils eurent une heureuse visite. Un matin, ils étaient en train de déjeuner quand on sonna à la porte. La mère de Mathy alla ouvrir. Elle revint, bouleversée, accompagnée de Solène et de ses parents 139. Elle les engagea à s'asseoir pour partager leur repas. La mère de Solène était visiblement très impressionnée par l'appartement dans lequel il venait d'entrer. Le père semblait être un homme autoritaire et décidé. Ils s'assirent mais n'acceptèrent aucun plat. Mathy dévisageait Solène en essayant de comprendre la raison de leur venue. Elle de son côté se taisait. Elle lui souriait avec tendresse. « Ce sont les parents de Solène, » dit la mère de Mathy. Solène a connu Mathy au centre de rencontre. Ils ont quelque chose à nous dire. » Le père de Solène prit la parole. « Ma fille a en effet connu votre fils là-bas. Ils n'ont pas mis longtemps à sympathiser car Solène est enceinte. Elle prétend n'avoir pas connu d'autre homme. » Interrogateur, il se tourna vers Mathy. Mathy restait muet, stupéfié. Il n'arrivait pas à penser, ni à construire la moindre réponse. « Eh bien, jeune homme, j'attends votre réaction. Solène est notre dernière fille, jusqu'à présent nous avons réussi à offrir à tous nos enfants une vie digne. Nous serions très fâchés si ça se passait mal pour Solène. » Mathy tentait d'émerger, ses parents restaient muets. Finalement, il se leva, contourna la table en direction de Solène et la prit dans ses bras. Solène se laissa faire, il sentait son cœur battre contre lui. « L'affaire est entendue. » approuva le père de Solène. « Solène sera ta femme. Maintenant il reste un autre problème à régler, tout aussi grave et difficile. Depuis l'incident, Solène évoque la possibilité de ne pas se faire stabiliser. Cette idée absurde doit venir de toi, Mathy. Nous en avons longuement parlé avec Solène mais elle ne semble pas vouloir en démordre. Nous avons eu la visite des agents du contrôle de la stabilisation. Nous leur avons 140 affirmé que Solène serait prochainement stabilisée. Nous avons dit ça pour ne pas avoir d'ennui. Solène n'a rien dit devant eux. Toi Mathy, où en es-tu ? » Mathy relâcha son étreinte. Il se retourna vers le père de Solène. « Je ferai comme Solène. Si elle veut se stabiliser, je me stabiliserai avec elle. Bien, Mathy, il te reste un peu de raison. » Puis se tournant vers sa fille. « Alors Solène, tout repose sur toi. Finalement, Solène calme, souriait, on fera comme tu veux, Mathy. Si tu refuses la stabilisation, je la refuserai aussi. Je veux pouvoir vivre toujours avec toi, pour le temps que nous aurons tout été réglé. Mais voilà, ma fille devient folle. Il va falloir vous décider tous les deux. Faire le bon choix, si possible. » Mathy se tourna vers Solène. « Solène, nous nous stabiliserons. Maintenant j'en suis sûr, nous pourrons nous aimer comme si nous étions naturels. Notre amour sera transféré, je le sais. » L'année suivante fut une année de rêve pour Mathy et Solène. Mathy voyait le ventre de Solène s'arrondir, il ne pouvait pas s'empêcher de le caresser. Solène était rayonnante. Ils avaient emménagé dans un bel appartement acheté avec l'aide des parents de Mathy. Par contre Mathy ne souhaitait pas avoir plus d'un enfant. Celui-ci était arrivé comme un passager clandestin. On l'accueillerait, on le choirait mais il n'était pas question d'en avoir un autre. Solène regrettait un peu cette décision, mais elle se sentait 141 résolue à oublier ses rêves de jeune fille. Elle était heureuse avec Mathy. L'enfant arriva. C'était une magnifique petite fille. D'après Mathy, elle était aussi belle que sa mère. Quand elle fut sevrée, il fut temps de penser à la stabilisation. Le père de Solène était là pour le rappeler « Nous serons rassurés quand vous serez stabilisés », disait-il. En attendant, rien n'est acquis. Le jour de la stabilisation fut donc planifié. Mathy et Solène y seraient soumis. En même temps, dans deux cellules mitoyennes, Mathy était allongée sur un lit. On lui avait branché un nombre impressionnant de câbles reliant toutes les parties internes de son corps au stabilisateur. Il pencha la tête sur le côté. Il vit Solène, pareillement équipée, lui sourire. Il était ébloui par les lumières multicolores et clignotantes tout autour de lui. Bientôt il sentit une lourdeur généralisée l'envahir. Ses yeux se fermaient irrésistiblement. Une dernière fois, il jeta un regard en direction de la cellule voisine. Solène semblait s'être endormie. Juste au moment où ses yeux se fermèrent, il crut voir un beau sourire illuminer le visage de Solène. Puis ce fut une impression de chute. Il était aspiré vers le vide. Il ressentit comme une déchirure. Il vit une ombre projetée hors de lui, emportée dans un tourbillon. Il se crispa, s'agrippa mentalement à tout ce qui se présentait comme une ancre, un point d'appui, l'empêchant de sombrer dans le néant. Ce jour-là, Mathy refusa de se réveiller. 142 Eugénia. Aucune science n'avait jamais pu résoudre l'énigme de l'existence de Dieu. Cette question restait comme une épine plantée dans les pensées d'Eugénia depuis que sa conscience s'était éveillée au monde. Eugénia était un bel esprit qui avait choisi le féminin pour genre. Quand les humains s'étaient désincarnés, il y avait plus de 5000 ans, ils avaient conservé deux héritages, la question théologique et le choix du sexe. Malgré une évolution de la conception, qui avait bouleversé les relations entre les individus, ils n'avaient jamais pu se résoudre à abandonner le marquage du genre. Il fallait toujours être deux êtres pour concevoir. Mais éveiller un petit esprit et d'éduquer ne nécessitait plus de sexe différencié. Cette réminiscence du passé humain subsistait. Le choix du sexe se faisait à l'adolescence, aux alentours des 1500 ans d'âge, selon l'échelle temporelle de l'ancienne civilisation humaine. Malgré tout, une croyance subsistait dans ce monde immatériel, où toutes les énigmes avaient été résolues depuis bien longtemps. Découvrir la vérité théologique, 143 disait-on, conduisait invariablement à la mort. Ceux qui avaient l'illumination, s'éteignaient pour toujours. Cela restait une légende fédératrice, conférant une grande stabilité à la société. Ce mystère demeurait. Il valait mieux ne pas chercher à le percer. Pour Eugénia, pétrie d'une culture rationnelle, une croyance était un concept inadmissible dans une société évoluée. Eugénia pensait que la première caractéristique d'un dieu était sa présence effective dans l'univers. Présence, totale ou partielle, matérielle ou immatérielle, qu'importait, cette présence était la condition incontournable d'une existence. Et si Dieu était présent, il devait invariablement laisser des traces. Depuis longtemps, on avait mis au point le détecteur d'esprit, indispensable au maintien de l'ordre dans la société. La méthode se basait sur une liste sans cesse réactualisée des empreintes spirituelles. Jusqu'à présent, seuls les esprits ordinaires avaient été détectés. Le crible ne détectait que l'immatériel, il avait été démontré par Godelieu, le grand philosophe du siècle précédent, qu'aucun esprit ne pouvait échapper au détecteur. Depuis les millénaires que l'on détectait des esprits, aucun être supérieur n'avait été trouvé. La probabilité que Dieu soit un esprit, était infime, voire nulle. Cela ne laissait que deux possibilités, ou bien Dieu était immatériel sans être un esprit. Mais que reste-t-il d'une entité immatérielle dont on a soustrait l'esprit? Ou bien Dieu était matériel donc indétectable. Eugénia penchait pour cette deuxième hypothèse. Cela posait un problème de taille, car depuis la déconcrétisation spirituelle des humains, les esprits avaient perdu tout contact avec le monde matériel. La quête d'Eugénia se résumait donc à renouer ce lien perdu avec la nature humaine. 144 En ce jour mémorable qui vit l'éveil d'Eugénia, il se passa un phénomène extraordinaire. pour la première fois un esprit disparu devant une multitude de témoins. Tous en conclurent que Génia avait résolu la question théologique et levé simultanément toute ambiguïté sur le caractère mortel de l'illumination. Raymond et Gisèle regardaient émerveillés le petit être si délicat qui venait de voir le jour. Ils décidèrent de l'appeler Eugénie 145 table des matières petite valse du temps 3 Lucien, sa montre et sa bouteille 7 mon arbre 15 3 rebelle 21 le gigaptérotère 33 infiniment proche, infiniment lointain 47 les cavaliers de l'apocalypse 59 le temps des marchands 69 l'ascenseur intelligent 83 la cour de Tavma 97 Mati, pour la vraie vie 121 Eugénia 143 147 cet ouvrage a été composé par Eddy Livre 175. Boulevard Anatole France 93 200 Saint-Denis téléphone 01 41 62 14 40 fax 01 41 62 14 50 mail client @edilivre.com www.edilivre.com Tous nos livres sont imprimés dans les règles environnementales les plus strictes, tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservée pour tout pays. ISBN papier 978 2 414 159 42 0 ISBN PDF 978 2 414 159 43 7 ISBN et pub 978 2 414 159 41 3 d'épaule égale mars 2018 copyright Eddy Livre 2018 imprimé en France 2000